Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Mimi Hegel et vous écoutez House of the Dragon, le podcast dans lequel Tequila Tex et moi on débrief chaque épisode de la série qui nous ramène à Westeros. Ceci est un replay de live Twitch, ce qui peut expliquer son aspect un petit peu chaotique. Retrouvez-nous en direct chaque mardi à 21h sur twitch.tv/MYMYHGL. Et pour info, chaque lundi sur mon Patreon, je publie le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues débiles dedans. Donc si vous aimez le snip snip, rendez-vous sur patreon.com/MYMYHGL. Et bonne écoute! Internet, incroyable. Bonsoir Internet, comment ça va? Bonsoir Internet, bonsoir Twitch, bonsoir la podcast vie. Je suis Mimi Hegel et je suis avec Tequila Tex.
Salut, c'est Tequila Tex, bonjour, comment allez-vous?
J'espère que vous allez très bien. On est ensemble pour débriefer House of the Dragon, saison 1, épisode 5, la mi-saison, le cursed mariage à Westeros.
C'est vrai, c'est la
mi-saison. Faut pas se marier. Bah oui, on est à mi-chemin.
C'est triste.
Ça me rend très triste de me dire que, bah, il nous reste plus que exactement ce qu'on a fait et après il y aura plus rien pendant un an. Mais rappelons que House of the Dragon quand même est renouvelé pour une saison 2. Donc, on va revenir à Westeros. On va revenir voir certains personnages, peut-être d'autres noms, peut-être il y en aura qui seront morts. C'est pas grave, écoutez, c'est la vie, quoi.
Quel épisode incroyable. Ce serait vraiment, après des épisodes comme celui d'hier, ce serait vraiment aberrant qui ne renouvelle pas cette série.
Ah bah, c'est renouvelé depuis l'épisode 1, où ils ont vu que ça avait fait des vues et des critiques positives, ils ont dit « Ok, on fait un go saison 2 ». Mais là, est-ce qu'on n'a pas trop envie de savoir ce qui va se passer après? Évidemment, on a trop envie.
Mais là, c'est trop vénère.
Évidemment. Alors.
Mais là, c'est trop fou.
Plusieurs choses avant de nous lancer dans le débrief total de l'épisode. Déjà, je vois que Omelette Douce, bonsoir Omelette Douce, tu suis. Mushroom, est-ce que c'est lui qui joue du tambour pendant le mariage? Alors, en vrai, c'est pas un spoiler que
on
je vous donne.
Direct avec un point Mushroom, là.
Ouais, on va faire un point Mushroom dans l'intro. On s'en fout. Let's go. On a fait le clap, donc tout ça partira en podcast, tout va bien. Du coup, Mushroom, alias Champignon, de son nom français, est un des narrateurs de Fire and Blood, qui est du coup le livre de la dynastie, la chronique historique de la royauté Targaryen à Westeros, qui sert de base à House of the Dragon. Cette histoire est racontée par plusieurs narrateurs qui sont tous globalement pas très fiables, parce qu'il y a des septons, il y a des maestres, il y a plein de gens qui ont un intérêt à raconter leur version de l'histoire. Et le seul narrateur qui est contemporain des événements, c'est Mushroom, un genre de bouffon atteint de nanisme, qui était l'amuseur public de Rhaenyra notamment. Et qui a toujours les versions les plus salaces de l'histoire. C'est-à-dire que s'il y a, bah, par exemple, est-ce que Daemon et Rhaenyra ont couché ensemble ou pas dans le bordel la nuit d'avant? Nous, dans l'épisode 4, on a su qu'il n'y a pas eu consommation. Mais dans Fire and Blood, il y a plusieurs versions différentes, et la version de Mushroom est évidemment la plus crado. Et c'était pas sûr qu'on verrait Mushroom dans la série, parce que c'est forcément un narrateur qui n'est pas forcément fiable et on n'est pas sûr de le voir. Et il y a, du coup, dès qu'il y a une personne atteinte de nanisme dans House of the Dragon, il y a une petite question de est-ce que c'est Mushroom? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ça va devenir un personnage important? Et effectivement, dans le mariage, on voit un mec atteint de nanisme qui joue du tambourin et c'est confirmé que c'est Mushroom et apparemment c'est l'acteur qui joue Viserys. Paddy. Attends, j'ai ta vanne en tête.
Tu veux dire Paddy consanguine?
C'est la meilleure vanne, mais elle marche que si vous connaissez le nom de l'acteur que j'ai oublié. Mais c'est un truc genre Paddy Cassidine.
Paddy Constantine, Cassidine,
Bref, vous l'avez. Apparemment, c'est lui
c'est,
qui a...
Ça se prononce vraiment Constantine en anglais, quoi.
Oui, c'est à peu près son nom, quoi. Du
mais
coup,
donc,
Paddy Consanguine.
Donc, cette blague, Paddy Consanguine.
Elle était, marche pour moi, de Remember Sammy. Elle
était,
fonctionne.
Était devant nos yeux depuis le début.
Mais oui.
Et elle n'est venue
5.
À moi qu'hier soir.
Incroyable.
Et donc, la première personne à qui je l'ai envoyée.
C'est Mimi.
Est ici présente.
Car je suis extrêmement chanceuse dans la vie.
Et elle a fait mouche.
Ah oui, je l'ai adoré. Et apparemment, du coup, c'est Paddy Consanguine qui a insisté auprès des showrunners de House of the Dragon pour que Mushroom ait au moins une apparition confirmée de c'est lui. Du coup, c'est confirmé. Le mec atteint de nanisme qui joue du tambourin dans l'épisode, qui a des cheveux un peu longs poivre et sel, c'est Mushroom, c'est sûr.
C'est sûr.
C'est canon. On va voir ce que ça devient, mais en tout cas, c'est
canon. Est-ce qu'il est crédité?
Je sais pas s'il est crédité, je regarde pas le générique de fin parce que j'ai un récap rigolo à faire disponible sur mon Patreon. Attendez, je vais faire la commande. J'ai oublié de mettre une souris cette fois-ci, donc vous allez voir ma grosse tête régulièrement. J'espère que vous êtes ravis. Donc, sur mon
ouais,
Patreon...
Profitez-en pour sub.
Mais donc, sur Patreon, qui est une plateforme où je publie du contenu payant mais de qualité, tous les lundis, pour seulement 5 euros pour toute la saison, je vous propose des récaps rigolos de House of the Dragon avec plein de vannes de qualité. Mais j'ai pas eu Paddy Consanguine et du coup je suis un petit peu, tu vois, je me dis, suis-je une arnaque?
On le fera, non mais on le fera pour la dernière.
Oui, on le fera pour la dernière.
Enfin, je t'offre cette blague.
Merci, ça me touche.
Gratos, t'as même pas besoin de sub à mon Patreon pour que
et je te la donne. Et franchement, je vous le dis, dans le récap de l'épisode 5, j'entame avec une vanne sur Daemon Targaryen et Fabien Olicard. Et elle est incroyable, genre à chaque fois que je la relis, elle me fait rire, je m'auto-fais rire. Donc, abonnez-vous. À part ça, est-ce qu'on a des choses à vous dire? Oui, comme d'habitude.
On va, lors de ce live, spoiler la série que vous êtes en train de déjà regarder.
T'es qui l'attaque, il est passif agressif. Parce qu'il trouve ça absurde qu'à chaque épisode, je rappelle que, ok, on va spoiler une partie de ce qu'on sait, mais pas tout. Donc en gros, je le redis, même si tu l'as très bien dit. On va spoiler tout ce qui est diffusé de House of the Dragon, pas les trailers du prochain épisode, parce que je les regarde pas, et pas le livre dont, sur lequel est basé House of the Dragon, même si nous, on sait ce qui se passe. Et par exemple, on a appris dans cet épisode que Laenor Velaryon est gay. Est-ce qu'on le savait? On le savait très clairement. Anyway, on va parler de cet épisode incroyable de House of the Dragon. Donc comme d'hab, on va essayer de dérouler l'épisode et de suivre l'intrigue de l'épisode et de débriefer tout ce qui se passe. On va sûrement digresser, jump d'un moment à l'autre et tout. Mais avant de commencer, on vous a fait une promesse à l'épisode précédent qui était qu'on allait répondre à la question que ma petite sœur Doudou nous avait posée dans un audio, parce que c'était une bonne question à laquelle on n'avait pas du tout eu le temps de réfléchir. Du coup, on était pris de court, on était là, oula, on n'a pas de réponse. Mais
et moi, quand j'étais à l'école, je faisais pas mes devoirs.
Moi non plus. Enfin, si je les faisais, mais je faisais pas de brouillon.
J'aimais pas faire mes devoirs, donc j'ai pas trop. Hein, j'ai un peu. Moi, là, ça, mais c'était. J'avais l'impression que c'était un peu comme de me donner des devoirs à faire à la maison. Donc,
non, mais moi-même, je m'en suis rappelé tout à l'heure, vraiment à genre 13h, et j'étais là, oh fuck, on a promis de répondre à un truc et tout. C'était quoi le truc? Donc, je vais vous faire réécouter la question de Doudou, ma petite sœur que j'embrasse, qui est une bonne question, peut-être un petit peu confuse dans sa formulation. La question, c'est en gros, maintenant qu'on a House of the Dragon, si on pouvait influer sur un élément de House of the Dragon pour changer quelque chose dans l'univers de Game of Thrones, qu'est-ce qu'on ferait? Et du coup, qu'est-ce que tu ferais, toi, Tequila Tex?
Moi, j'aurais fait que, genre, le crab feeder, en fait, il est foncedé, il prend trop de... comment il s'appelle, le LSD de Game of Thrones, là?
Ah, j'ai complètement oublié, mais je vois de quoi tu parles. Bah, ils ont du lait de pavot.
Milk of the Poppy,
déjà.
Ou
ouais,
je sais pas
du
quoi.
Lait, bah, c'est ça, du lait de pavot.
Non, c'est
de la morphine.
Milk of the Poppy, c'est le
Milk of the Poppy, c'est pour faire
non,
dodo.
Le milk...
hein.
Non.
C'est la,
là, c'est
le bon
truc,
tramadol,
c'est,
tu
c'est,
vois.
C'est un autre truc.
Mais il y en a des plus excitants.
Et tu vois, genre, qu'il soit foncedé et que, il fasse des incantations et que il fasse des sacrifices dans les Stepstones, tu vois, dans les Stepstones, il fait des incantations cheloues, les hommes poissons arrivent, sont une espèce de force mystique qui va être confirmée, qui va être
et
une
du
sorte
coup,
de balance du pouvoir entre les dragons et...
Ah, du coup, les forces du feu, les forces de l'eau.
Ouais, exactement.
Ok, on aime bien. Et du coup, tu dans Game of Thrones, ça commence, il y a direct la menace des hommes-poissons en plus de la menace des dragons.
Exactement, en plus de la menace des dragons.
Est-ce que quand les dragons, ils
il y a les dragons, il y a les hommes-poissons et il y a...
Il y a des hommes-poissons qui sortent de leurs œufs de saumon, tu vois.
Je
mais
sais
ils
pas.
Sont tout petits.
Je sais pas, mais c'est genre les Deep Ones, les hommes-poissons, sont une force politique comme les dragons. Sont une force
négocier,
politique
quoi.
Comme les White Walkers sont finalement une force, quelque chose qui
rebat les cartes.
Ouais, qui rebat les cartes politiques dans le truc de genre ah bah il faut peut-être s'associer avec Cersei pour enrayer la présence des White Walkers.
Ouais,
bon,
fameux
il faut
plan.
Peut-être mais alors il faut aussi, tu vois, genre peut-être que c'est peut-être genre la Triarchie à Essos qui utilise les Old Ones,
les hommes poissons.
Qui utilise les Old qui weaponise les Old Ones comme les Targaryens weaponisent les dragons.
Ça devient niche l'intro.
Ça vous va ou pas?
J'adore. Ça... Bien sûr, ça nous va, on est ravis. Il y a Remember
Doudou,
Sammy qui
Doudou,
dit
ça te va ou pas?
Est-ce qu'on prend les nageurs blancs comme corrélation entre le dieu noyé, les hommes poissons
Mais moi, j'aime aussi l'idée que, tu vois, par exemple, j'ai parlé de House of the Dragon à une copine qui m'a dit ça a l'air grave cool, mais ils servent un peu à rien, les dragons, tu vois. Et j'étais genre, non, il faut que t'imagines le dragon comme une sorte de métaphore pour...
C'est l'arme nucléaire.
Pour l'arme nucléaire. Et puis
qu'il y en a un qui s'en sert contre l'autre, en fait, ça va partir en couille. Et aussi, dès qu'il y a quelqu'un avec un dragon qui se bat avec quelqu'un avec un dragon, il y en a un des deux qui risque de perdre son dragon et d'être vraiment à poil. Donc c'est un enjeu important quand
c'est
même.
Donc un enjeu.
Et bagarre
surtout...
de dragon, ça coûte cher.
Voilà. Et c'est un enjeu qui donne des avantages à certaines familles et des désavantages à d'autres.
Par exemple, avoir un dragon, c'est un avantage.
Ça remplit ce rôle-là, tu vois. Ça remplit ce rôle-là, tu vois. Dans, si tu regardes Succession, il y a des gens qui ont du pouvoir, d'autres qui ont moins de pouvoir.
Il y a des gens qui ont des milliards de dollars.
Voilà, les cartes sont abattues d'une certaine manière. Et ben là, le dragon, ça va être un atout pour quelqu'un. Et voilà, j'essaie d'expliquer ça comme ça. Et donc, j'aimerais que. J'aimerais que dans j'aurais aimé que dans House of the Dragon il y ait une espèce de force à Essos
qui soit de taille à rivaliser
avec les Targaryens, peut-être en ayant une autre force surnaturelle équivalente avec les tenants et les aboutissants du truc. Donc peut-être que tu peux pas avoir de flotte très très forte à Westeros parce qu'ils vont se faire dégommer par les hommes poissons, mais en même temps dans les airs ça reste les Targaryens qui ont l'avantage, donc ça met une sorte de truc.
C'est vraiment tous les gens de Westeros, ils seront là en mode bah nous on a rien, enfin c'est vraiment, vous avez des gars dans l'eau et des gars dans l'air, bah nous on a des gars.
Non mais parce
quoi.
Que Essos ils ont pas des gars dans l'air.
Oui non.
Ah oui, tu veux dire les autres familles de Westeros,
oui,
ouais.
C'est juste
tu vois ce que je veux dire
genre... en mode bah nous on a pas de.
Ouais mais tu vois genre j'aurais aimé qu'ils aient ça. Ouais.
Ok je comprends.
Mon petit délire.
Écoutez,
quoi.
Le spin-off de Game of Thrones qui est censé raconter les 9 voyages de Corlys Velaryon n'a toujours pas été annulé. Donc il est toujours officiellement en développement. On ne sait pas, peut-être qu'un jour on verra des hommes-poissons officiels.
Je ne sais pas si ce sera ça.
Et franchement, si ce n'est pas là qu'ils le mettent, je ne dis pas que ce sera tout ça. Mais peut-être qu'à un moment,
il y aura une allusion.
Il se penchera au-dessus de la balustrade de son bateau et il verra, tu vois, un aileron comme ça. Et en dessous, il y aura un dos presque humain. Et ça te fera 8 épisodes de podcast. Et ça suffit, tu vois, c'est ça qu'on demande à la vie. C'est pas comme si les bouquins étaient finis. Anyway, ok, du coup, moi, ma réponse, bah, ça se rapproche un peu de ce que tu dis, parce que je suis aussi partie sur un truc de légende. Qu'est-ce que je changerais dans House of the Dragon qui pourrait influer sur Game of Thrones? C'est que je pense que je ferais en sorte que les Targaryens informent d'autres gens de cette fameuse prophétie, comme quoi il y aura une très longue nuit avec une menace venue du froid et que c'est intéressant de s'en occuper, parce que les Targaryens ont décidé de la garder très jalousement, comme Viserys nous l'apprend. Rappelons que c'est une invention de la série, hein. C'est pas dans le bouquin, donc je suis aussi très curieuse de où est-ce qu'on va avec ça. Pourquoi rappeler ce bail? Je ne sais pas. Mais apparemment, c'est une grosse responsabilité pour les rois et héritiers du trône Targaryen. Et j'aimerais bien que cette prophétie soit transmise à Old Town, où il y a du coup bah, tous les chercheurs, tous les apprentis maîtres, etc. Et qui est bah, un Samuel Tarly dans Game of Thrones qui finit par tomber dessus et qui finit par comprendre que en fait c'est toute la prophétie des Targaryens, que du coup peut-être il en parle à Jon, que du coup quand Jon il rencontre Daenerys, il lui dit bah en fait, en plus de ton héritage du trône qui est certes peut-être discutable mais qui est réel, bah t'as aussi cette prophétie qui existe et tout, parce que Daenerys a priori elle l'a pas, puisque c'est une invention qu'ils ont fait pour House of the Dragon.
Mais
Daenerys dans Game of Thrones, elle sait pas qu'il y a une prophétie targaryen de il y a une longue nuit et tout, parce que elle a été exilée tout bébé et elle a pas eu l'info, quoi. Juste, bah, elle avait pas d'ancêtre pour lui transmettre. Is ok, is cohérent. Et on va passer au débrief de l'épisode 5. Je lis vos commentaires, c'est super intéressant, mais je me dis, on va quand même commencer, il est 21h42. Et on a beaucoup de choses à se dire sur House of the Dragon, saison 1, épisode 5.
Je vais te laisser beaucoup parler.
On commence. Pourquoi tu vas me laisser beaucoup parler?
Parce
que... Il y a moins de bails féministes que dans... Enfin, il y en a, mais il y en a moins que dans l'épisode précédent où j'étais là. Le point consentement.
Non, parce
je
que...
Je suis le planning familial.
Parce que là, j'ai contrairement à l'épisode du podcast précédent, j'ai pas beaucoup de trucs de lore à dire. J'ai pas beaucoup de trucs de mythologie à dire.
On aura pas de points sur une nouvelle lame en acier valyrien, mais non. On a eu un nouveau dragon. Peut-être qu'on pourra parler un petit peu du dragon qu'on n'avait pas encore vu, en tout cas.
Bon, on l'avait pas vu.
Celui de Rhaenys, on l'avait pas vu. Non.
Ah,
c'est la première fois.
Ok. On voit celui de Rhaenys.
Oui, ils arrivent à deux dragons.
Ah ouais, je pensais
c'est
que c'était
Rhaenys et
je pensais que c'était Rhaenyra, putain.
Non, c'est maman et fiston qui sont là en mode. Bah non, Rhaenyra elle est venue en bateau comme une.
Moi je croyais que le dragon de Rhaenys, il était gigantesque.
Bah en vrai, alors il est plus gros, mais c'est pas hyper visible sur les plans. Mais
d'accord.
Il est vraiment, ils ont sorti une scale des dragons, il est vraiment
okay.
plus gros.
Il est 10 fois plus gros.
Mais sur ces plans où on les voit vaguement, il y a vraiment 2-3 plans dragons. Hein. Il y en
okay.
a, on les voit voler de loin, on les voit voler d'un peu plus près, et ils rasent un bateau et c'est ciao. Mais okay. il y en a un qui est vraiment genre le triple de la taille de l'autre, quoi.
Ouais,
celui de Lenor, si
ça se voit
il
pas,
est
les...
jeune et il est petit.
Ouais.
Et Vagar, celui de Vagar, oui, celui de Rhaenys, sa mère,
ouais.
il est très très gros.
Vagar, bon. Il date pas de
il
la
date
conquête.
Il date de la conquête d'Aegon.
Il doit être méga gros.
Il est fat.
Mais c'est chiant qu'on l'ait pas vu assez, je trouve. Moi, j'ai cru que c'était Rhaenyra qui rentrait sur son dragon.
Ben non, elle est pas venue avec. Mais bon, on aura peut-être du coup un point dragon un peu plus long, ou peut-être pas, on verra. Mais je
ouais,
sais,
voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Enfin,
t'as adoré cet épisode.
J'ai adoré cet épisode.
Cet épisode est en train de me faire changer d'allégeance dans le sens
ouais.
où on est dans la danse des dragons, donc il y a plusieurs factions qui vont s'opposer. Là, vous en connaissez quelques-unes, et il y en a plusieurs qui vont naître, qui vont se développer, qui vont se préciser. Et Teki m'a dit, cet épisode est en train tout seul de me faire changer mon allégeance, genre pour qui je suis.
Ouais.
Tellement il rebat les cartes et tellement il y a
ouais.
des graines qui ont été
ouais,
plantées
ouais.
qui poussent enfin
ouais.
des graines qui ont été plantées dès l'épisode 1 de House of the Dragon qui fleurissent. Du coup on va parler de tout ça en reprenant le fil de l'épisode. Ensuite il y aura un petit moment questions réponses parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur Instagram parce que tous les mardis je vous demande est-ce que vous avez des questions sur l'épisode. Bon, il y a la grosse question de qu'est-ce qui se passe avec Kristen Cole, on va en parler, mais il y a pas mal de petites questions qu'on pourra débriefer ensuite. Et puis après,
une question que je me pose aussi dans une certaine mesure.
Oui, moi aussi. Écoute, Fabrice Florent, à qui j'ai commenté l'épisode en direct parce qu'il l'avait vu avant moi, mon ami Fabrice Florent, suivez-le sur Twitch et sur ses podcasts, a eu des vidéos de moi quand ça commence à se tabasser au mariage et que je suis vraiment en train de me filmer en mode « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il est fâché ?» Il y a une confusion, mais vous savez quoi ? J'ai fait mon travail, je me suis renseignée, j'ai des infos à vous donner, mais on commence par un autre moment de violence extrême quasiment à main nue dans cet épisode qui est Daemon rend visite à son épouse.
Ouais.
On est donc, pour vous situer, on est dans le Vale, donc pas très... Le Vale, c'est toute la région avec notamment les Eyriers, donc ce château très haut perché.
Mais c'est pas celui-là qu'on voit.
C'est pas celui-là qu'on voit, c'est un plus petit
Parce
château.
Que je me disais, c'est un
coup,
petit château, ça.
Je vais pas
c'est
vous
pas
mentir,
gros.
J'ai... entendu et pas noté le nom du château parce que je me suis dit qu'on s'en foutait un petit peu. Mais c'est un autre château qui est dans le domaine du Vale. D'accord. Et du coup, les Royce, donc la femme de Daemon, feu la femme de Daemon, s'appelait Rhea Royce. Et les Royce, c'est une famille de lords mineurs du Vale, dont les lords sont les Arryn. Donc la famille notamment de Lysa Arryn et de Catelyn Arryn, alias... Non, Catelyn, tu lis pas du tout. De Lysa Arryn, qui était la sœur de Catelyn Stark, celle qui allaitait son fils un peu trop tard dans sa vie. Mmh. Dans ce domaine-là qui est le Vale.
Mais on voit un Royce dans Game of Thrones. C'est celui avec les cheveux blancs.
Rhoyna Royce, je crois. L'entraîneur à la garde de nuit. Tout à fait. Souvenez-vous, Jon Snow à la garde de nuit avait un genre de supérieur. Non, c'est pas lui?
Non, je crois que c'est le mec avec les cheveux blancs qui s'occupe du petit, qui a été trop allaité.
Ah oui, tout à fait, ok. Donc c'est au Vale, c'est celui qui est pas pote avec Littlefinger.
Ouais, bon, celui Littlefinger qui se méfie de Littlefinger. Ouais.
Tout à fait.
Et tu vois, qui a les cheveux blancs, qui est un peu dégarni, et qui est toujours avec un tablier, espèce de tablier, là.
Il finit pas très bien. Ouais, il a un peu une dégaine de maître. Je vois qui. Bon, le vieux avec les cheveux blancs, qui aime pas Littlefinger dans Game of Thrones, c'est un Royce, et son ancêtre, du coup, une de ses ancêtres, était Rhea Royce, la femme de Daemon Targaryen. Ce qui est hyper intéressant dans cette scène, c'est que dans le bouquin, on la voit pas, on la voit jamais. Daemon en parle mal, il en parle mal comme il en parle mal dans la série, donc il dit elle est stérile, il l'appelle Bronze Bitch. Ça c'est parce que du coup, les Royce ont des armures en bronze ornées de runes qui rappellent qu'ils viennent des First Men, donc des premiers hommes. C'est pour ça qu'elle a une armure un peu caractéristique en bronze qui rappelle un peu. Je trouvais qu'il y avait un côté très Lyanna Mormont. Dans le personnage de OK, on a une meuf un peu badass qui a pas besoin de l'aide des hommes, qui est clairement habillée pour aller chasser, pour aller se battre. Et franchement, je l'ai vue, j'étais là, ah non, elle est sympathique, je l'aime bien. Ah non.
Non, on savait.
Ah non. Bah, nous on le savait, mais je sais pas. Dites-nous si ceux qui savaient pas qu'elle allait mourir, est-ce que vous attendiez quand vous avez compris que c'est la femme de Daemon, est-ce que vous étiez là OK, elle va mourir, ou est-ce que vraiment vous étiez là trop cool? Ah non. Elle est morte. Je pense que la plupart des gens étaient en mode, enfin on la voit. Mmh. Ça fait 5 épisodes qu'on la tease.
Elle est jolie en plus. Elle est pas genre moche comme un mouton, comme dit Daemon.
Non, pas du tout. Elle est très jolie. Elle a l'air très compétente. Elle a l'air en plus d'être une meuf avec du caractère, ce qui est plutôt du coup ce que Daemon recherche, que ça soit Miseria ou Rhaenyra. Il est pas du type j'ai un gros caractère, je veux des femmes soumises. Au contraire. Donc tu te dirais ça devrait coller, mais il a dû décider à un moment que ça collerait pas parce que c'est pas une Targaryen et qu'il est bizarre. Et du coup, en fait, il en a pas un portrait odieux de « Ah oui, c'est ma femme désagréable et moche », et quand tu la vois, t'es là « Mais non, elle est trop cool !» Et du coup, on savait qu'elle mourait, mais dans le bouquin, elle meurt officiellement d'un accident de chasse pour de vrai, d'un accident de cheval. Mais il y a un Daemon a un alibi en vrai. Il s'est marqué dans le bouquin que à ce moment-là, il était en train de mener je ne sais pas quelle bataille très loin de là. Mais le truc c'est que Daemon étant Daemon, dès qu'il a un alibi vraiment solide, il y a un peu un côté genre c'est louche. Ouais. C'est trop beau pour être vrai.
Donc en gros, il est là avec sa capuche. Il l'attend dans un petit recoin.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'il est venu la tuer?
Moi, je pense qu'il est venu la tuer, 100%.
Il dit rien. Il dit jamais rien. Et du coup, est-ce qu'il est venu la tuer? Ou est-ce qu'il est venu parler avec elle? Et ça s'est envenimé, tu vois, genre, parce que, Viserys, pour le coup, la bannit.
Qu'est-ce qu'il serait venu lui dire? Nous allons divorcer, chérie? Alors. C'est Daemon.
Oui.
Qu'est-ce qu'il serait venu lui dire?
Je vous expliquerai ça plus tard.
De quoi?
Il a essayé de divorcer, mais je vous l'expliquerai plus tard dans le Q&A. J'ai pris des petites notes.
Où il serait venu lui dire « Je vais prendre une autre femme et c'est comme ça, c'est nous les Targaryens ?»
Non, mais il aurait pu venir dire « Bon, écoute, je suis obligé de traîner là, je vais faire ma vie, tu fais ta vie. »
Non, il a une capuche.
Il a mis la capucha.
Il est pas là, il est là pour se faire, pour qu'on le voit pas.
Oui, il est clairement
incognito.
Donc
il est là pour la tuer. Moi, ce
que
je comprends pas...
Un Targaryen qui cache ses cheveux, c'est toujours mauvais signe. C'est genre, il va faire des dingues.
Donc, il fait peur au cheval. Elle tombe du cheval, elle devient paraplégique immédiatement.
Oui,
il teste son bras sa jambe pour en être sûr.
Ouais,
pour être
bras,
sûr qu'elle
ouais.
est travaillée.
Moi, j'ai pas compris tout de suite, j'étais là, il lui casse le bras.
Il vérifie qu'elle a le bras cassé. Il vérifie qu'elle est.
Voulait prendre son arc.
En fait, il vérifie qu'elle est immobilisée.
Oui, il fait ça vite fait, je trouve.
Ensuite, elle l'insulte d'un puissant. Et c'est que à ce moment-là qu'il prend la pierre et qu'il lui écrase le truc. Est-ce que si elle l'avait.
Je sais pas ce qu'il fait, mais il prend la pierre et ça cut.
qu'est-ce
sur qu'est-ce... un poisson qui se fait couper la tête.
Non, il se fait tuer. Elle se fait tuer, c'est sûr.
Oui, elle se fait tuer, mais on ne sait pas comment.
Bah, elle est morte.
Elle est morte et il la tue. Ouais. On ne sait pas exactement comment et c'est pas anodin qu'il cut à chaque fois que Damon fait un truc qui est relativement impardonnable. La série, elle cut, elle nous montre pas vraiment. Quand il est censé avoir appelé l'enfant mort de Viserys et Emma l'héritier d'un jour, ouais. On l'a pas vu le faire. D'accord. On a eu la version de Otto et on sait en plus que Otto, ouais. Voilà, c'est Otto. On l'a vu essayer de serrer Rhaenyra et s'en aller. Ouais. On l'a pas vu coucher avec. Et on l'a pas 100% vu tuer sa meuf. Mais évidemment, il a tué sa meuf. Mais c'est intéressant, je trouve que la série laisse une ambiguïté sur fondamentalement, on n'a pas 100% vu. Mais bien sûr, il a tué sa meuf. C'est sûr qu'il a tué sa meuf.
Mais c'est confirmé un peu plus tard dans l'épisode. Mais,
clairement, oui.
Mais en gros, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui se serait passé si elle avait pas fait de blague sur son impuissance. Il l'aurait laissé en vie.
Genre... Non, mais ok, je comprends. Oui, c'est confus.
Ça, je comprends. Ça, c'est un problème d'écriture.
Peut-être
moi.
Qu'il s'attendait à ce que elle va mourir, tu vois. Genre juste, elle va, elle est au seuil de la mort, elle va s'éteindre là. Ce qui, est... elle est vraiment à genre 200 mètres du château, ouais, donc il y a peu de chances qu'elle meure. Enfin, elle peut être trouvée, hein, elle peut être soignée.
Ouais,
on
c'est
a
ça,
vu avec Bran que on peut être
un démon intelligent.
De handicap à Westeros.
Un démon intelligent n'aurait pas laissé. Il nettoie après ses conneries, tu vois ce que je veux dire, il va au bout de son crime quoi, tu
il
vois.
Vient avec une intention.
Il laisse pas des preuves quoi, tu vois.
Non, ben oui, mais tu vois, les gens ils disent il l'aurait laissé mourir de faim ou de prédateur, il l'aurait tué anyway et tout.
Ouais, elle
est
à 3 mètres du château.
Ou des gens qui disent en fait il a jamais été en train de s'éloigner, il allait chercher la pierre dans tous les cas. Et qu'elle fasse la vanne ou pas, il aurait pris la pierre. Ce qui est aussi possible et du coup peut-être un peu plus logique comme interprétation. Mais c'est intéressant ce thème de l'impuissance qui pour le coup est pas du tout dans le bouquin. C'est une invention de la série, mais je trouve que c'est hyper.
Moi je vois ça plutôt comme une divulgation de la série.
Une divulgation de la série.
En fait,
tu penses
c'est
que
pas
la
dans
série,
les bouquins.
Spoil un truc.
Ben non, c'est pas dans les bouquins parce que les bouquins sont encore une fois des narrateurs
pas du tout fiables.
Pas du tout fiables.
Ils n'ont pas côtoyé Damon pour la.
Ils n'ont pas côtoyé Damon, mais là on voit la vraie raison. On voit la vraie raison pour plein de choses. On voit la vraie version et la vraie version est qu'il est impuissant.
Oui, tout comme la série passe son temps à nous clarifier des... Est-ce que vous nous entendez toujours bien ? Oui, super, très bien.
Même moi. Oui.
T'es qui aussi ? Super. La série passe son temps à clarifier des zones d'ombre du bouquin. Le bouquin est en mode, il s'est peut-être passé la version A ou B ou C, et la série nous dit, en vrai, c'est la version D. Par exemple, dans le bouquin, c'est jamais sûr que Kristen Cole et Rhaenyra couchent ensemble. C'est... attendu, c'est sous-entendu, c'est affirmé par l'un des narrateurs, donc par Mushroom, il l'affirme pour Damon, mais on n'est jamais sûr, quoi. Et la série dit, oui, Rhaenyra a couché avec Kristen Cole, it happened, et on va en parler, ça a beaucoup de conséquences. Du coup, j'entends ce truc de peut-être que la série est en train de nous dire, une des raisons pour lesquelles Damon était si désagréable toute sa vie, c'est qu'il avait un petit problème d'impuissance, puisqu'on l'a vu, en fait, toutes ces scènes où on l'a vu dans une position sensuelle avec des femmes. Il y a eu une scène dans l'épisode 1 où il est en train de prendre Misaria dans le bordel en levrette et où il lui dit « je suis pas dans le mood ». Et bon, à ce moment-là, moi, je me suis dit « ok, ça a l'air d'être un bon baiser ». Mais là, ce soir-là, il est perturbé par le fait qu'il va pas être héritier du trône. On voit qu'il y a des gens qui les regardent coucher ensemble. Donc on se dit « ça a l'air d'être un peu un spectacle apprécié ». Donc moi, je me suis pas dit « il est impuissant ». Je me suis dit « bah là, il est pas dans le mood ». Mais ensuite, avec Rhaenyra, quand il se chauffe encore une fois dans le bordel... la logique de pourquoi il s'en va, c'est que il est impuissant, il est pas capable d'avoir une réaction. Et là, sa femme lui dit, on n'a pas consumé notre mariage, ce qui est grave, en vrai, entre deux adultes nobles à Westeros. Genre, même les gens qui se marient avec des gamines de 14 ans, ils consument le mariage, parce que si tu l'as pas consommé, il peut être annulé, et du coup, toutes les relations diplomatiques qui peuvent être nouées autour peuvent être vraiment s'effondrer très vite, quoi, et ça peut plonger plein de choses dans le chaos.
Et quand il l'épargne, quand il part en la laissant paralysée, en gros, elle lui dit, sacré démon, toujours unable to finish, quoi.
Je savais que tu pouvais pas finir. Elle lui fait vraiment une vanne sur son impuissance, donc. Et juste avant, un des seuls trucs qu'elle lui a dit, c'est, est-ce que t'es venu pour enfin consommer notre mariage? Il y a clairement ce problème, et c'est peut-être pour ça que Damon la déteste autant, parce qu'il y a clairement ce problème de, ils ont pas eu de relation sexuelle, ils ont pas consommé leur mariage, et elle lui refait une vanne sur t'es pas capable de le faire en fait, même si tu voulais. Et c'est ça qui peut-être le trigger aussi dans ok, je vais l'achever quoi. Enfin c'est pas anodin ce moment, enfin cet enchaînement, ce timing de c'est quand elle lui dit ça qui prend cette grosse pierre pointue quoi. Il y a enfin bon, c'est une vanne un peu dark, mais ma vanne dans mon récap rigolo, c'est time to commit au féminicide quoi. Il y a vraiment un côté de c'est une femme qui me manque de respect et qui remet en question ma sexualité, mes performances sexuelles, et qui sait de quoi elle parle, puisque c'est une des rares femmes qui a l'info de comment je vais, visiblement. Et du coup, je vais la punir pour son audace, pour sa liberté de parole, et pour le fait qu'elle ait osé rigoler là-dessus, quoi. Il y avait, pour moi, c'est pas anodin que ça se passe dans cet ordre-là.
Après, il a l'intention de la tuer quand même, pour des raisons politiques, la base, tu vois.
Mais du coup, ils auraient pu faire toute cette scène sans cette réplique.
Ouais, exactement.
Ils auraient pu faire juste Damon qui la bute, mais ils ont.
Mais cette réplique
fait l'effort de re-appuyer sur ce truc de Damon est impuissant.
Mais du coup, pour moi, ça, je le vis comme une mauvaise écriture. Parce que je le vis comme un truc
pas
réaliste.
C'est pas le plus subtil de House of the Dragon.
Ouais, je le vois comme presque de l'exposition, en fait.
Oui, bah, c'est le moment où tu te dis, OK, donc Damon est impuissant.
Ouais,
c'est le moment où t'es là, OK, c'est un plot point pour lui. Il est impuissant.
C'est trop un plot point, en fait.
Problème d'érection.
C'est trop un plot point. C'est trop visible que c'est un plot point.
C'est un peu surligné, quoi, de... ça fait trois fois qu'on vous dit qu'il a un petit problème d'érection, machin.
Exactement. Parce que de toute manière, il doit la tuer pour pouvoir libérer pour pouvoir se remarier avec quelqu'un pour des raisons politiques.
Oui.
Pour des raisons stratégiques.
Parce que quand, dans l'épisode précédent, il a dit à Viserys, fais-moi épouser Rhaenyra, Viserys lui a pas dit, c'est dégueulasse, t'es son tonton. Il lui a dit, mec, t'es déjà marié. Et en fait, OK, on a négo l'inceste, c'était chaud. On n'a pas négo la polygamie, donc on va pas refaire ça, ça va vraiment faire la guerre civile. Et Damon, il était là, ça stand ou pas? Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens sur le chat qui demandaient, quand est-ce que Damon a été marié à cette meuf? Comment ça s'est passé? Et est-ce que Viserys était déjà roi ou pas? Alors, j'ai fait mes petites recherches.
Et qu'est-ce qu'on y a mangé, surtout?
Je n'ai pas ce qu'on y a mangé. Je n'ai pas cette info.
Du poulet.
Et du coup,
parce que un moment pendant le mariage qui a lieu dans cet épisode, pendant
de l'oie et du canard.
De l'oie et du canard. Il y a un gros. Qu'est-ce qu'il bouffe? Une langouste à un moment?
Il bouffe des fruits de mer. Ouais.
Ouais. Et il est là.
Viserys, mon gars, il a plus de doigts. Couper des fruits de mer.
Ouais.
C'est
il galère. Ouais, et il est là, putain, j'ai payé pour cette bouffe, j'ai intérêt à la bouffe. Personne ne bouffe parce qu'ils sont tous en train de s'embrouiller là. Et
d'abord ils dansent.
Ouais.
Et après ça se tape. De ouf.
Ouais. Et tu sens qu'il est genre... moi, je vais le manger, ce poulet.
Moi, j'ai payé le homard.
Ouais. Tu sens qu'il est contrarié et que ça bouffe.
Il se venge sur le homard, quoi. Bref, du coup, en 97, après Aegon, donc après la conquête d'Aegon Targaryen, sous le règne de la reine Alysanne, qui n'est donc pas le roi Viserys, Daemon a été marié à Rhea Royce, un mariage évidemment d'intérêt, un mariage diplomatique dans lequel il n'a pas eu tant son mot à dire, mais écoutez, c'est la vie des nobles. Et ensuite, quand Viserys, donc son frère, est devenu roi, rappelons que Viserys est son grand frère, Daemon lui a demandé s'il pouvait s'il pouvait les divorcer. C'est pour ça que je disais, j'ai fait une vanne en mode, il a essayé. Il a vraiment, quand Viserys est devenu roi, il est allé le voir en mode, frère, maintenant que t'es roi, tu peux me divorcer vite-off, non? Je l'aime pas trop. Et Viserys, il était là, non, toujours pas. Enfin, l'intérêt de ton mariage existe toujours. Et Daemon, il était là, ah, ça me fait chier. Et du coup, Viserys, toujours l'homme courageux, lui a dit, écoute, je peux pas te divorcer, mais si tu veux, viens, je te nomme à mon conseil restreint. C'est comme ça que Daemon est rentré au conseil restreint, au conseil royal de Viserys. Comme ça, t'es pas obligé de traîner avec ta meuf. Tu peux juste être là à King's Landing et faire ta vie, tu coco. Et ta meuf, elle est dans le Vale parce qu'elle est seigneur du Vale, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur arrangement. Mais du coup, c'est pas Daemon qui a choisi cette épouse, mais c'est pas Viserys qui l'a forcé à l'épouser. Viserys, il avait zéro bail dans l'histoire. Par contre, il a refusé de les divorcer. Parce que je crois que ça se fait pas. En fait, à Westeros, ça se fait pas de divorcer. Donc, même roi, il était là vraiment. Non, on a déjà des problèmes avec l'église. Je vais pas faire ça parce que ta meuf te saoule. Alors que tu vas soulever la moitié de King's Landing tous les soirs. Vraiment, t'as l'air de. Bon, tu fais contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit.
Pourtant. Rhaegar avait fait annuler son mariage avec. La meuf de Dorne.
Elia Martell. Donc Rhaegar, toujours le père de Jon Snow. En fait, il était marié à une meuf, et après, cette meuf pouvait plus avoir d'enfants, et lui voulait trois enfants, et du coup, il a jeté son dévolu sur Lyanna Stark, la sœur de Ned Stark, qui est la mère de Jon Snow.
Donc avant, quand il y a l'espèce de scène de mariage qu'on voit à travers les yeux de Bran qui voyage dans le temps.
Oui, mais il avait trouvé un random septon pour le divorcer. Mais tu vois, c'est est-ce que c'est
il avait fait annulment l'annulation
c'est légitime.
Était non, l'annulation était dans les papiers que voit ce que lit Samuel Tarly.
Ah, donc on peut mais c'était aussi
donc on peut divorcer.
Deux, trois générations après, tu vois. Peut-être d'accord. qu'ils ont appris à négo, genre, ils ont négo l'exceptionnalisme de l'inceste. Peut-être qu'entre-temps, ils ont négo le divorce.
D'accord.
Mais non, c'est peut-être possible de divorcer, mais en tout cas, Viserys a dit non, je vais pas te divorcer de ta meuf au simple motif que t'as pas envie de traîner avec. Genre, c'est pas un bon motif, ça ne marche pas. Et au simple motif que t'as envie de soulever ma fille, ça ne marche pas non plus. Donc, on va pas vers ça. Du coup, Daemon passe un nouveau cap dans la fils de chien, puisque dans la vie de fils de chien, parce qu'il voilà, il commet littéralement un féminicide, et c'est pas inintéressant au-delà de tout ce qu'on vient de se dire, parce que il y a un vrai côté. Daemon, il a un côté de Jamie, tu vois, Jamie Lannister, de ce bad boy, de ce connard que t'apprends à aimer. Mais j'ai l'impression qu'il fait un peu un Jamie inversé, où plus ça va, plus il fait des dingues de plus en plus graves, tu vois. Non, bon, alors, dans l'épisode 1, on l'a vu castrer et couper des mains à plein de gens, ok, mais c'était des criminels, a priori présumés en tout cas, il y avait ces problèmes d'insécurité, n'est-ce pas, à King's Landing, il faisait son travail, à Cab néanmoins, ok. On l'a vu essayer de serrer sa nièce, mais sa nièce était déjà pas 100% contre, et c'est un Targaryen, et c'est un peu leur mood. On l'a vu.
Et au final, il l'a pas serré.
Et ouais, au final, il l'a pas serré. Quoi. On l'a vu tuer Crabfeeder, mais Crabfeeder, c'était un méchant, entre guillemets, donc ok. Et là, il est vraiment en mode, en fait, ça me fait chier d'être marié avec cette meuf, du coup, ma solution, c'est que je vais la buter, et la meuf, elle est cool, vraiment, ils l'ont rendu cool, ils étaient pas obligés, on n'a pas l'info qu'elle est cool.
Mais moi, je trouve ça encore mieux qu'il l'ait rendu cool, tu vois. Je sais vraiment, ça... Moi, j'ai besoin de méchants charismatiques quand je regarde une œuvre de fiction. J'ai besoin de personnages charismatiques, de personnages qui vont me donner envie de les détester un petit peu. Et moi, j'aime détester Daemon. Et quelque part, une
partie. Ouais, mais toi, tu sais que tu, enfin, on
tout
sait
comme
qu'il
comme j'aime regarder The Joker dans Batman.
Oui.
Tu vois.
Mais je pense que pour plein de gens, c'était pas encore sûr que c'était le méchant. Tu vois. Il y avait ce truc de est-ce que c'est le méchant ou est-ce que c'est un Jamie? Et en fait, c'est
Jamie,
intéressant parce
mais
que
peut-être qu'il va. On est que dans du gris avec Game of Thrones de toute manière.
Oui, rappelons qu'ils ont dit que tout est des nuances de gris. Personne n'est manichéen. Personne
en fait, on les déteste tous. Mais on aime les détester. On les déteste avec délice. Tu vois.
Évidemment. Et moi, parmi mes questions Instagram, il y avait quelques questions de type est-ce que Rhaenyra c'est une méchante? Est-ce que Rhaenyra et Daemon, c'est les méchants? Et je suis là.
Genre,
écoutez les jeunes.
Ici, c'est pas Lord of the Rings. Ici, c'est pas les Rings of Power. Il y a pas les méchants qui sont méchants parce qu'ils sont méchants d'un côté et les gentils qui sont gentils parce qu'ils sont gentils de l'autre.
C'est genre,
tout le monde est un peu méchant, tout le monde est un peu gentil, tout le monde fait ce qu'il a à faire pour survivre.
Est victime de ces
parce que la vie, elle est horrible. Et donc, tout le monde fait ce qu'il peut pour survivre. Et donc, si, tu vois ce que je veux dire? Et donc, tout est exacerbé et tout est puissance 1000, mais tout comme Otto Hightower, au final, dans cet épisode, depuis le début, on se dit quel enculé, quel manipulateur, il a vendu sa fille au truc, nanana. En fait, il veut aussi éviter qu'il y ait la putain de guerre civile.
Excellente transition, parce que la scène 2 de l'épisode,
ouais,
c'est Otto Hightower et Alicent. Donc il y a un petit moment de Rhaenyra est en route vers Driftmark, vers les Velaryon, avec son père et Kristen. On y revient une fois qu'ils accostent. Mais on a d'abord une scène de Otto Hightower qui s'est fait licencier par Viserys dans l'épisode précédent, qui se fait bannir, on ne sait pas, mais en tout cas qui doit quitter au moins le château. On ne sait pas s'il quitte King's Landing en entier ou le château. Moi, je pense qu'il part de la ville, hein, clairement. Je pense qu'il se barre parce que Alicent vient vraiment en mode « j'ai pas envie que vous partiez » et tout. Je pense qu'il s'en va. Parce que j'ai vu des gens dire peut-être qu'il est juste banni du château, mais pas, enfin du Donjon Rouge, mais pas de la ville. Et je suis là « oui, mais dans tous les cas, il va retourner chez lui, quoi ». Il a un endroit où il habite, hein, c'est Old Town. C'est la famille la plus puissante de Old Town. Clairement, il va rentrer et laisser sa fille toute seule.
Il revient pas au mariage. Hein.
Ah, il est pas. Non, il a pas le temps de revenir pour le mariage. Il est pas invité, je pense. Et c'est l'occasion pour Otto et Alicent d'un dialogue qui est à la fois très intéressant et assez chargé de sens pour les deux personnages, et notamment pour Alicent qui vit vraiment.
Bien sûr, c'est ce qui va faire twister Alicent.
Oui, c'est vraiment. Il plante des trucs dans sa tête, incroyable. Pour toi, il veut dire quoi ce dialogue? Qu'est-ce qui se passe de notable dans ce dialogue?
Ce dialogue, c'est quoi?
T'as...
C'est listen to me. On sait Moi, je le voyais comme un misogyne Otto Hightower.
Ok.
Là, depuis ce dialogue-là, je le vois... Le curseur, il a un petit peu basculé vers plus genre réaliste que misogyne.
Mais parce que t'es team verte maintenant.
Mais je sais pas. Mais tu vois, on en parle quelque moins. Part, il dit, écoute...
Mais c'est pas faux ce qu'il dit.
On sait qu'ils accepteront, jamais régnera.
Une femme reine, ça ne marchera pas. Peu importe ce qu'ils disent, le roi, ça ne
marchera pas. Mon avis, ton avis, l'avis de Rhaenyra, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Donc il va y avoir une guerre, le peuple va se soulever, Rhaenyra a du pouvoir. Si Rhaenyra a trop de pouvoir, elle aura le pouvoir de tuer tes enfants pour s'assurer...
Parce que sa menace principale pour l'héritier au trône, c'est le fils d'Alicent et de Viserys, voilà. C'est Aegon II, le petit gamin à qui Otto voulait la marier, et Viserys a dit c'est non, c'est stop.
Et donc, il lui dit en gros, la première chose qu'elle fera, c'est tuer tes enfants.
Ouais.
Est-ce que tu veux qu'il tue tes enfants ?
Ouais.
Non. Donc,
c'est bien parce que prépare c'est une question, tu vois, où il y a
prépare
pas,
Aegon
pas,
à piéger, quoi. Prépare Aegon à gouverner.
En gros, il lui dit, t'as deux choix. Soit tu prépares Aegon à être roi, et ça va impliquer du coup trahir Rhaenyra et préparer ton fils à la succession alors qu'il n'est pas le choix du roi. Soit tu rampes au pied de Rhaenyra et tu la supplies de vous épargner, quoi.
Ouais.
Et en fait, c'est intéressant.
Et lui dit, tu choisis
de...
quoi ? Tu choisis tes enfants ? Je crois qu'il lui dit... Il dit pas, genre, tu choisis tes enfants ou tu... En gros,
c'est
il le sous-entend.
Genre, tu choisis ta famille,
Il sous-entend, tu choisis tes enfants ou tu choisis ta meilleure pote qui vient de te mentir.
Oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il commence le dialogue en la culpabilisant sur si papa s'est fait licencier, c'est ta faute. Parce que lui, il a été dire à Viserys, Rhaenyra, elle a couché avec Daemon.
Ouais.
Et Alicent, elle a été dire à Viserys, écoute, Rhaenyra, elle m'a juré que non et je lui fais confiance. Et du coup, Viserys s'est dit, bon bah ok, team Rhaenyra, je vais lui en parler. Et Rhaenyra lui a dit, bah en fait, vire Otto. Il est en train de vraiment faire des calomnies sur moi, ouais. Il me fait surveiller et tout. Au final, il avait pas 100% tort.
Exactement.
Mais du coup, direct, Alicent, elle arrive et il la met en culpabilité. Tu vois, il est là en mode, t'es content ? T'es content de voir ton vieux père qui se barre ? Et elle est là, mais non, mais tu vas me manquer et tout.
Mais quelque part, il a fucking raison, quoi. Parce qu'elle lui a putain de menti. Elle lui a menti.
Il a tort parce qu'il pense que Rhaenyra, elle a couché avec Daemon. Il a tort, lui aussi, il a pas l'info.
Ouais,
personne
d'accord.
Personne n'a l'info, il y a que Christophe qui va donner l'info. D'accord.
Ouais, mais si tu veux, elle a quand même menti. C'est un truc que je t'ai envoyé.
Mais elle a menti à qui, Alicent ?
Non, Rhaenyra.
Mais bien sûr, Rhaenyra, elle a menti à Alicent, mais ouais. Ni Otto, ni Alicent ne le savent. En fait, tout ce que dit Otto, il le sait pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il lui dit, si Rhaenyra est l'héritière du trône quand Viserys meurt, il va y avoir une guerre civile parce qu'ils accepteront jamais une reine sur le trône. Ça, c'est à la limite, genre, factuellement, c'est vrai. On sait que, littéralement, au roi d'avant, il y a eu un vote de tous les lords importants de Westeros pour est-ce qu'on met Rhaenys, donc une meuf sur le trône, ou est-ce qu'on met un random Viserys qui a une gueule de pain de mie. Et tous les gars ont dit, on met les couilles sur le trône. Donc ça, ok, il le sait. Mais le fait que Rhaenyra soit prête à menacer, voire à tuer les enfants de Alicent, c'est Otto qui lui dit. Il y a rien qui le prouve pour l'instant.
Ouais,
et c'est un peu un truc prophétie autoréalisatrice potentielle, vois. Quand il met Alicent dans ce truc de défiance, il l'empêche de nouer le moindre lien d'alliance et de sororité peut-être avec Rhaenyra. Ouais. En fait, peut-être quand Viserys y meurt, ben Rhaenyra c'est son héritière et Alicent elle l'aide et c'est super cool, tu vois. Mais Otto il dit ça va jamais marcher.
Pour moi, ce lien il est déjà brisé. Quand il y a la discussion devant l'arbre et l'arbre où Rhaenyra dit
elle jure sur la tête de je sais plus qui bah sur la
avec
tombe de sa mère.
Elle lui dit Daemon ne m'a pas touché.
Oui.
Bah ça c'est un mensonge.
Ah non, mais
elle lui ment, elle prend le high ground. Et elle renverse la situation en sa faveur.
Mais ça, Alicent, elle ne sait pas encore qu'elle lui a menti. Donc elle pourrait, et peut-être qu'elle pourrait s'entendre. Genre, imagine, Alicent, elle va. Bon, on en parlera. Bon, ok, on en parlera au moment Kristen.
Mais elle va l'apprendre dans pas
imagine,
longtemps, parce qu'il y a l'épisode Kristen.
Oui. Mais Alicent, elle va voir Rhaenyra et elle lui dit, je sais que t'as couché avec Kristen Cole et tu me l'as pas dit. Et Rhaenyra, elle lui dit, ouais, bah toi, t'as dragué mon père pendant 6 mois et tu me l'as pas dit. Donc ouais, peut-être on peut être ok sur, on peut pas tous dire parce que la vie c'est compliqué. Et vas-y, on est alliés. Et fin de l'histoire, House of the Dragoness, et c'est bon, c'est un feel good movie, c'est une sitcom, tu vois. Genre, on pourrait avoir ça, mais tous les gars comme Otto Hightower, ils font que chuchoter à leur oreille, ça marchera pas. Ça marchera pas. Une femme reine, ça marchera pas. Et vous pourrez jamais être potes et ça marchera pas. Et à la fin, bah ouais, ça marche pas trop. Bah, guess what? Peut-être que s'ils arrêtaient de se répéter que ça marcherait pas, bah ça marcherait, quoi. Mmh. Merci, Loulou.
Ouais, mais moi, tu vois, le problème, c'est que tout ça, c'est valable. Mais il y a une scène à la fin de l'épisode où Rhaenyra montre un peu son vrai visage. Et où elle dit... Et où elle dit à Daemon, clairement, genre, bah, enlève-moi, amène-moi à Père Dragon, on s'en bat les couilles, on
mais
brûle tout.
Mais je dis pas que Rhaenyra, c'est une good girl. Mais et je me dis qu'à ce moment-là,
mais mec, mais
Alicent,
en fait,
elle le sait pas. Et que peut-être.
Ouais, mais je
que Rhaenyra, si elle a une Alicent qui est sa pote, qui est son amie, et ben, bah, elle devient pas comme ça aussi, tu vois. Peut-être qu'elle cède pas à ses bas instincts de, je vais suivre ce mec chelou de 20 ans de plus que moi, qui en plus se trouve être mon oncle, bon, notre relatable, tu vois. Peut-être parce qu'elle a une bonne copine, qui est peut-être un peu plus qu'une copine, on en reparlera. Bref.
Waouh, mais du coup, c'est très méga optimiste, quoi. T'es vraiment une féministe optimiste, hein.
Mais moi, je suis pas une féministe optimiste.
Pour moi, vraiment, pour moi, c'est un peu inévitable que effectivement Rhaenyra va se sentir menacée. On l'a vu, ça a été justifié par le fait que quand ils vont dans le spectacle, tout le monde est déjà contre Rhaenyra, tu vois.
Oui,
tout
mais
le monde est contre
temps,
elle.
S'en fout
tout
un
le
peu,
monde,
elle
tout
est là,
ouais, elle s'en fout un peu, mais tout le monde va la. Tout, en fait, c'est sûr que tout le monde, que personne ne va accepter.
Oui, mais
ce
ça,
truc.
Ça fait genre. Alors, je sais pas combien de temps il y a eu depuis l'épisode précédent. C'est pas hyper clairement dit dans cet épisode, mais ça fait genre un mois max, tu vois. Genre, c'est récent.
Ah non, ça fait un an, je pense.
Un an ?
Ouais, c'est un an, je pense.
Mais non, parce que la gamine de Alicent, elle est pas beaucoup plus vieille. C'est toujours un bébé qu'elle porte sur ses genoux. J'ai check le. Alors, c'est un gros bébé depuis le début. Mais la petite Elena Targaryen, fille de Alicent et Viserys Targaryen, notez-le. Est toujours un petit bébé. Je pense que ça prend. En plus, donc ils vont de King's Landing à Driftmark, c'est vraiment pas très loin. C'est peut-être une journée ou deux de bateau, donc disons le temps d'organiser tout ça. C'est quand même le roi qui se déplace et tout. Quelques semaines max, quoi. Donc tu vois, ça fait pas si longtemps, il y aurait peut-être moyen de réparer ces liens et de nouer des nouveaux liens de femmes qui deviennent adultes et qui découvrent la sexualité et tout ça.
J'ai interprété la scène.
Mais tout le monde rate. Tout le monde se ment. Personne ne se fait confiance.
J'ai interprété la scène devant l'arbre là comme une grande rupture, un mensonge de Rhaenyra, une manipulation,
ah, mais oui. Du côté Rhaenyra,
un switch,
c'est une rupture.
Un switch, un truc qui fait que leur amitié ne sera plus jamais comme avant.
Mais je pense que c'est fait pour ça. Je pense que c'est fait pour que le public de la série comprenne que Rhaenyra et Alicent sont pas potes et que leur relation qu'on a vue au début dans l'épisode 1 très mignonne et potentiellement plus que mignonne parce qu'elles sont potentiellement plus qu'amies. Cette relation, on n'est pas sur une histoire de sororité, on n'est pas sur une histoire d'amitié féminine. C'est pas ça la danse des dragons. Donc au moins, quand Rhaenyra, elle regarde Alicent et qu'elle lui dit, je te jure sur la tombe de ma mère que Daemon il m'a pas touché. Et
avec
qu'on
le
les a
visage
vu.
Des old gods derrière elle.
Voilà. Et que nous, on l'a vu Rhaenyra le slip par terre avec Daemon à se frotter contre le mur. On est là, ok, ok.
Bah, et confirmé parce qu'elle dit à Daemon dans la fin de l'épisode, genre elle le regarde en souriant et elle lui dit, enlève-moi. Et on se barre
ah non,
et on fait la guerre
elle
à tout le monde.
Elle a les yeux qui crient braguette, la gamine.
Ouais,
c'est
mais non, mais elle
monde.
A les yeux qui crient aussi, genre le feu, le chaos. Elle est vraiment, genre, elle est prête à
chaque
se niquer.
Chaque fois
qu'un
Targaryen naît, les dieux jettent une pièce et Rhaenyra, elle est peut-être tombée du
non,
côté.
Rhaenyra, elle
peu,
est tombée
gourmand,
sur la tranche,
quoi.
La pièce.
Mais tous les Targaryens cool, ils sont sur la tranche, tu vois. Anyway, c'était Otto et Alicent Hightower. Et petit détail important, cette scène est l'occasion de voir plus en détail le blason de la maison Hightower, qui est donc une grande tour, mais sur le cheval, attention les niches, sur la selle du cheval de Otto Hightower, sur les, je sais pas, les habits du cheval, cette tour est surmontée d'une flamme verte, puisque comme on le sait maintenant, quand Old Town déclare la guerre, la flamme est verte, et du coup c'est pas anodin qu'au moment où Otto fait ses adieux, quelques temps avant que sa fille sorte sa plus belle robe verte de Fiona de Shrek, on a le blason entier de la... C'est pas ma vanne, hein, c'est vraiment... C'est littéralement la même robe, donc c'est pas ma vanne, c'est tout Internet. On a le blason entier de la maison Hightower avec cette flamme verte qui flotte au fanion. Alright. On a ensuite, honnêtement, je pense que c'est peut-être une de mes scènes préférées de l'épisode. Pas forcément parce qu'elle est très subtile, encore une fois, mais parce que c'est l'occasion d'introduire un personnage que j'adore et qui fait partie des archétypes de personnages qui sont mes préférés dans ces univers de cons, qui sont évidemment les espions, les chuchoteurs, les pas gâtés par la nature, les pas privilégiés.
Ah, j'adore cette scène, putain.
Qui font de leur faiblesse une force. Let me introduce you, Larry's Club Foot, vous le connaissez déjà, Larry's pied beau, Larry Strong, fils de Lionel Strong, actuelle main du roi, nouvelle main du roi, après le démission forcée de Otto Hightower, frère de Arwin Strong, professionnel en portée Rhaenyra sur son épaule comme un sac de patates pendant des bagarres royales, on en reparlera aussi. Larry's qui est donc né avec un pied beau, il est donc handicapé, il est boiteux, il n'est pas fort à la bagarre, mais il est very very smart et il aime bien chuchoter à l'oreille des jeunes femmes en reniflant des fleurs qui ne devraient pas pousser ici finalement. Et on a, du coup, on a eu cette introduction de Larry's pied beau qui était dans le cercle des femmes, qui disait « moi je suis pas très doué pour la bagarre et la chasse, est-ce que je peux traîner avec vous ?» et qui mangeait ses meilleurs cookies en écoutant les potins et les rivalités entre les femmes, qui se dit je me fais un peu chier aujourd'hui. Est-ce que j'irai pas raconter à la reine que sa meilleure pote slash belle-fille, quand même, c'est une réalité, s'est probablement fait troncher avant-hier, quoi.
Ouais.
Let's fucking go ou pas? Est-ce qu'on a kiffé ou pas cette scène? Qu'est-ce qu'on pense de Larry?
Moi, j'ai kiffé cette scène.
Qu'est-ce qu'on pense de
je trouve que lui, c'est un bon Littlefinger Varys. Un bon
fouteur de merde,
un bon fouteur de merde. Ça me rassure parce que il arrête pas de parler en ellipse bizarre, il est vraiment genre
ah non mais le gars il parle en
ellipse messire. J'aime bien les personnages, j'aime bien les personnages dégueux comme ça.
Vraiment il a les cheveux gras, la peau grasse.
En fait il met un petit
en mode voudriez-vous savoir c'est Grima langue de serpent, tu vois, il est en mode
Grima langue de serpent.
C'est dans le Seigneur des Anneaux, cette petite saga fantasy.
Ouais.
Tu sais il y a le roi du Rouen.
Ah ouais, le mec dans Fringe là.
Ouais. Et le roi du Rouen, il est grave possédé, il va très mal, et il a un être qui ressemble un peu à Severus Rogue qui lui chuchote à l'oreille, et qui évidemment lui donne les pires conseils et l'encourage dans, enfin, il est ensorcelé, quoi.
Ouais.
Et du coup, Larry, il a un petit côté genre.
J'ai confondu deux rois dans Seigneur. Moi, il me donne une vibe de Varys, tout simplement.
Oui, bah oui.
Que je kiffe, tu vois, le caresser proto. Les gens dans le sens
il
du
poil.
Il
s'appelle Larry's. Son nom, c'est un mélange entre Littlefinger et Varys. Genre, le proto est sûr, c'est incroyable. Donc oui, c'est vraiment, quand il arrive parler à Alicent, genre, c'est Alicent qui se recueille devant l'arbre-cœur, elle est là, « Ah non, mon père est parti, je n'ai plus d'amis. » Alicent, elle se sent très seule, on va en reparler, mais vraiment, elle est très seule, elle l'a dit à l'épisode précédent, et ça s'est pas arrangé. Et en plus, la maternité a pas l'air de l'épanouir de ouf. Je me demande si on n'est pas sur un petit postpartum, je vous avoue, une petite dépression postpartum. Et du coup, elle est là, devant son arbre-cœur, alors que c'est pas sa religion, en plus, c'est vraiment juste le truc qui lui rappelle Rhaenyra. Mm-hmm. Sa religion, à elle, c'est les sept, donc elle va au septuaire, elle prie devant des bougies, on l'a vu faire avec Rhaenyra. Quand elle est dans le jardin de l'arbre-cœur, pour moi, elle pense à Rhaenyra, son amie, et peut-être un peu plus. Et là...
Pourquoi toujours pas.
On en reparlera, mais j'ai une quote de... En fait, j'ai plein de quotes de l'actrice qui joue Alicent, qui revient sur cet épisode, mais on en parlera du coup pour au moment où on essaiera de comprendre pourquoi Alicent protège Kristen, c'est quoi son bail et tout. Mais il y a une ou deux quotes sur est-ce qu'elle avait une relation, est-ce que c'était de l'amour entre ces deux-là, ou est-ce que c'était de l'amitié plus un petit peu saphique. Et mais bon voilà, elle est dans cette devant cet arbre cœur qui lui rappelle Rhaenyra, et il y a ce gars qu'elle connaît pas vraiment hein, fondamentalement, qui est certes le fils de la main du roi, donc le fils du remplaçant de son père, qui commence à lui dropper des bails de ah cette fleur qui ne devrait pas pousser ici, c'est une fleur exotique de Braavos, et pourtant elle s'épanouit dans cet environnement si différent du sien, ce qui est pas une façon très subtile de parler d'Alicent Hightower,
ouais,
littéralement.
Ouais. Ouais, mais moi je le trouve incroyable ce perso.
Moi je l'aime bien. Bah, j'ai vu qu'il y avait des gens sur le chat qui disaient il est caricatural.
Ah non, il est incroyable. Il est génial.
Déjà, Littlefinger, il était hyper caricatural.
Bien sûr.
Littlefinger, tous ses dialogues, c'est Varys. Il ne se dordait pas la moustache en mode.
Ouais, exactement. Mais c'est génial.
Et moi, c'est mes préférés.
Mais c'est trop bien.
J'aime trop.
C'est pour ça qu'on l'aime.
Et en même temps, dès qu'il parle, tu sens que c'est important, tu vois. Je pense qu'il y a zéro personne qui a regardé cet épisode et qui s'est dit « Ah ouais, c'est le boiteux, peut-être ils vont avoir, je sais pas,
moi, je trouve ça bien qu'ils aient planté sa graine il y a deux épisodes, qu'on l'ait vu s'asseoir avec les meufs pour écouter, qui dit « Vous savez, quand on vous donne pas la parole, on écoute. » Je trouve ça fabuleux, c'est un Varys, c'est trop bien.
Il est trop bien. Il est trop bien. J'étais très contente. Je trouve que ça marche bien, cette idée de... Alors, il dit pas à Alison si Rhaenyra a bu ou pas le fameux thé, le fameux moon tea, le thé abortif. Rappelons que l'épisode dernier, on était en désaccord avec Tequila Tex, parce que Tequila Tex pense que Rhaenyra n'a pas bu le thé et qu'elle va potentiellement, du coup, avoir un polichinelle dans le tiroir. Moi, je pense qu'elle a bu le thé, car à 18 ans, quand tu fais une première fois avec quelqu'un avec qui tu devrais pas la faire, tu prends la pilule le lendemain, y a pas de problème, tu veux pas t'aggraver ta situation, surtout que c'est la reine, elle est censée être vierge et tout machin. Moi, j'étais là, elle prend la pilule. Toi, t'étais là. Non, parce qu'elle veut défier son père qui lui a envoyé.
Non, mais surtout, moi, encore une fois, je peux pas en parler sans spoiler.
Non, tu peux pas parler. Mais du coup, donc là, on nous dit pas si Rhaenyra a bu ou pas le thé, mais en tout cas, Larys se dit.
C'est pas pour des raisons incel que j'ai cru qu'elle avait pas bu le thé.
Non, bien sûr. C'est pour des raisons. Il a lu les livres. Et moi aussi. Et du coup, on sait des choses et vous savez pas. Donc il a relié des points. Il y a une partie des points que vous n'avez pas. Du coup, on va pas vous les donner.
Et en fait, maintenant, ça s'éclaircit en ayant vu.
En ayant vu que la girafe est
prochain trailer, je comprends mieux ce qui se passe.
Voilà. Disons qu'il a relié les points et finalement c'était pas une girafe, c'était un dromadaire, mais c'est pas grave, on n'était pas très loin. En tout cas, a priori, soit Rhaenyra.
C'est d'où cette histoire de girafe? Parce que c'est la deuxième fois que tu en parles.
J'ai parlé de girafe deux fois.
Relier les points et ça fait une girafe.
Ah, pourtant, je suis plutôt sur un rail de dromadaire parce que j'ai revu il y a pas longtemps une série où un mec explique que en disant que quand tu travailles en équipe, au bout d'un moment, ça fait trop de gens qui ont trop d'opinions et ça fait un truc raté. Et il dit la vanne, c'est que, un chameau, c'est un cheval qui a été designé par une équipe qui arrivait pas à se mettre d'accord. Parce qu'un chameau ressemble à rien. Donc, je suis plutôt sur les chameaux et les dromadaires en ce moment. Écoutez. On reprend le rythme. Du coup, je trouve ça intéressant que Larys ne confirme pas si Rhaenyra a bu ou pas le thé, parce que c'est pas l'important. Et après, rappelons que biologiquement, statistiquement, on tombe pas enceinte dès sa première fois. Enfin, c'est pas forcément le cas, quoi. Il y a plein de moments dans la vie où on a des rapports pénétratifs qui ne font pas qu'on tombe enceinte. Qu'elle ait bu le thé ou non, on n'est pas très tard après, mais a priori, il y a pas de storyline de Rhaenyra serait enceinte, sauf surprise, quoi. Tu dis plus c'est une Zumba, je dis toujours c'est une Zumba. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant que Larys apporte cette info à Alicent, parce que l'info, c'est pas Rhaenyra est enceinte, et je trouve ça bien que la série dise c'est pas ça sur lequel il faut s'apesantir. Et c'est même pas tant avec qui Rhaenyra a couché, parce que c'est pas quelque chose que Larys peut apprendre à Alicent, c'est elle t'a menti.
Ouais.
Et c'est ça qui suffit à Alicent pour être en mode ok, let's fucking go. C'est la goutte d'eau, quoi.
C'est la goutte d'eau.
En fait, et moi, je l'interprète comme...
Et c'est pour ça que Hightower, il lui dit, tu veux faire confiance à ta famille ou à cette meuf qui te ment?
Oui.
Et là, elle dit, ben, je sais pas, elle m'a pas menti. Et après, c'est genre, en fait, elle m'a menti, donc, en fait, il faut que je me ressente sur ma famille.
À ton avis, comment il sait, Larys? Comment il sait que le thé lui a été amené et qu'il a été fabriqué par le maître lui-même, puisque il dit pas à Alicent, elle a reçu une pilule du lendemain. Il lui dit, je suis inquiet pour sa santé parce que récemment, j'ai vu que le maître lui a lui-même préparé un thé qu'il lui a apporté tard dans ses appartements, tel jour spécifique dont peut-être vous vous souvenez pour une autre raison. Et Alicent relie les points parce qu'elle n'est pas que con et que c'est exactement ce que Larys est en train de faire. Et du coup, elle comprend que s'il y a un thé spécial le soir où Rhaenyra est censée avoir peut-être perdu sa virginité, dans un monde où il y a un thé qui fait office de pilule le lendemain, c'est probablement ce thé-là. Comment il sait ?
Je pense que c'est pas très important de savoir comment il sait.
Okay.
Comment il sait ça, le fait qu'il sache implique que c'est un personnage qui potentiellement pourra avoir une place de Master of Whispers.
Oui. Dans une, le rôle de Varys du coup, le maître des espions.
Dans une prochaine royauté, quoi, en l'occurrence, ça le positionne comme potentiel Master of Whispers de Alicent.
Tout à fait.
Voilà, c'est tout ça. Donc puisque, on suppose
là,
qu'il
en
a
tout cas, lui se place dans la team Alicent.
Comment s'appelle Misaria,
la compagne de Daemon qui est comme, le White Worm.
Tout comme Misaria quand elle a des enfants espions là.
C'est Little Birds.
Ça la positionne comme potentiel Mistress of Whispers de Daemon. Ou de qui que ce soit d'ailleurs.
Ça aurait pu être celle de Otto s'il était resté ouais. la main, par exemple.
Voilà, exactement.
Mais du coup, notez que dans la famille Strong, on a trois membres, trois mecs. On a Lionel Strong, l'actuel main du roi, ce gars qui donne toujours des bons conseils au roi. On a Larys Strong, qui est Larys Clubfoot, qui est en train de chuchoter à l'oreille d'Alicent Hightower dans les jardins du palais. Et on a Arwin Strong, qui est plutôt, qui a l'air d'être plutôt intéressé par Rhaenyra. Donc on a une famille qui est quand même un peu sur tous les fronts, dans les bons bails, en accès VIP, dans les réunions hyper niche et tout. Ça se place bien chez les Strong et c'est hyper intéressant à regarder comment ça se développe. Et j'adore Larys, il est trop bien.
Moi je voudrais, pour les gens qui regardent le Twitch, là, donner une petite, information. Quand je regarde mon téléphone, je regarde le chat en fait.
Ah oui, le j'ai mec mis, est pas là en train d'envoyer des Twitch, textos à ses potes.
Mais parce qu'en fait, j'ai cette frustration depuis le début du podcast, c'est que je
de pas
j'ai
chat,
pas
des
bons yeux.
L'ordi est un peu loin.
L'ordi est un peu loin, j'ai pas de bons yeux, j'arrive pas à lire ce qui se passe
même
dans le chat. Moi j'aime bien avoir le truc oui. immédiat du chat.
On est sur Twitch pour l'interactivité.
Je
si
lis
tu
le
tu vois des trucs sur le chat où t'as envie de
exactement,
réagir.
Exactement, exactement.
Il y a pas de problème. OK du coup, Larys, Alicent, j'ai une petite info niche pour vous parce que je sais que vous aimez le lore extrêmement tight. Du coup, quand Larys est en train de raconter à Alicent qu'il parle du coup d'une fleur qui ne pousse qu'à Braavos, et du coup que c'est étonnant qu'elle pousse dans les jardins de King's Landing, puisque selon toute attente, elle devrait dépérir ici. C'est à la fois bien évidemment une métaphore pour Alicent, c'est potentiellement une métaphore pour lui aussi, qui n'est pas né dans ces très beaux jardins. Mais c'est aussi une référence extrêmement niche à Game of Thrones, parce que dans Game of Thrones, Daenerys, donc elle a été exilée tout bébé de Westeros, elle n'a pas connu Westeros, et elle a grandi, a priori, quelque part à Braavos, dans une maison avec une porte rouge et un citronnier. Et c'est un des seuls endroits où elle se rappelle avoir été heureuse. Et donc Game of Thrones étant écrit à la première personne du point de vue de différents personnages, dans les chapitres de Daenerys, notamment quand ça va très mal, elle est en train d'obséder sur la maison avec la porte rouge et le citronnier. Et c'est très important dans sa construction personnelle. C'est son endroit refuge où elle va dans sa tête et l'endroit où elle se dit peut-être que si tout va mal, je pourrais juste m'isoler là. Et bah comme dit Kristen Cole à Rhaenyra, on part, on se casse à Essos et on vit notre vie. Peut-être qu'un jour elle pourrait tout plaquer et aller là. Et George R.R. Martin a déjà dit que c'était important que Daenerys ait ce souvenir et que c'était important que ce soit spécifiquement cette porte rouge et ce citronnier. Ok ? Et il y a des gens, des gros nerds, qui ont calculé qu'en gros, selon ce qu'on sait de la météo de Braavos ou je sais pas quoi, genre les citronniers devraient pas pouvoir pousser à Braavos. Du coup, on a de nouveau la métaphore de on a une plante qui pousse là où elle devrait pas pousser. Et ce que les gros nerds ont déduit, c'est que Daenerys n'a peut-être pas été à Braavos pendant tout ce temps, elle était peut-être ailleurs. Et peut-être que du coup, il y a des familles de Game of Thrones qui, sans qu'on le sache, auraient protégé l'héritière Targaryen, comme par exemple les gens de Dorne, qui historiquement n'aiment pas les Targaryens.
Citrons.
Là où poussent les citrons. Et du coup, le fait que George R. R. Martin ait dit c'est important que c'est un citronnier, c'est pas hyper anodin. Et pendant toute cette scène où Larys parle à Alicent d'une plante qui pousse là où elle ne devrait pas se trouver, derrière eux il y a une fresque murale, et sur cette fresque murale il y a un citronnier immense, évidemment, puisque les showrunners de House of the Dragon sont des gros nerds de Game of Thrones et que du coup ils font des clins d'œil aux lecteurs et aux lectrices du livre et aux gros nerds du livre, hein, principalement. C'est pas juste les lecteurs et les lectrices, moi j'ai pas cette anecdote, je l'ai parce que je suis sur internet, je l'ai pas eu en lisant les bouquins, mais c'est probablement pas un hasard et c'est un petit clin d'œil qui fait plaisir. Ok, scène 4 de cet épisode d'une heure, vous avez le temps ou pas? Ok, on arrive à Viserys, arrive à Driftmark chez Corlys Velaryon, qu'il a décidé de venir voir. Alors on sait pas s'il a essayé de l'inviter ou pas. A priori, non. Il a compris que Corlys est... Donc, on rappelle que Corlys est toujours très fâché contre Viserys, qui n'a pas voulu épouser sa fille. Et il ne l'a pas revu depuis qu'il est parti de la salle du conseil, a priori. Et que Viserys a annoncé qu'il allait épouser Alicent, plot twist. Il a mené sa guerre avec Daemon sur les Stepstones. Et quand Daemon est revenu dans l'épisode précédent, Viserys lui a dit « Où est Corlys ?» Et Daemon lui a dit « Il est rentré chez lui, en fait. » Et du coup, quand Viserys s'est dit « Bon, il faut que je marie Rhaenyra à Lennor Targaryen », il a décidé d'y aller. Je pense pas qu'il a essayé d'inviter Corlys, parce que je pense que Viserys est un petit peu un miskin et que du coup il s'est dit « Ah non, si je l'invite, il va pas venir, du coup je vais y aller ». Alors, je vous vois sur le chat parler des fresques dans la chambre d'Alicent. En parlant de fresques murales, avez-vous celle de la chambre de la reine ? Sachez que, alors cherchez mural House of the Dragon sur Google Images, les trois quarts des fresques Targaryen représentent énormément de gens en train de se gangbang. C'est vraiment des partouzes géantes. Donc dans la chambre d'Alicent, qui est si choquée par la sexualité, hein, il y a des fresques en mode Kamasutra, de silhouette nue, qui s'emboîte, qui se machin.
C'est pas des, des fraises qui viennent de, des sauces, ça?
Mais je sais pas, parce que c'est un peu partout dans le château. Et quand, dans le générique, non, pas dans le générique. Je sais plus, il y a un moment où, oui, je crois que c'est dans le générique, où il y a, du coup, quand on arrive sur le symbole de Rhaenyra avec son pendentif qu'elle a sur son collier, là, on passe au-dessus d'une fresque où il y a un dragon qui surplombe plein de blasons, et il me semble que déjà sur cette fresque-là, il y a un côté un peu cul. Enfin, il y a beaucoup de fresques avec du cul, quand les Targaryens sont au pouvoir dans le Donjon Rouge. Leur thème, chez Déco, c'est le Kama Sutra. Donc, beaucoup de fresques du cul. Voilà. Back to, Viserys arrive comme un miskin. Il est en mauvaise santé, hein. Ça se passe mal.
Ouais.
Moi, au début, j'étais là, petit mal de mer, ok, tu vois. Il est habitué à être sur la terre ferme, mais en vrai, on va le voir, il va très mal, hein, tonton Viserys. Il arrive à Driftmark, qui est du coup le siège de la famille Velaryon. Il y a son père. Il y a Lénor et son gars. On va apprendre que c'est son gars. Il y a Lena et un des membres de la famille. Et lui, il est là en mode, bah d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Et même la main du roi s'offusque de, en fait, on est censé sortir de chez soi pour dire bonjour au roi, qu'est-ce qui se passe? Et Viserys, c'est tellement un miskin, il va pas bien, comme vous dites, c'est un peu une loque et tout, il est là... Je suis fatigué, vas-y, on rentre dedans, vas-y, on fait pas des problèmes diplomatiques et tout, on y va, on va pas s'offusquer pour... est-ce qu'il est sorti ou pas et tout, mais c'est chaud. Rappelez-vous, dans Game of Thrones, un des plot points hyper importants du début de la saison 1, c'était que Robert Baratheon vient en visite à Winterfell, le roi vient en visite, et c'est l'honneur du château, c'est l'honneur de Winterfell, il y avait genre 200 personnes dans la cour pour l'accueillir, pour le voir, pour voir sa famille. Alors ok, King's Landing et Winterfell, c'est très très loin, donc c'est très rare que le roi vienne jusqu'à Winterfell, parce que c'est au nord. Et Driftmark, c'est beaucoup plus près. Mais c'est pas tous les jours que le roi vient à Driftmark, et il y a vraiment une insulte totale de la part des Velaryon envers la famille royale, de « ok, on est toujours fâchés ». Donc Viserys, il arrive comme un miskin et tout, il est là « ok, d'accord, on va faire ça ». Et on a un vrai exemple de diplomatie et de... menace larvée, j'ai envie de dire, et d'exigence larvée entre Viserys, Corlys, Rhaenys, du coup, la femme de Corlys, que j'étais trop contente de revoir. Et rappelons qu'elle, elle n'a pas vu.
Non, mais Viserys. Elle arrive comme une fleur en plus, elle.
Mais elle arrive, la gueule,
genre, elle ouvre, elle ouvre les portes.
Comme une meuf en Ardèche.
Elle ouvre les portes, elle dit, my cousin.
Elle est en lin, elle est là. Ah, my cousin. Mais la gueule, elle est super.
Je trouve qu'elle joue trop bien le jeu, elle.
Je l'adore.
Je trouve qu'elle défonce, elle.
Et en même temps.
Elle me fait penser un petit peu, tu sais, à qui? À la mère de Marguerite.
Ouais,
elle me fait penser à Olenna Tyrell.
La vieille reine des épines.
Ma préf.
Incroyable. Dites à Cersei. Je veux qu'elle sache que c'était moi. Elle est vraiment très très douée, dans la diplomatie et dans le jeu des trônes, Rhaenys. Un peu plus que son mari, comme on va le voir. Puisque son mari, il est un peu plus sanguin, un peu plus. Je suis toujours vénère que t'aies pas été reine. Elle, elle est là. Peut-être qu'on dit qu'on s'en bat les couilles maintenant. Peut-être ce bateau a levé l'ancre, mon gars. Pour utiliser une métaphore marine, c'est dead, il faut faire le deuil dans la vie. Et lui, il est là, mais peut-être je peux faire un truc viriliste un peu couillu dessus. Elle est là, non, arrête maintenant. Mais du coup, avant d'avoir ce dialogue entre Rhaenys et Corlys, on a toute cette négo, finalement, entre Viserys, le roi, c'est le roi, hein, qui négocie avec un gars pour lui dire, ok, c'est quoi, globalement, c'est quoi tes conditions pour que ton fils daigne épouser ma fille qui est l'héritière du trône des sept couronnes, quoi. Vraiment, Viserys, en termes d'ambition personnelle et de comment se vendre et se présenter, il est pas bon, quoi. Il a besoin d'un ou deux petits cours de développement personnel. Et du coup, on a ce petit cours de diplomatie de, ok, comment ils s'appellent les enfants? Qui est-ce? Quelle dynastie, du coup? Quel nom sera sur le trône de fer? Et Corlys a quand même, on peut pas lui enlever les couronnes de dire, ok, bah, du coup, sera les Velaryon sur le trône.
Ouais. En fait,
c'est audacieux.
Ils arrivent à tomber d'accord.
Les Targaryens, ils adorent être des Targaryens dans la vie. Hein.
Ouais. Bon, ils finissent par tomber d'accord.
Oui, du coup, ils trouvent un mi-cui de céder Velaryon jusqu'à ce qu'il soit roi ou reine, auquel cas ça devient des Targaryens. Et en échange, on est tous team, Rhaenyra, elle peut être reine, quoi.
Ouais.
On est tous team, on est ok sur le fait d'avoir une reine, parce que sinon ça ne marche pas.
Et les Velaryon, ils acceptent, parce qu'en fait, ce qui leur importe vraiment, c'est que la famille Velaryon
soit perpétué, quoi.
Ouais, soit perpétué, quoi. Ne s'arrête pas, quoi.
Voilà, accède au.
Donc, s'il y a plusieurs enfants, voilà, tu vois.
Oui, c'est ça aussi, c'est qu'ils ont pas que Lénor. Ils ont Léna. Ouais. On n'est pas encore mariés, mais on verra dans cet épisode qu'elle a peut-être eu un petit crush, hein.
Ils ont un gamin.
Ils ont
un autre enfant mal oui. que Lénor.
Oui, il y a un deuxième frère, il me semble.
D'accord.
Ou alors c'est un coup. Non, ils ont Lénor, ils ont Léna, qui elle n'est pas encore mariée.
Ouais.
La petite gamine de 12 ans, là, qui n'a pas épousé Viserys. Ouais. On la voit dans
cet
épisode.
Ouais, mais elle, elle perd son nom de famille si elle se marie avec quelqu'un d'autre.
Bah, enfin, je veux pour dire, l'instant, mais peut-être il y aura une reine, tu vois, peut-être les traditions peuvent changer, quoi.
Oui, oui, non, mais je veux dire, dans un scénario.
Pour perpétuer la dynastie, effet, les Vélaryons risquent de s'éteindre si jamais il y a Lénor et Léna et que, bah, du coup, Lénor a des enfants qui sont Targaryens, bah, du coup, il n'y aura plus de Vélaryons parce que Léna, ses enfants seront.
Ma question c'est, est-ce que j'ai raison d'interpréter leur acceptation de ce
compromis, quoi.
De ce compromis comme, tout ce qui nous importe, c'est surtout que les Vélaryons persistent.
Je pense que c'est ça, mais du coup, ça les fait pas forcément persister hyper longtemps, tu vois. Mais après, oui, l'idée, c'est que si Lénor y régnera en plusieurs enfants, bah, du coup, il y aura un enfant qui finira sur le trône qui sera un Targaryen à partir du moment où il est sur le trône. Mais s'ils ont
et les autres
enfants,
resteront des Vélaryons.
Ils seront des Vélaryons et ils pourront perpétuer la filiation de la famille Vélaryon.
Je suis pas fou de penser ça.
Non, je pense que oui, c'est effectivement très important pour eux. Et je pense que Corlys a aussi un vrai truc d'honneur, tu vois. Il faut que je négocie, tu vois. Il peut pas dire oui. Ok, c'est un bon deal. Il est obligé d'être en position de négocier, d'avoir l'impression de gagner ou au moins d'avoir un compromis réglo parce qu'il a son honneur à rétablir. Tu vois, il a été blessé dans son honneur par Viserys et son refus de prendre pour épouse sa fille qui était, malgré son âge de, rappelons-le, 12 ans, sur le papier en vrai le meilleur parti et peut-être que ça aurait pu se négo. Donc il y a ce moment de diplomatie, c'est très important. Et ensuite, ils se mettent d'accord pour, ok, Lénor, il va épouser Rhaenyra. Rhaenyra sera reine, Lénor sera son roi consort, leurs enfants seront des Vélaryons. À partir du moment où un des enfants monte sur le trône, il devient un Targaryen, on arrête de l'appeler Vélaryon. Le reste des enfants resteront a priori des Vélaryons si on a plus qu'un. Machala, super. Top là.
Et à un moment, il fait une phase. Ça m'avait pensé à Rick and Morty.
Quoi? Attends, j'ai pas de rêve Rick and Morty dans cet épisode.
Quand Viserys dit And there will be Targaryens on the throne for another 100 years. Ça me pense à Rick and Morty together 100 years.
Hyper médiocre, 100 ans. J'étais là, mais 100 ans, frère, ce genre de personne, c'est nul. C'est une ambition nulle. Et il dit, ils vont régner pendant 100 ans, comme ils ont régné durant 100 ans. Et je suis là, oui, c'est vraiment nul, mais c'est comme les États-Unis quand ils font genre, ils ont une histoire. Et je suis là, vraiment, vous avez 300 ans. Détendez-vous, on est l'Europe, tu vois, genre, désolé, on est le vieux continent pour une raison. Vous n'avez pas vraiment d'historique aussi intéressant que le nôtre. Et aussi riche. Du coup, c'était un peu ce truc de, et on va être trois chefs encore, genre, 20 minutes, ok, Viserys, bravo les Targaryens. Et ensuite, après ce moment-là de diplomatie avec Viserys, ce qui est l'occasion quand même, notons-le, pour Rhaenys de se rendre compte que Viserys est malade et qu'il a perdu des doigts. Puisqu'elle arrive, elle le voit, elle lui dit « t'as pas l'air bien » et elle lui prend la main, donc il a la main gantée, et elle lui prend la main et elle tique, et elle le regarde et il lui fait un signe genre « bon, ça va pas maintenant ». Donc c'est quand même, il y a des gens, ça commence à se voir que Viserys est en train de potentiellement tomber en morceaux, enfin la personne va très mal. On le sait. Après cette négo avec Viserys, il y a, alors on va passer aussi à Lénor.
Je veux dire avec Paddy consanguine.
Avec Paddy consanguine, on va arriver à Lénor et Rhaenyra et la révélation de Lénor et son way of life. Mais avant, il y a quand même cette scène très belle entre Corlys et Rhaenys, de Corlys qui demande à Rhaenys, enfin qui se rend compte que Rhaenys est mécontente, qui lui dit est-ce que j'ai outrepassé, enfin est-ce que j'ai dit ok alors que t'étais pas d'accord. C'est ça qu'il lui demande.
Ouais, un peu.
Est-ce que j'ai répondu trop vite et en fait j'ai outrepassé notre contrat de mariage, genre en fait on n'était pas alignés, je pensais qu'on était alignés, j'ai dit ok t'étais pas d'accord, parce qu'il pense que c'est pour ça qu'elle est fâchée. Et elle lui dit non, je suis pas fâchée pour ça, je suis fâchée parce que je viens de marier notre fils à la famille royale qui sont des maboules et guess what, je le sais, c'est ma famille. Et en fait c'est le plus grand danger dans lequel on peut les mettre, quoi, de les foutre sur cette guerre de succession du trône qu'on voit
mais
venir.
Ils en ont un peu parlé avant quand même.
Bah oui, je me doute qu'ils en ont, enfin j'espère qu'ils en ont un peu parlé avant.
Ils sont pas et fâchés, ils sont
et
douteux,
nous,
quoi.
Et je pense que nous, en tant que spectateurs, on n'a pas forcément en tête le danger que ça représente pour Lénor et pour la famille Vélaryon de rejoindre à ce moment-là la famille royale Targaryen dans cette guerre de succession qui s'annonce. Genre, on voit les signes du danger et plein de gens les voient dans le royaume, et notamment les nobles et les gens intelligents comme Rhaenys Targaryen. Mais il y a un peu ce truc de oui sur le papier, c'est un bon deal, tu vois, d'être mariée à la future reine. Et Rhaenys, elle est là, non, parce qu'en fait, quand le roi il meurt, la future reine, les gens ils sont pas d'accord. Et du coup, ils vont vouloir la buter. Et guess what?
Oui, puisqu'on m'a déjà fait le coup.
Oui, puisqu'on... elle est là.
Ouais, elle est là.
J'ai fait la saison 1. J'ai fait le préquel.
Ouais.
J'ai vraiment, j'étais dans la bande-annonce.
Et aussi, ils sont tout à fait au courant que leur enfant est gay. Et ils se disent, et Rhaenys, elle dit, et qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand il va pas être capable de lui filer des hairs? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Et l'autre, il dit, mais c'est juste un passage.
Ah oui, l'autre, il est en foule d'arrondir. Non, mais
t'inquiète,
c'est une phase.
Personne ne peut résister au charme des femmes.
Bien
tu vois.
Et donc,
Rhaenys, elle anticipe qu'il va y avoir des petits problèmes dû à ça, quoi.
Peut-être c'est pas une phase, peut-être ça va être
ouais,
un problème.
Ouais, genre, il va pas réussir à lui filer des gamins et ça va être des ça va faire des problèmes. Donc on est en train de mettre notre enfant en danger.
Oui, c'est
suite
ça,
à
c'est
ça.
En fait, on est en train de foutre notre enfant dans un jeu en difficile où il peut littéralement mourir. Est-ce que c'est un bon plan sur le long terme? Mais c'est effectivement c'est trop tard. Ils ont sûrement eu cette discussion plein de fois, tu vois, mais c'est
ouais,
bien
mais
que nous
encore
on...
une fois, l'attrait du pouvoir.
C'est ça.
L'attrait de l'accoquinement avec le pouvoir. Le fait que Corlys, il continue à dire, mais qui va nous challenge avec des dragons plus la plus grosse flotte?
Il dit dans cet épisode, et c'est important, on a la moitié des dragons. Parce qu'en vrai, les Velaryon, ils ont deux dragons. Ils ont le dragon de Rhaenys et le dragon de Lennor. Et les Targaryens, ils ont deux dragons. Ils ont le dragon de Daemon et le dragon de Rhaenyra. Pour l'instant, enfin, il dit, on a vraiment la moitié des dragons. Donc il y a peut-être des dragons petits, des dragons perdus, des dragons sauvages, mais en termes de dragons utilisables, pour l'instant on en a 4 et on a moitié. Non, mais on l'a dit. Enfin, ils ont dit en plus qu'il y a une dragonne de l'époque de Aegon qui vit sur les côtes de Lannar aussi. On sait qu'il y en a d'autres potentiellement des dragons ou qu'il y en a d'autres qui vont naître, mais là actuellement il y a 4 dragons contrôlables, gérables, disponibles, et la moitié c'est les Velaryon et la moitié c'est les Targaryens, et chaque famille en a un gros et un petit. Donc en vrai, on peut se dire, vas-y, on unit les familles, et si jamais il y a guerre, on a les moyens de se battre à armes égales, quoi.
Ouais.
Mais,
est-ce qu'on
veut prendre ce risque?
Et puis, je sais pas, ils ont la confiance de ouf, ils disent, qui va trahir Rhaenyra? On a à la fois les dragons, on a à la fois la flotte, et après, ils démontrent ça.
Ce qui est pas faux, ils ont les airs, ils ont les eaux, comme on disait tout à l'heure.
Et ils démontrent ça visuellement, un peu plus tard dans l'épisode, quand ils débarquent tous à King's Landing avec la méga flotte.
Bien sûr.
Et les dragons
qui arrivent comme ça là sur le Dragon Pit, c'est un beau moment de vie. Mais du coup voilà, pour vous donner une petite idée quand même de l'importance des enjeux de ce qui se passe et de la conscience qu'ont ces personnages des enjeux dans lesquels ils foutent les doigts, quoi. Il y a assez peu de personnages qui se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire dans House of the Dragon. Ils savent tous qu'ils sont en train de jouer le jeu des trônes et que comme dit le dicton, you win or you die. Donc il y a une vraie chance de mourir si on perd au jeu du pouvoir et en même temps on continue à y aller puisque c'est le...
When you play the Game of Thrones, you win or you die.
Ok, je vais parler à mon ingé son pour intégrer ça dans le générique de ce podcast car j'aime tout ce qui se passe. Ok.
When you play the Game of Thrones, you win or you die.
Die. J'ai fait les bacs. Ok, bon. Rhaenyra, elle est sur la plage avec son petit futur mari, avec le petit Lennor. Franchement, il est frais. Il est jeune.
Lennor, c'est pas le nom d'un adoucissant pour,
si j'avoue d'où,
pour les vêtements.
Mais Lena, c'est pas ouf non plus, tu vois. Et en même temps, je m'en veux parce que l'actrice qui joue Cersei, elle s'appelle Lena Headey et c'est son vrai nom dans la vraie vie. Mais du coup, ils sont là, petite balade sur la plage, tu coco et tout, en train de papoter de, ah là là, on a grave envie de faire ça, c'est pas comme si t'étais quand même vachement gay, quoi. Elle est là, quoi? Elle est là, quoi? Donc, Rhaenyra sait que Lennor est gay, car guess what? Tout le monde sait que Lennor est gay. Dans Game of Thrones, dans le monde de Westeros, on sait en fait la vie des gens parce que les nobles sont des fucking commères qui ont que ça à foutre de leur journée de faire des potins sur tout ce qui se passe. Donc, Lennor qui a 17-18 ans comme Rhaenyra, qui a vécu à la cour, qui a vécu dans un château, qui a vécu entouré d'écuyers et qui aime bien entretenir beaucoup de meilleurs amis autour de lui. Meilleurs amis RSIS, hein, clairement peu de femmes. C'est un secret de Polichinelle qu'il n'est pas spécialement porté sur tout ce qui est schneck. Mais en soi, c'est pas forcément grave. Il y a plusieurs personnages dans l'histoire de Game of Thrones de Westeros dont c'est à peu près connu qu'ils ne sont pas hétéros. Un exemple dans Game of Thrones étant Renly Baratheon, le jeune frère de Robert Baratheon, qui se souvient R.I.P., qui était amoureux de Loras Tyrell, le chevalier des fleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Lénore. Ok, l'audio description podcast, dès qu'il attaque, ça retrouve l'adoucissant Lénore et le montre à la caméra.
Lénore. L'eau 3 adoucissant.
C'est chaotique.
Et l'eau 3 adoucissant souffle précieux. Château. Lénore, 1 litre.
Ce live n'est pas sponsorisé par Lénore, mais j'espère qu'un jour il le saura.
30 euros.
Lénore est gay, les gens le savent, et c'est pas très grave parce qu'il y a une forme de tolérance pour les nobles à Westeros, comme c'est arrivé dans la vraie vie du vrai Moyen-Âge, hein. De ok, c'est pas exactement l'idéal, mais tu sais quoi, si tu fais illusion, que t'en fais pas un truc trop public, et que quand il faut produire des héritiers, t'as au moins l'air d'essayer. Ok, ok, tu vois, genre ok, on le dira pas, ok, c'est pas grave. Donc le fait que Rhaenyra sache que Lénore est plutôt portée sur les garçons n'est pas si surprenant, surtout quand on se rappelle que les Velaryon ont vécu à King's Landing en fait pendant très longtemps et que du coup Lénore, Elena et Rhaenyra etc. ont dû traîner ensemble en fait.
Ouais ouais bien sûr.
Ils ont le même âge, ils sont de deux familles unies historiquement, ils sont nobles et tout, ils ont probablement et on voit qu'ils ont une relation un peu bah je trouve de cousins tu vois. De, c'est
ouais,
comme
c'est
moi quand je revois mes cousins d'Alsace tu vois, je suis là, on n'est pas hyper proches mais en vrai on se connaît bien. Et je pense que si j'avais un de mes cousins d'Alsace qui était gay, je l'aurais su tôt. Et j'aurais été là en mode, oui d'accord, je le sais, c'est pas grave, tu vois, mais c'est it's a fact. Bonjour, c'est Momo le chat. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire du fait que Rhaenyra se marie avec un mec qui est gay? Qu'est-ce que t'en fais, toi, de cette storyline de, ok, bon bah, t'es pas hétéro, guess what, moi j'ai aussi mes petits bails. Maybe on s'arrange. Et c'est un moment que je trouve, moi, assez chou. Et en plus, juste après, donc, on fera un petit point sur c'est qui le mec de Lénore, mais il y a cette scène trop chou où ils s'embrassent et tout. Qu'est-ce qu'on fait de cette petite union Rhaenyra-Lénore de vas-y, au pire, on vit chacun notre best life.
Bon, nous, bah, c'est très durer, mignon mais... sur le papier, mais on voit immédiatement les ramifications et les conséquences déjà tragiques, déjà dans cet épisode, de cette alliance, en fait. Mmh. C'est genre... Ça marche trop bien sur le papier, mais genre.
Et ils sont très nonchalants, tu vois.
Tous les
ils sont vraiment en mode, ah ouais, on a qu'à faire ça, tout va bien se passer. Je suis là.
Et ils se rendent pas du
vous
tout compte.
Vous avez tous les deux
fait...
prévu de niquer ailleurs sans problème, alors que vous êtes quand même roi et reine, genre, c'est important avec qui vous couchez, quoi. Rhaenyra le sait, quoi, que c'est important avec qui on couche. À la limite, Lénore, ils risquent pas de tomber enceinte, mais. Bah, Rhaenyra, elle est pas censée pouvoir faire ce qu'elle veut, quoi, la virginité
des femmes,
c'est important.
Et des deux côtés, ça va créer des problèmes, en fait. Ça va créer des problèmes avec les autres membres, enfin les side chicks quoi, les deux side chicks, les deux side
donc
boys.
Les side boys, les toy
side,
boys,
les deux side chickens.
Kristen
tu
Cole,
vois
les deux wings.
Les deux side
donc,
chickens,
Kristen
tu vois.
Kristen Cole et Geoffrey Lonmouth.
Ouais.
Ils vont être deux problèmes assez immédiats. Hein.
Ils vont être soit super d'accord et essayer d'en tirer parti et ça va mal se finir. Soit pas du tout d'accord et ça va mal se finir.
Et guess what, ça se finit très mal très vite. On
exactement.
On va pas dire qu'on vous spoil.
Donc maintenant on peut pas. Si, j'espère qu'ils l'ont
c'est
vu quand même l'épisode.
C'est arrivé dans cet épisode. On m'a dit qu'on allait spoiler l'épisode, tout va bien. Donc pour faire un petit point, parce que juste après.
Je peux vous spoiler un petit peu la vie là. Je vais boire un verre d'eau.
Donc alors petite note, juste après cette scène que je trouvais très jolie sur la plage entre Rhaenyra et Lénore, une vraie scène finalement.
J'espère que ça vous spoil pas trop. Hein.
Il est chiant, il a décidé d'être désagréable. Une scène à la fois d'allié du féminisme de la part de Lénore qui défend la liberté sexuelle de Rhaenyra et d'allié des communautés LGBTQ de la part de Rhaenyra qui défend son ami homosexuel. C'est beau, finalement, la sororité, la fraternité, la delphité entre différentes populations. Juste après cette scène qui est très jolie, il y a une scène qui est trop belle. Les dunes, le sable, Driftmark, Lénore, Geoffrey, roula comme ça dans les algues vertes. Son compagnon, ses cheveux là, crépus blancs dans les algues aussi, et qui se parlent, et qui s'aiment, et qui se disent tout ira bien, et on sait que tout n'ira pas bien, évidemment, on sait que tout n'ira pas bien, mais on a un petit moment d'amour entre deux hommes dans Westeros, et on le prend et on le kiffe. Et du coup, un petit big up à la réalisatrice de l'épisode précédent, puisque c'est la même réalisatrice qui avait fait cette très belle, notamment scène de sexe entre Kristen Cole et Rhaenyra, avec plein de plans très bien éclairés, très jolis sur des petits détails, qui nous offre ce très joli baiser, j'ai trouvé, entre Geoffrey et Lénore. Et donc, Geoffrey Lonmos, on sait pas grand chose sur lui, sur qui c'est, alias le chevalier.
Mais on les voit
Viso,
pas baiser. Est-ce que c'est pas un double standard, ça?
Bah, c'est pas comme si on voyait grand monde baiser, à part Kristen Cole, et guess what, il aurait pas dû. Si, on voit Alicent, mais c'est horrible aussi. Mais on les voit pas s'enfiler dans les dunes, alors qu'on a vu Daenerys coucher dans les dunes, par exemple. Okay, c'est peut-être un double standard. Mais on a vu quand même dans le bordel où Daemon emmène Rhaenyra, ouais, il y avait pas que de l'hétérosexualité. Ouais, hein. C'était fluide, hein. C'était curieux, c'était gangbang, c'était pansexuel, quoi. Mais du coup, on a cette scène très mignonne, et voilà. En fait, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur Serge Geoffrey, alias Serge Geoffrey Lodmos, long bec en français, un peu comme long du bas, alias le chevalier
of,
des
le,
bisous.
The Knight,
Knight of
kisses.
The Kisses. Bah, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qui est inscrit, mais on sait pas pourquoi. Il y a pas de lore de pourquoi c'est le chevalier des bisous.
C'est un peu, peut-être. C'est un peu cliché.
Oui, bah, Laura, c'était le chevalier des fleurs, c'était pas, quand George R.R. Martin écrit des chevaliers gays, il est là, ça va être le chevalier d'un truc mignon. Genre le chevalier arc-en-ciel ou le chevalier des bisous et des fleurs. Ouais, c'est bientôt le chevalier licorne Abuseland. Mais du coup,
est-ce
voilà.
Que tu sais, on peut faire un petit aparté. Est-ce qu'on peut faire un micro aparté?
On va le faire micro parce que.
Micro aparté lore.
Il y a beaucoup de choses à discuter, oui.
Tu sais qu'il y a des licornes.
Ah, c'est du lore.
Des licornes dans l'univers de Game of Thrones ou pas?
Oui, je sais, Ascagos.
Ascagos.
Incroyable, je l'ai. Vas-y, raconte. Ascagos, c'est incroyable.
Ascagos, c'est des cannibales, ils en ont rien à foutre, ils sont dégueulasses, ils sont consanguins de ouf, ils sont bizarres, c'est au nord, mais pas entre Essos et Westeros, et ces Zarbi, ils sont pas nets.
C'est là où il y a les papillons qui mangent des gens.
Non, ça c'est dans les, c'est Naf.
Oui, ça c'est là d'où vient, le Unsullied qui traîne avec Daenerys, là, Grey Worm.
Non, c'est là d'où vient.
Non, Missandei. Pardon, la confidente de Daenerys.
Et c'est là où
avec
part Grey Worm.
Oui, là d'où elle vient. Mais en fait, c'est pas un endroit où
il est là. Allez, venez, les Unsullied, on va tous à Naf en l'honneur de ma meuf Missandei. Ne sachant pas qu'ils vont se faire bouffer la gueule par des putains de papillons.
Par des papillons anthropophages.
Non, c'est pas. En fait, les papillons, ils mangent pas des gens, ils filent de la maladie aux gens.
Ouais, c'est ce qu'on dit. On verra quand on sera dans le 8e spin-off de Game of Thrones qui se passera dans les îles random où personne n'est jamais allé.
Donc ouais, sur Skagos, il y a des chèvres avec une seule corne.
Oui, et Skagos, c'est plutôt dangereux comme endroit. Donc peut-être que c'est des licornes de type mortel, quoi. C'est très possible. Du coup, le chevalier des bisous, c'est juste Geoffrey Lodmos, c'est un cerf. C'est un chevalier, c'est pas un lord. Mais c'est quand même quelqu'un de... Voilà, c'est pas un paysan, quoi. C'est le confident et le meilleur ami de Laenor Velaryon, qui est connu pour s'entourer plutôt de jeunes hommes. C'est son amoureux, c'est son compagnon, c'est son homme. Et il pense avoir trouvé une solution qui marche, puisque Geoffrey le rassure sur... En fait, elle t'a dit qu'elle était ok avec le fait que t'es gay, elle t'a dit qu'elle était ok avec le fait relation libre, et que du coup c'est juste un mariage de façade. Donc en vrai, c'est un peu... un des best case scénarios qu'on pouvait espérer, parce que dans tous les cas, il aurait fallu qu'il se marie avec une fille. Hein. Laenor, c'est son devoir, c'est son travail en tant que fils d'une famille noble. Donc, why not, let's go. Et puis finalement, un Geoffrey à un mariage à Westeros, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, quoi? Let's go. On reverra Geoffrey très bientôt pour une scène très présente. Et c'est l'heure de reparler d'amour avec une croisière, avec... un petit moment titanique avec Kristen Cole et Rhaenyra sur le bateau.
Ça tourne vite mal quand même.
Ça tourne vite mal, mais Titanic aussi ça tourne vite mal. Là au moins il n'y a pas d'iceberg. Kristen Cole, dans sa grande audace, se dit ok, elle va vraiment se marier. Genre là ça devient vraiment réel. Son père vient d'aller demander la main de son, mari. Donc vraiment it's happening, et il se dit fuck. Vraiment, si it's happening, j'ai pas envie. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour tourner cette situation à un moment où j'ai moins envie de crever? Je vais proposer à la future reine du royaume de s'enfuir avec moi et de quitter son avenir, ses privilèges, sa famille et l'intégralité de ce qu'elle connaît et de ce qu'elle a été élevée pour faire depuis qu'elle est née, afin de me toucher le zob quand elle en a envie et de vivre libre quand même, libre de ses obligations qui lui pèsent, libre de ce devoir qui pèse si lourd sur ses épaules et peut-être un jour sur sa tête sous forme de couronne. Kristen Cole, claque une, pars avec moi bébé. Qu'est-ce qu'on en pense? Rappelons que dans le livre, on n'a toujours pas de certitude qu'il y ait une relation amoureuse ou sexuelle entre les deux. Donc on est sur du full nouveau contenu. Moi, j'ai adoré ce petit moment.
Ouais, et il est, y a une subtilité dans ce moment, je trouve. Donc c'est pas mal d'avoir aussi le point de vue d'un homme... qui est le dindon de la farce, quoi, dans cette histoire.
Oui. Enfin, on a parlé dans le dernier épisode de la complexité pour Kristen à consentir parce qu'il est dans une relation hiérarchique avec Rhaenyra et aussi que il peut vraiment mourir. Enfin, c'est lui, il risque sa vie, quoi. C'est ça qui se passe pour lui, quoi.
Rhaenyra, elle lui dit t'inquiète, tout est géré. Je vais me marier pour la façade, mais on pourra continuer à Ken comme avant.
Ouais.
Et lui, il lui dit donc tu veux que je continue à être ta pute, en fait.
Ouais, il lui dit vraiment donc je suis ta pute. Elle a quoi?
Et en fait,
vas-y, c'est bon.
Et en fait, donc il y a un malentendu, comme il peut y avoir souvent dans des relations.
Mais dans les couples, ça arrive.
Entre, genre, ah, t'étais mon plan cul, mais moi je pensais qu'on était amoureux.
Oui.
Tu vois, il y a ce truc-là.
Mais combien de fois j'ai dû dire à mon plan cul, non, mais t'inquiète, je vais me marier avec ce gars homosexuel, mais c'est juste pour la façade, et après on peut continuer à se brouter les parties, ça m'arrive tous les mardis, c'est épuisant.
Mais il y a aussi une autre dimension, qui est que Sir Criston Cole est fait partie de la Night Guard.
La Kingsguard.
Kingsguard. Fait partie
la
de
garde
la
garde royale.
Ouais, pas la garde de nuit, la garde royale.
Oui.
Fait partie de la Kingsguard.
Manteau blanc.
Et donc, fait vœu de chasteté.
Tout comme la garde de nuit, tout à fait.
Donc, il a, comment?
Il a juré,
Oui, non, mais il a, donc.
Il a violé son serment.
Oui, il a violé son serment.
Il a pas violé Rhaenyra a priori, mais il a violé son serment. Il a enfreint.
Il a violé son serment. Il a été forcé.
Il
a été forcé par Rhaenyra parce qu'il lui a clairement dit non.
Il lui a dit non.
Il lui a dit non. Après, le degré
de consentement,
peu importe.
Oui.
Le fait est qu'il ait renoncé. Elle l'a forcé à renoncer à ce vœu de chasteté. Elle a souillé son honneur. Quelque part.
Oui. En tout cas, elle l'a incité à le faire.
Et c'est une des scènes
charnières de l'épisode précédent, c'est quand il enlève son manteau blanc, symbole de son rôle dans la garde royale et de son vœu de chasteté, il le pose et il le regarde longtemps. Sa cape blanche, il la regarde longtemps en mode. Et c'est quand il arrête de la regarder et qu'il est là. Moi, ce que j'ai interprété comme « Ok, j'ai décidé, j'y vais », qu'il commence à avoir l'air de kiffer le moment et d'être content de ce qui se passe. Parce que jusqu'ici, il est très rigide, très « J'ai pas envie de ce qui se passe ». Donc, je suis d'accord avec toi sur « Il y a eu forçage hein, ». C'est quand une personne est aussi rigide à l'idée de coucher avec vous, ne couchez pas avec, hein, c'est facile. Mais c'est quand il enlève son manteau blanc et qu'il le contemple et qu'il finit par dire « Ok. »
En tout cas, il avait rien demandé et elle l'a mis dans cette situation.
Il faisait son taf.
En fait, elle l'a mis dans cette situation.
Elle l'a mis dans une situation impossible, c'est évident.
Et donc lui, il le dit, tu as souillé mon honneur, mon seul espoir de regagner cet honneur, ça aurait été qu'on parte ensemble et qu'on se marie.
Et oui, c'est ça. C'est qu'il lui dit pas juste pars avec moi bébé parce qu'on s'aime. Il y a même pas tant de, il lui dit pas I love you.
Ouais.
Il lui dit pas j'espère que tu m'aimes. Il lui dit pas on s'aime. Il lui dit, si tu pars avec moi, on pourra être libre, parce qu'il appuie sur son, enfin, il espère appuyer sur son besoin de liberté. Il lui dit, ouais. Mais t'es en train de faire tout ce que tu voulais pas faire, quoi. Je voulais te parler parce que là, c'est it's happening et j'ai pas l'impression que c'est ton truc. Il essaye d'appeler à son besoin de liberté, d'aventure, de j'ai vu des navires partir pour Essos, j'ai toujours eu envie de les suivre. Et en plus, lui, rappelons que c'est un obode, sa famille, c'est pas des nobles. C'est là, le rôle qu'il a dans la garde royale, c'est le plus grand honneur que sa famille n'ait jamais eu. Donc en fait, oui, il a vraiment vu partir ses bateaux en rêvant d'une vie meilleure parce que sa vie, elle était pas fun. Hein. Et contrairement à Rhaenyra, qui est quand même née avec une cuillère en platine et un dragon dans la bouche et un dragon dans son berceau, quoi. Et il lui dit que c'était le plus grand honneur qui est arrivé à sa famille jusqu'à maintenant. Il a souillé cet honneur, il a violé son serment, il s'est rendu parjure pour elle. Et il lui dit pas, pars parce qu'on s'aime, pars avec moi parce qu'on s'aime. Il lui dit, pars avec moi parce que c'est l'aventure et que peut-être comme ça, je pourrais regagner mon honneur et je l'aurais pas souillé pour rien parce qu'à la fin, on se marie. Donc c'était pas un coup dans l'eau, quoi. C'était pas un coup dans l'air. C'est quand même un vrai truc, quoi. C'est un peu genre, je sais pas,
tu m'as enlevé
ta meuf avec une
et
meuf
lui dit,
qui est là, bah, j'espère qu'on va sortir ensemble, que ça ait pas servi à rien, que ça ait pas été juste un coup d'un soir.
Ouais. Et il lui dit, tu m'as enlevé de mon honneur, c'est tout ce qui me restait. C'est tout ce que j'avais.
Oui.
C'est la seule chose
que
j'avais.
Parce que c'est tout ce qu'il a. Fondamentalement, c'est tout ce qu'il a et c'est tout ce que
sa famille a. Parce qu'il vient pas d'une famille riche et tout ça. Il s'est fait lui-même et son seul claim to fame, c'était le fait d'être dans la garde.
En vrai, j'ai trouvé ce moment trop bien parce que, alors, je suis la première à me moquer un petit peu de Criston Cole parce qu'il a une vraie vibe Jon Snow bis avec ses bouclettes ténébreuses, son regard sombre de chien battu et son air un peu romantique. Et du coup, j'ai un peu abordé cette scène. Bon, moi, je savais que Kristen et Rhaenyra, ils finissent pas ensemble, hein. Donc, j'ai un peu abordé cette scène en mode, oula, c'est Kristen qui va se prendre un gros râteau.
J'hallucine sur les gens du chat qui voient encore une relation amoureuse entre Alicent et Rhaenyra, quoi.
Mais on en parlera, ils n'ont pas 100% tort. Ça sort pas.
Je me suis un peu demandé si elle lui disait pas qu'elle aussi elle aimait les femmes du coup.
Arrête de m'interrompre quand je parle
c'est
de Kristen.
C'est quand même bizarre de penser ça.
Et c'est pas complètement con parce que quand ils parlent quoi, ils ont toutes leurs métaphores avec Lenor de moi je préfère le canard à la loi et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est Rhaenyra qui dit ça.
Moment,
le canard c'est
à quel moment Rhaenyra a envie d'une meuf dans cette série quoi.
Alyssa alors que existe, elles ont passé toute leur adolescence à faire des métiers jamais fait des soirées pyjama entre deux adolescentes de 12 ans toi.
Mais cette série nous a bien montré que quand il y avait une relation amoureuse entre deux personnes, c'était clairement montré à l'écran, clairement montré par des regards, clairement montré par des dialogues, clairement montré par des confidences.
And now for les citations de l'actrice qui joue Alicent Hightower. Let's go. Du coup,
c'est son interprétation d'actrice, c'est pas une scénariste.
Bah oui, mais
sorry,
elle l'a joué comme ça. Alors, ok. On parle de est-ce qu'il y a une relation amoureuse entre Rhaenyra et Alicent, et c'est l'actrice Emily Carey qui joue Alicent qui a donné une interview très récemment à Vanity Fair à l'occasion de ce nouvel épisode, de l'épisode 5. Donc c'est pas une interview qui date de genre l'épisode 1. Et elle dit « À la base, on n'avait pas prévu de jouer sur cette corde-là, donc la corde de Rhaenyra et Alicent sont amoureuses. On n'avait pas pour but de les rendre lesbiennes ou de faire ce qu'on appelle du queerbaiting, donc de prétendre qu'il y a une relation homosexuelle pour attirer un public LGBT, mais en fait non. C'est juste que si on veut lire ça dans leur relation, on peut lire ça dans cette relation. Si vous voulez les voir comme plus que des amis, faites-le. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Mais étant une femme queer moi-même, donc c'est l'actrice qui joue Alicent qui dit que voilà, elle-même elle n'est pas hétéro, c'est quelque chose dont j'étais consciente. Je n'étais pas forcément en train d'en faire des caisses. Elles sont des filles de 14 ans. Elles ne savent pas forcément la différence entre l'amour platonique et romantique. Elles ne savent pas forcément ce que ces mots veulent dire et encore moins ce que les émotions qui vont avec veulent dire. Anyway, on était à Kristen Cole. C'était... Rattrapez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. C'était le plus grand honneur de sa maison. C'était un grand risque pour lui de coucher avec Rhaenyra et il se rend compte qu'il est juste un plan cul et qu'il sera jamais plus qu'un plan cul parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres possibilités entre Rhaenyra et lui. Ah oui, si, et je disais que je l'ai toujours trouvé un peu, enfin ouais, je le trouvais un peu ridicule, un peu Jon Snowish, un peu voilà, classico brun ténébreux, mais en vrai, j'ai trouvé que cette scène était très bien jouée et je l'ai trouvé émouvant quand il dit à Rhaenyra je pensais que on allait se marier et qu'il a la voix qui flanche et les yeux pleins de larmes. Alors après c'est un brun barbu émouvant donc je suis cliente hein, mais j'étais vraiment en mode attends, même si je sais que genre ils ne vont pas finir ensemble. Je suis émue par cette scène dont j'attendais pas grand-chose parce que a priori j'en connais l'issue. Enfin, je sais que Kristen et Rhaenyra, voilà, ils vont pas être. Elle va pas lui dire oui, je pars avec toi et la série ça devient les aventures de Rhaenyra à Essos. J'adorerais, mais ce n'est pas le propos de cette série. Mais je l'ai trouvé plus touchant que Jon Snow l'a été dans beaucoup de ces moments avec Daenerys. Tu vois, je suis là. En vrai, c'est un brun barbu et une blonde qui peuvent pas être ensemble. Et ça me parle plus que Jon Snow, alors que Jon Snow, j'avais passé 8 saisons avec lui quand même avant.
Est-ce que l'acteur est pas un peu meilleur aussi?
Peut-être. Kit Harington, je t'aime néanmoins, viens à Paris.
Kit Harington, il a quand même deux expressions, quoi.
Ouais. En vrai, je peux pas dire parce que je l'ai vu dans rien d'autre quasiment que Game of Thrones et que Jon Snow, donc je peux pas blâmer. Peut-être c'est le rôle.
Est-ce que c'est pas un hasard?
Il a fait un Dolan. Il a fait un Xavier Dolan. Les gens aiment bien Xavier Dolan. Il joue bien Kit Harington ou pas? Je suis pas sûre. Mais pour l'instant, il n'y a pas tant d'acteurs et d'actrices de Game of Thrones qui en sont sortis guns blazing, genre je suis la nouvelle
non,
sensation,
c'est sûr,
tu vois. Mais c'est compliqué quand on fait des séries
chorales. Sansa est en train d'avoir une nouvelle carrière là.
Ah.
Ouais.
Sophie Turner, on croit
Sophie
en elle.
Sophie Turner est en train de cartonner dans un truc Netflix là où c'est rien à voir avec les rôles précédents.
Mais est-ce bien du coup si c'est Netflix, on ne sait pas vraiment.
C'est pas un film.
Mais les séries Netflix c'est pas trop.
Si, quand même, ça va mieux que les films.
Ça dépend, bref. Du coup, Kristen, Rhaenyra, pars avec moi bébé, je ne vais pas partir avec toi, mais si tu veux, on peut continuer à scan. Ah, du coup, je suis ta pute, malaise and shoes. Mais Rhaenyra, elle est vraiment, en vrai, elle est pas hyper empathique. Enfin, je pense qu'elle est maladroite sur le coup, parce que je pense que vraiment, elle a de l'affection pour lui, et elle est contente d'avoir trouvé une solution de « mais mec, c'est bon ». Genre, je fais le truc diplomatique qui nous fait un peu tous chier. Guess what? Bonne nouvelle, le mec est gay, il aura même pas envie de coucher avec moi. Du coup, bah, vas-y, on continue notre truc secret. Juste, moi, en attendant, je fais ma vie. En fait, je fais mon taf et je me marie. Et Kristen, il est là, mais on est in love. Et elle est là, quoi?
Moi, il y a mon... j'ai un pote, donc je vais dire big up au professeur.
Professeur.
Qui m'a fait remarquer. Est-ce que cette scène où on a un Sir Criston complètement qui n'avait pas du tout capté les aspirations au pouvoir de Rhaenyra.
Ah oui, je pense qu'il a aussi il s'est fait une vision d'elle.
Ouais. Il avait pas
très
du tout
très angélique.
Il avait
dire,
pas hein. du tout capté ses envies de pouvoir. Est-ce que ça n'est pas un miroir de des spectateurs de Game of Thrones, la première série, qui n'avaient pas du tout capté les envies de pouvoir de Daenerys alors qu'elles étaient juste en face de...
Tu vois. Ah Kristen Cole, c'est nous pendant 7 saisons ouais. de Game of Thrones à dire « Mais dis donc, cette petite blonde, elle est hyper sympa.
Ouais.
Ça va être sympa quand elle arrive. » Et elle arrive, elle est là « Je vais tout cramer. » Et on fait « Quoi ?» Elle est là « Bah oui, mais j'ai des dragons. »
Quoi ?« Mais quelle surprise !»
Depuis le début. Et on est là « C'est vrai. » Tu sais quoi, maintenant que tu le dis, c'est vrai. On aurait dû s'y attendre.
Ouais, ouais. Du mais coup, moi, je trouvais ça méga
Kristen
bien.
Kristen is us all along. We are all Kristen. Ok, alors... Pour info, on va faire Kristen et Alicent, very important. On va faire Viserys sur son quasi-lit de mort, là on sait pas trop, mais le gars il est tout gris, il va pas bien avec le roi, la main du roi, pardon, Lionel. Ensuite on fera une petite pause pour que j'aille faire pipi, comme ça vous savez tout. Et on arrivera à... ça commence à être le mariage, le pré-mariage. On voit même pas le mariage, c'est vraiment un petit bout de mariage. Mais du coup avant d'arriver à ce beau mariage, ma foi, on a cette incroyable scène donc... Le cortège royal revient au donjon rouge, au Red Keep. Viserys sort de la carriole et immédiatement, il s'effondre. Le gars, il est immédiatement en PLS, c'est ciao. Il arrive chez lui, c'est vraiment moi qui rentre d'after, quoi. C'est dodo, j'atteins pas le lit. C'est je le fais dodo au moment où je rentre dans le couloir. Bon. Et là, Alicent, qu'on a toujours vu comme étant plutôt bienveillante, plutôt dans le soin de Viserys, et puis je pense que c'est aussi comme ça qu'elle trouve sa place et qu'elle crée sa place, et je suis la personne qui prend soin de mon mari, le roi. Elle le voit tomber dans la cour et elle est là... Flemme, honnêtement, flemme. Parce que quelqu'un lui a murmuré à l'oreille que quelqu'un a pris un certain thé un certain soir, et qu'elle est là. En fait, ma priorité numéro uno, c'est plutôt de gérer ça. Et j'ai des gens à qui je voudrais poser des questions, notamment la personne qui passe peut-être le plus de temps physique avec Rhaenyra, à savoir son garde du corps personnel, Kristen Cole. Il doit bien savoir quelque chose, je vais donc le faire mander maintenant qu'ils sont revenus.
C'était à la fois un peu lourdingue et à la fois quand même bien écrit.
Cette ce scène de sitcom là de ouais. Rhaenyra aurait couché avec...
Je
oui, peux le
ouais,
dire.
Ouais, je peux le dire, ouais, ouais. Ouais
oui,
ouais.
C'est moi, j'ai couché avec Rhaenyra. Et Alison qui fait... Ouais. Oh, wow.
Ouais,
ah, wow.
C'était un petit peu théâtre
moi,
de...
Moi, j'ai bien aimé.
C'était un petit peu théâtre de boulevard.
Moi, en
mais
vrai,
c'était...
j'ai trouvé ça.
En fait, on sentait arriver.
Mais oui,
ça s'est...
j'étais là.
Et ça s'est comme déployé comme ça magiquement devant nos yeux. Et on a vu. En fait, on.
C'est une telenovela.
C'était un peu une telenovela.
On est à ça d'avoir un perso qui dit moi, je suis son frère jumeau.
Mais on l'a vu se déployer de manière tellement limpide que c'était jouissif, comme regarder.
C'était organique.
C'était comme regarder des dominos tomber.
Mais oui.
Une vidéo de dominos tomber comme ça, là.
À partir du moment où les chansons, là, il vient chercher Kristen et il dit, vous êtes mandé par la reine, t'es là, ok, c'est sûr, ça va arriver. Et encore une fois, c'est pas dans le bouquin, parce que dans le bouquin, on n'est pas sûr que Kristen Cole a couché avec Rhaenyra, déjà. Et on a encore moins une certitude que Alicent aurait su que Kristen Cole avait couché avec Rhaenyra. C'est plutôt l'inceste côté Rhaenyra qui gêne Alicent, j'avoue. Hein. C'est plutôt ce côté-là des Targaryens avec lesquels elle n'est pas fan. Mais du coup, vraiment, quand le gars en rouge, il vient dire à Kristen, c'est genre la reine, j'étais là, oh my god! Et je savais que ça allait probablement se passer comme ça. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça hyper réaliste. Genre, j'étais là. En fait, j'y crois parce que Kristen, il est... Le gars, il est en projection astrale, en fait, depuis qu'il a couché avec Rhaenyra. Il est en mindfuck d'avoir brisé ses vœux et de s'être parjuré. Il se tenait à l'espoir de « Ouais, mais peut-être qu'on va vraiment être ensemble et qu'à la fin, on s'enfuit et on se marie et du coup, c'est légitime. » Il vient de se faire éclater la gueule par Rhaenyra qui lui a dit nonchalamment « Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, on va continuer à se brouter. » Et du coup, il est là, il est en crise existentielle. Et je pense que vraiment, le gars, il lui dit, c'est la reine qui veut vous voir. Il est en mode, c'est ok, c'est ciao, c'est maintenant. Genre, elle le sait, tout le monde le sait. Je vais me faire soit castrer, soit buter, j'espère buter. Et je pense qu'il y a une forme de soulagement de on y va. Tu vois, il y a ce truc de je mens sur un truc tellement important que ça me bouffe la vie. et que je préfère arrêter de mentir et affronter les conséquences plutôt que continuer à vivre en gardant ce secret.
Surtout, il préfère crever que de se faire castrer.
Aussi, ouais. Il est là, si vous pouvez, je préfère mourir avec une bite.
Je voudrais la clémence de ma reine, qu'elle me tue,
ouais,
plutôt
ah ouais,
que
ouais,
de me torturer.
Il force quand même. Mais du coup, quand il dit, c'est moi, j'ai couché avec Rhaenyra, je l'ai pas pris comme, ah, le moment sitcom de, en fait, je l'ai pas pris comme, on parle de la même chose. Enfin, oui, lui, il pensait que, mais non, elle lui dit en plus, elle lui dit que c'est des mots. Bah, je sais plus.
Non, elle lui dit rien. Non, non, elle lui dit que dalle. Il y a un côté quiproquo. Elle comprend. C'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'elle a pas baisé avec Daemon.
Oui, bah après, parce qu'il lui dit, ouais, en effet, cette faute est réelle. Ouais. Et moi, je me suis dit, ah, peut-être qu'il va juste dire ça. Et ouais, il va y avoir un nouveau quiproquo de, elle va se dire, ah, du coup, elle a couché avec Daemon. Mais en fait, non, elle a couché avec un machin. Et non, il dit, cette faute est réelle. Et c'est moi qui ai fauté. Et c'est moi qui ai couché avec Rhaenyra. Et là, j'étais là, let's go.
Et
trop intéressant.
Et plutôt que de se dire, génial, je vais pouvoir me rabibocher avec ma copine Rhaenyra parce qu'elle m'a pas vraiment menti, puisqu'elle a pas couché avec Daemon.
Oui, et après, c'est une belle omission quand même.
Oui, une belle omission. Certes, mais voilà. Plutôt que de la pardonner, en fait.
Mais encore une fois, la sororité.
Parce qu'on lui a whisper à l'oreille que c'était dangereux pour ses enfants, elle se dit, ok, maintenant, j'ai une arme.
Oui.
Contre Rhaenyra.
Oui, c'est ça, c'est que tout le... Mais c'est pour ça que moi, j'ai envie de les voir bien s'entendre, ces petites meufs, et espérer un avenir.
Non, il n'y a pas de série sinon, Mimi, il n'y a pas de série, Mimi. Il n'y a pas de série sinon, Mimi.
Parce que je me dis que sans des vieux gars pour leur chuchoter à l'oreille et les sauter à droite à gauche quand c'est pas pertinent, bah, elles auraient pu avoir une belle vie, Alicent et Rhaenyra, ok? Elles auraient pu être bonnes amies, au moins, comme on dit. Du coup, scène très importante et très, très fun, j'ai trouvé aussi. Entre Kristen et Alicent, alors très, je trouve, émouvante parce que Kristen, on voit son émotion, on voit sa détresse, on voit qu'il est vraiment en mode, en fait, on en finit, tu vois, j'en ai marre de mentir, j'en ai marre, je me déteste, j'ai fait la pire chose, j'ai brisé mon serment, j'ai plus d'avenir, vas-y, on en finit. Et en vrai, Alicent, son premier réflexe, c'est pas un réflexe de Cruella, de j'ai une arme, c'est elle est hyper triste parce qu'en fait, elle a soutenu son amie contre vents et marées. Ça fait des épisodes entiers qu'on la voit soutenir Rhaenyra et la légitimité de Rhaenyra auprès de tout le monde. Auprès des meufs qui râlent, auprès des gens qui veulent que Aegon soit roi, auprès de son propre père qui lui dit « Fais de ton fils l'héritier du trône ». Elle est là en mode « Mais j'ai pas élevé mon fils pour trahir sa sœur, il y a quoi ?» Et même dans l'épisode dernier, quand son père lui dit et que le roi lui dit que Rhaenyra aurait couché avec quelqu'un, elle est là « Mais vraiment, Rhaenyra m'a dit que non, je la crois ». Donc elle s'est mouillée jusqu'aux sourcils. Elle a une vie de merde. Enfin, de merde, pour une noble mariée au roi, mais elle a quand même une vie globalement de merde. Son père s'est fait virer, et il lui a bien dit, c'est par ta faute, c'est parce que t'as dit au roi que Rhaenyra, elle avait pas couché avec Daemon, que je me fais virer. Et là, elle se rend compte que Rhaenyra l'a prise pour une conne, en fait, c'est ça.
Ouais.
C'est qu'elle s'est fait prendre pour une conne. Et ouais, il tease vrillance. Et alors, Omelette 12 dit, est-ce que Alicent ne serait pas aussi un peu jalouse des libertés sexuelles de Rhaenyra? Je pense qu'il y a de ça, en effet. 100%. Je pense qu'il y a...
Enfin, en tout cas, un bon pourcentage.
Oui. Alicent n'a jamais eu de vie sexuelle épanouie, parce qu'a priori, elle a une vie sexuelle qu'avec Viserys, et de ce qu'on a vu, c'était pas dingo, c'était
C'est
plus...
ce qui est suggéré visuellement par le parallèle entre la baisse de Viserys et Alicent, et celle de Kristen et la bise de Viserys et Alicent, pas du tout fun, complètement en viol conjugal. Et la vie sexuelle de Rhaenyra, où elle est au pouvoir, c'est elle qui dit « Moi, je veux mon oncle, non, en fait, je veux lui, nanana », tu vois.
Ah bah oui, et clairement, oui, il y a alors une frustration.
Elle nique avec qui elle veut, et Alicent à côté, elle est là pour procréer, elle n'a pas le choix, quoi.
Tout à fait. C'est le privilège d'être la fille du roi, finalement.
Ça enclenche aussi un truc qui complique la sororité.
Clairement. Et aussi rappelons que Alicent est, alors c'est toujours pas encore hyper développé, mais c'est une femme a priori plutôt très religieuse, élevée par une famille plutôt religieuse, qui elle-même a des convictions très religieuses. Ça a expliqué pourquoi elle était...
Tu m'as tapé sur les doigts quand j'ai voulu trop insister là-dessus la dernière fois.
Mais parce que t'étais en mode, c'est la seule raison pour laquelle elle voudrait pas que Rhaenyra couche avec Daemon, et j'étais là, peut-être qu'il y a d'autres raisons,
Mais
en effet, ça joue. Et ça va peut-être être développé par la suite. En tout cas, j'espère, parce que je trouve que la religion dans Game of Thrones est très peu explorée. Même les septas, les septons, c'est assez vite expédié, même dans Game of Thrones.
La religion, tu veux dire le fait qu'il y ait des créatures cosmiques qui se fassent passer pour des dieux pour que les piètres humains
sous les eaux.
pour que les piètres humains réalisent leurs vœux à leur place.
Bien sûr.
C'est
rappelons
ça parce qu'ils sont bannis du plan terrestre, c'est ça.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire.
Dont tu parles.
J'ai résumé ça rapidement en disant
religion.
La religion, voilà. Mais parce que c'est plus court, écoutez, ça fait un moment qu'on est là. Non mais oui, je trouve que la religion est peut-être un des pans de la société qui est moins développée dans la série, en tout cas Game of Thrones, dans les livres ça l'est un peu plus. Et les liens entre la religion et les Targaryens sont toujours très intéressants. Donc voilà, rappelons quand même que Alicent est une femme religieuse qui suit la religion officielle de Westeros, donc les Sept. Les Sept condamnent l'inceste, mais les Sept sont aussi assez bofs sur le cul avant le mariage, pour notamment les femmes vierges de haute naissance. Donc ça peut jouer aussi. Peut-être qu'il y a un peu de slut-shaming dans le regard que Alicent porte sur Rhaenyra. Il y a une forme de jalousie, potentiellement. Mais il y a une forme de trahison, c'est l'émotion principale, je pense. Hein, c'est, elle m'a menti, elle m'a prise pour une conne. Je n'ai pas d'allié, je suis toute seule. Parce que Alicent, elle est toute seule. Son père est parti, elle peut pas compter sur son mari. Enfin, elle a pas grand monde. Elle a une vie sexuelle plus cool que la mienne et une vie plus cool que la mienne en général. Et il y a peut-être, c'est un peu une salope, tu vois. Parce que elle fait un peu ce qu'elle veut hors mariage avec le beau brun qui est devant sa porte. Littéralement, c'est le premier gars qu'elle a vu en ouvrant sa porte, ça y passe, quoi. On y reviendra au moment du mariage. Petit point quand même, et après on prend une pause, sur Viserys va très mal et décide de discuter. Alors il y a deux maîtres qui s'occupent de lui, on va en parler. Et il décide de discuter avec la main du roi, donc Lionel Strong, de l'héritage qu'il va laisser en partant dans l'au-delà le jour où il partira. Jour qui ne va pas forcément tarder de ouf, vu que l'homme est gris et son bras est environ du plâtre. C'est très grave ce qui se passe. Hein.
Ouais, c'est une lèpre.
Ça va très mal.
C'est une grayscale.
Et en vrai, j'ai douté à un moment, j'étais là, est-ce qu'il a la grayscale?
Peut-être que la lèpre et la grayscale peuvent cohabiter dans ce monde.
Oui, peut-être que tu peux avoir l'un ou l'autre, ou voir les deux. Peut-être
l'une étant une sorte de forme magique de l'autre, quoi.
Il a le golden menu de la grayscale, il a la lèpre en surplus, quoi. Non, mais donc, il va très mal, on est toujours sur cette histoire de le corps de Viserys le lâche, c'est une maladie qui est aussi allégorique, enfin une faiblesse physique qui est allégorique et symptomatique de son incapacité à régner de façon efficace. On est arrivé épisode
blessé
1,
par son propre trône.
Blessé et empoisonné par son propre trône, parce que clairement Viserys il va pas se bagarrer, hein. Il fait pas la bagarre, donc
ce serait le tétanos au final.
C'est ça, c'est vraiment, alors je pense que de base ils ont jamais désinfecté ces vieilles épées rouillées dégueulasses là qui sont fondues, qui ont plongé dans je ne sais quoi avant, sur lesquelles plusieurs rois ont sué, se sont grattés, fait les ongles, tout ce que tu veux, donc c'est pas propre, hein. Mais il y a eu plein de rois et de reines, enfin non pas de reines du coup, il y a eu plein de rois et il y aura plein de rois et potentiellement de reines après eux, après Viserys, qui sont sur ce même trône pas confortable qui coupe, et ils vont pas tous et toutes mourir de la lèpre. Et rappelons qu'historiquement les Targaryens sont plutôt génétiquement solides face aux maladies et aux contaminations diverses, mais pas Viserys, qui commence épisode 1 du coup avec une plaie un peu moche dans le dos, et là on est full, il a perdu 3-4 doigts je crois à la main gauche, il a tout le bras gauche purulent. Et alors, c'est pas inintéressant, il y a deux maîtres qui s'occupent de lui, donc les médecins de ce monde-là. Il y a son maître original, qui est là depuis le début, qui est une personne plutôt âgée, qui est le mec qui a apporté le Mounty à Rhaenyra dans la fin de l'épisode précédent. Et il y a un jeune maître qui est là et qui propose de faire une potion à base d'herbe. Enfin, en tout cas, il dit, voilà, je peux proposer telle concoction. Et l'autre maître lui dit, non, on va faire comme on a toujours fait, les sangsues, ça marche très bien. Alors, en soi, les sangsues, c'est une vraie... Maître Mélos le vieux, tout à fait, merci Maluquiel. Il y en a qui ont les noms. Les sangsues, ça, c'est une méthode médicale qui est utilisée encore de nos jours, mais visiblement ça ne marche pas sur Viserys, puisque ça fait 198 ans qu'il est au seuil de la mort et que ça s'aggrave. Mais en gros, voilà, il y a un jeune maître qui essaye a priori d'apporter peut-être des remèdes un peu plus novateurs, et un maître plus âgé qui soit dans un truc de chasse gardée de c'est moi qui sais, soit peut-être dans un complot total... décide que les sangsues c'est très bien pour l'intégralité du Covid qu'a Viserys Targaryen. Et c'est l'occasion de vous parler ou de vous reparler, je sais plus si on l'a évoqué la dernière fois, si c'était en
privé. Si, complot des maîtres.
On est toujours dans la grande Meister Conspiracy.
When you play a game of thrones, you win or you die.
J'aime à chaque fois que ça se passe. Du coup, il y a cette grande Meister Conspiracy qui compte, c'est une théorie du complot des lecteurs et des lectrices du livre, hein. C'est pas du tout confirmé pour l'instant. mais qui serait l'idée que les maîtres qui sont formés pas loin d'Old Town, d'ailleurs, dans la citadelle, là où va avoir Samuel Tarly à la fin de Game of Thrones. Oui, c'est à Old Town, tout à fait, c'est la ville vieille. La citadelle d'Old Town serait peut-être en soum-soum des outils diplomatiques, voire des espions, voire des assassins, qui permettraient d'influer sur le jeu des trônes, puisque c'est eux qui ont en main la santé des nobles et des héritiers et des rois et des reines de ce monde, et que peut-être parfois ils choisiraient qui serait la meilleure personne pour accéder au trône et pour qui il est temps de dire bye bye et pour qui il est temps de rester, quoi.
Reste cool, bébé.
Sinon, je te dirai bye bye. Nous l'avons, Ménélik. C'est pour toi, loulou. Elle était pour toi, celle-ci. Et donc, on a cette discussion entre Viserys, Véry,
j'ai mangé dans un très bon restaurant éthiopien. Oui. Du 17e arrondissement.
J'adore cette digression.
Qui s'appelle Ménélik.
Mais non.
Et je voudrais la conseiller à tout le monde. Ménélik dans le 17e arrondissement, si vous aimez la bouffe éthiopienne, on y mange avec les doigts, avec des espèces de petits
des
pains.
Des galettes, du pain.
Voilà.
Super.
Et c'est délicieux.
Très bien. C'était la reco. Anyway, Viserys avec sa nouvelle main du roi. Donc il y a il a deux maîtres maintenant. C'est intéressant de savoir qu'il y a un plus jeune maître à la cour. On a vu que les maîtres ont quand même un rôle important. Donc moi je suis dans la team Grand Meister Conspiracy, je suis vendue. Donc je me dis, ah, il y a un deuxième maître. Peut-être qu'en fait le maître plus vieux, il est en train de l'empoisonner, le maître plus jeune pas du tout. Mais en vrai, je sais pas, parce qu'encore une fois, le bouquin il va très vite, hein. Il y a beaucoup de gens à...
Moi j'aime bien quand il y a des conflits de maîtres.
Mais ouais, moi j'aime bien aussi, parce que c'est comme un peu dans la vraie vie, tu vois.
Mais dans Game of Thrones, il y avait aussi des conflits de maîtres de ouf, tu te rappelles?
Bah quand Samuel, il était à Villevieille beaucoup.
Oui, aussi. Et puis quand Cersei, elle amène son propre maître là, un peu creepy, un peu Frankenstein, Qyburn qui fait virer le vieux maître.
C'est un nécromancien, c'est pas un conflit de maître.
Ouais,
là, c'est,
ouais, d'accord.
J'ai ramené mon pote qui fabrique la crystal meth, j'ai viré mon pharmacien. Tu vois, ils font pas le même.
Ouais, mais l'autre c'est un pharmacien corrompu de ouf aussi, tu vois. Il mérite de se faire can. Il est aussi genre.
Oui.
Tu te rappelles qu'il y avait une scène.
Oui.
Tu te rappelles qu'il y avait une scène coupée au montage.
Quoi?
Mais qui était quand même dans les
behind the scenes, c'est les machins là.
Ouais, qui était quand même
inside
dans les scènes coupées où tu voyais le vieux maître. Tu sais, le vieux maître barbe blanche qui fait
ouais.
You play the
c'est
Game of Thrones, you win or you die.
Dans
tu
Game
vois,
of Thrones, hein,
tu le voyais. Tu le voyais.
Pas dans The Dragon.
Tu le voyais avoir un meeting secret avec je sais plus quel personnage et en fait tu voyais qu'il parlait normalement.
Ah, qui faisait semblant tout en mode le prestige.
Qui faisait semblant d'être vieux comme bien. Et qu'en fait, il parlait genre complètement normalement.
La grande Meister Conspiracy, on est on it, on est convaincu, on est al. Effectivement, Pycel, le grand maître Pycel qui
jouait
le con avec une prostituée.
Et ben lui, il avait pas. Regardez.
Ah, mais oui, avec Ross. Mais incroyable, mais vous avez une mémoire. Vous avez tous rematé Game of Thrones, c'est incroyable. C'était pas une scène coupée, c'est quand il reçoit une prostituée. Mais j'avais complètement oublié que c'est confirmé que Pycel, il fait semblant d'être con.
Non, non, mais il y a aussi une scène coupée où tu le vois sur une plage où il discute avec quelqu'un et l'autre lui dit non mais tu sais arrête de faire ton connard quoi.
Arrête
et l'autre il est genre effectivement ferme ta gueule.
Ah, la scène coupée est avec Tywin.
Voilà.
Calyxa, si tu n'as jamais vu Game of Thrones, bienvenue, grosse aventure, mais bienvenue dans House of the Dragon. Du coup, on a Viserys qui parle quand même, qui s'interroge sur l'héritage qu'il va laisser et comment les gens se souviendront de lui. Et qu'est-ce que t'as pensé déjà de cette scène qui est une scène en tête-à-tête avec Lionel Strong, qu'on adore en soi, qui est une personne compétente et qui mérite a priori d'être main du roi. Il se raconte comme d'habitude des choses extrêmement deep parce que Viserys est un gros émo. Qu'est-ce qu'on en dit de cette obsession de Viserys sur c'est quoi l'héritage que je vais laisser?
Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça intéressant, ces questions d'héritage. Enfin, j'ai relate un peu et en même temps j'étais genre ouais, bon, il peut mettre son ego de côté et effectivement, j'étais plutôt du côté de c'est Lionel Strong.
Oui.
Non, de Lionel Strong.
Lionel. Je dis Lionel parce qu'il y a un Y.
Qui lui disait non mais déjà t'es resté en vie, déjà t'as évité qu'il y ait la guerre, donc c'est déjà une bonne chose. On se souvient toujours des grands trucs, mais c'est quand même mieux de vivre en paix, tu vois.
Oui.
Et genre moi j'ai trouvé ça assez logique au départ, et j'ai vu quelqu'un commenter là-dessus, c'est une youtubeuse Grace Randolph qui commente là-dessus et qui dit il donne que des que des conseils de merde. Si c'était moi, je lui dirais bah t'as qu'à créer quelque chose, fais un truc, monte une carte. Si tu fais ton ta maquette là, ta maquette à la con là, ça prouve que t'as.
C'est même pas lui qui l'a faite. Ouais. C'est des gars qui l'ont construite pour lui. Lui, il a donné les indications.
Oui, bien, mais bon, il a quand même un don pour l'architecture, un truc. Clairement. Il pourrait lancer. C'est peut-être un petit peu trop tard dans sa vie à ce moment-là, mais il aurait pu s'y prendre à l'avance pour monter une citadelle de ouf.
Comme il y a la citadelle de Maegor Dragon, ce dôme là qui a King's Landing, qui a plus après parce que Fausse Dragon n'est pas là dans Game of Thrones. En tout cas, il est en ruine. C'est un héritage qu'on peut laisser en tant que souverain, même si on n'a pas de guerre à mener. Ça peut être voilà. Soit j'ai réformé le code pénal et les taxes et tout, soit j'ai fait construire une cathédrale, un machin. Enfin voilà, il y a d'autres façons d'être un souverain qui marque son époque. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant que Viserys dit je regrette de n'avoir jamais été testé. Parce que si j'avais été testé, si j'avais été vraiment en danger, peut-être que je me serais prouvé et que je me serais trouvé, tu vois. C'est un peu ce qu'il dit, j'ai eu la vie trop facile, j'ai eu un règne trop simple et trop peaceful, et du coup, j'ai pas pu prouver ma valeur en cas de danger et en cas de risque. Et je suis la méga, ça fait 5 épisodes qu'on te voit être dans des situations de test et que tu fais rien. Genre, il se rend même pas compte que cette situation de test qu'il appelle de ses voeux, il est dedans depuis 5 épisodes et qu'il arrive pas à faire un truc, quoi. Et du coup, il prouve qui est un roi qui, pour plein de bonnes raisons, et qui est vraiment, c'est un personnage que je trouve hyper attachant, Viserys, et je comprends d'où il vient et je trouve qu'il est hyper touchant, mais il est quand même pas très courageux, quoi. Et en fait, quand t'es un roi pas courageux, t'es pas un bon roi dans un pays qui est à un éternuement de la guerre civile en permanence, quoi. Tu peux pas être juste un mec qui est là en mode tranquille, ça va.
En fait, à force de vouloir blesser personne, il se fabrique des ennemis tout seul, il laisse des ennemis se fabriquer entre eux, et il laisse...
Il est ennemi avec la maison Velaryon, qui est la maison la plus proche des Targaryens de base.
Il fait bouillir une sauce qui va exploser à la gueule, il alimente un feu qui va lui cramer la gueule, en fait, à force de vouloir justement l'éteindre.
Un feu et sang, finalement. Alright, on va parler du mariage. Ok, on arrive au mariage, au pré-mariage, mais à la scène finale de cet épisode. Il y a beaucoup de choses à dire. On va faire pipi. On va faire une petite pause. Est-ce que tu veux parler aux gens ou je mets en pause et comme ça toi aussi t'es chill?
Vas-y, mets en pause.
Allez, on fait une petite pause. On revient dans 5 minutes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm back. T'es qui s'installe? On est là, on est présent. Welcome back, Internet. Time to aller à un beau mariage. Est-ce que c'est pas toujours bien les mariages à Westeros? C'est toujours bien les mariages à Westeros, on est ravis de ce qui se passe. On arrive donc à King's Landing, dans une salle du trône un petit peu revisitée, pour une belle fête de pré-mariage entre Rhaenyra et Lennor, qui ouvre une série d'une semaine de festivités, comme l'annonce Viserys. On verra finalement que le planning a été un petit peu modifié. Et pendant cette semaine de festivités, il y aura a priori des tournois, des festins, etc. Et au bout des 7 jours, il y aura le mariage. Donc là, on n'est pas au mariage, on est au pré-mariage une semaine avant, ce qui est ce que chacun fait pour un mariage respectable, quoi. Est-ce qu'on est content de voir un mariage à King's Landing? Est-ce que tu te dis...
Ça va partir en couille, quoi.
Historiquement, on a eu deux mariages dans Game of Thrones, on a eu le Red Wedding et le Purple Wedding. Comment s'appelle ce mariage? Eh bien, écoutez, c'est potentiellement le Green Wedding. Puisque, pour la faire rapide, donc dans les trucs qui se passent, il y a Rhaenys et Lennor qui arrivent sur leur dragon. On en a parlé, c'est super. J'étais trop contente. Et donc Rhaenys, c'est un dragon qu'on n'avait pas encore.
C'est pas Vhagar. Si c'est, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que c'était pas Vhagar le dragon de.
C'est pas Vhagar le. Alors de Rhaenys.
Donc
de
c'est.
Rhaenys.
Donc
j'ai
à qui appartient à qui a, un à qui appartient Vhagar?
Vhagar c'est le. Mais non, c'est moi qui me suis trompé parce que Vhagar c'est le dragon sauvage qui vit sur les côtes de la Narrossie où Lena demande à Viserys quand Lena la petite parle avec Viserys, elle lui demande il est où le dragon sauvage de la conquête d'Aegon? Et c'est Meleys, tout à fait Meleys, le dragon de Rhaenys. Merci beaucoup pour cette rectification. Je le note parce que sinon je l'aurais oublié d'ici l'épisode d'après. J'avais prévenu que je suis un peu nul en nom de dragon. Donc personnellement, juste très contente de revoir Rhaenys et très contente de voir Rhaenys sur son dragon. Et je pense que c'est bien de rappeler que les Vélarions ont non seulement des dragons, mais comme l'a dit Corlys, ils ont la moitié des dragons qui existent dans le monde et ils comptent bien le faire savoir en arrivant.
J'ai lu je sais pas combien d'articles. Je sais pas combien. Le passage dans World of Ice and Fire. Plus regarder des vidéos qui t'expliquent chaque dragon, sa personnalité, ses spécificités.
Regarde, on se fait shame. C'est quoi, Seigneur de Pacotille? C'est dur, les dragons.
Et pourtant, j'arrive toujours pas à capter qui est le dragon de qui. J'ai toujours, à part Caraxis, j'ai rien pigé, quoi.
Caraxis qui est le dragon
J'oublie
de Daemon.
J'oublie tout. Genre, je lis les informations.
Seasmoke, c'est celui de Lenor.
Ouais, Seasmoke. Okay.
Saerax, c'est celui de Rhaenyra, mais je sais pas trop à quoi il ressemble parce qu'on l'a un peu vu.
Ben,
début.
On l'a vu, il a un long cou et il est un peu argenté, bizarre.
Ouais,
mais,
on l'avait au début.
En fait,
quoi.
Je les confonds tous, laisse tomber. Genre, dès que l'information arrive, elle repart aussitôt. Elle rentre par un l'œil et elle ressort par les trous de nez immédiatement.
Bah, ça va être un peu leur challenge, c'est est-ce qu'ils vont réussir à rendre les dragons identifiables et différenciables parce que...
Ils ont réussi avec Carax, je dirais. Avec Carax.
Oui, mais c'est un dragon qui est mal formé.
Léos Carax.
Qui est... Léos Carax, le dragon de Daemon, de Matt Daemon, est plutôt mal formé, donc il est très reconnaissable et ils ont vraiment mis l'accent sur lui. On veut que vous rappeliez de Daemon et on veut que vous vous rappeliez de son dragon parce que les deux ils sont fucked up. Le reste des dragons pour l'instant sont assez interchangeables, à voir s'ils vont réussir à transformer l'essai pour quand ça deviendra important de savoir un peu qui est sur quel dragon, parce que là voilà, on voit deux personnes voler sur des dragons, on sait que c'est des Vélarions, on sait pas trop qui est où, c'est pas très grave. Au moment où on aura potentiellement plusieurs personnages avec plusieurs dragons dans les airs, ce sera quand même un petit peu important de savoir qui est sur qui. Et pour l'instant, j'avoue, c'est des bestioles qui volent avec des ailes et qui sont un peu rouges. Elles se ressemblent un petit peu toutes, à part Caraxès, qui a le bon goût d'être différent. C'est important de noter que les Lannister sont de retour à ce mariage. Ser Jaison Lannister, Lord Jaison Lannister, notre lord préféré de Castle Rock, qui sont toujours des nouveaux riches, qui sont toujours des tocards, et qui sont toujours... Il y a effectivement un dragon qui se nomme Son Cheveu. Donc c'est toujours des nouveaux riches, c'est toujours des tocards, et c'est toujours des misogynes. Donc Jaison se dit, tiens, c'est le mariage de la future reine qui m'a refusé, qu'est-ce que je pourrais faire, une blague misogyne? Mais oui, faisons ça. Donc il claque une excellente vanne qu'on va rappeler, qui est « C'est bien pour ça que les femmes ne deviennent pas reines, elles seraient en retard à leur propre couronnement. » Je pense que c'est ça. Soit quoi, Viserys a le bon goût de ne pas rire. Au moins, il n'encourage pas cette blague de beauf. Il ne dit pas non plus que c'est de la merde. Mais moi, j'aime toujours cette storyline de « Les Lannister gênent tout le monde et personne n'a envie de traîner avec. » Parce que je trouve ça trop marrant de voir des mecs Lannister qui sont juste des gros miskins, vraiment des tocards. Moi, j'aime bien les tocards. Et quand les Lannister, c'est des tocards, je suis ravie. On a un autre personnage qui fait son apparition qui va être très vite assez important puisqu'il va avoir une scène avec Daemon, qui est Ser Gerold. Donc Ser Gerold, c'est le cousin de Rhea Royce, la femme, feu la femme de Daemon, n'est-ce pas, qu'on a vu au tout début qui voulait aller chasser avec lui. Elle lui a dit non, je vais y aller solo. Et du coup, bah, il est venu à King's Landing non pas pour célébrer le mariage, mais plutôt pour demander réparation pour ce qu'il estime être le meurtre de sa cousine. Et on va voir que quand Daemon arrive, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Donc on a tout ce moment, tournoi des trois sorciers, les Gryffondors arrivent, c'est les Lannister, les Beaubâtons arrivent, c'est les Vélarions. Il y a du coup bah Viserys qui commence à vaguement faire un acte de roi envers justement Ser Gerold en lui disant « Ah quoi, Daemon aurait tué ta meuf, je ne crois pas ». Et là « Ah non, c'est dommage, on en parlera plus tard ». Les Vélarions arrivent, roulement de tambour, ils arrivent, ils sont trop beaux. Les Nords, je trouve ça intéressant les outfits de ce pré-mariage. Parce qu'il n'y a pas du tout un thème mariage, tu vois. Tout le monde a des couleurs différentes. Il n'y a pas les hommes en noir, les femmes en blanc.
Il n'y a que Jacques Mus qui fait un thème pour son mariage. Hein.
Oh bah, qui fait ça de nos jours, c'est un petit peu old school. Est-ce qu'on en sait des choses sur le mariage de Jacques Mus et qu'il attaque? Peut-être.
C'est
quand on est un DJ de talent, on mixe à des événements.
Je te dis un truc, mais...
Ouais.
Quand on joue au jeu des trônes...
Fatigue.
On gagne. On meurt.
C'est très vrai. Cette anecdote est vraie. Donc voilà, on a l'arrivée triomphale et extrêmement badass des Velaryon. Et ensuite, on a la meilleure. La deuxième meilleure.
Non, en fait, Viserys, raconte les choses, genre, avec de l'intrigue, s'il te plaît.
Mais raconte-toi alors, choses avec, vas-y.
Raconte les choses avec un sens du
storytelling, s'il te plaît. Dis-moi, moi, j'étais en train d'essayer d'arriver tôt.
Viserys, il fait son discours.
Oui.
Il est genre, tape sur sa petite cuillère, il fait son grand discours. Et là, il s'arrête.
Non, avant ça, il y a Daemon qui arrive.
Ah oui.
Avant cette arrivée.
Okay, je pensais que tu t'entendais.
On a dit qu'on allait parler de Daemon, il y a Daemon qui arrive.
Daemon, il arrive, encore une fois.
Il arrive, il est là. Jeu d'acteur. Il est dans le coin, il regarde en mode.
Pas un mot.
Il y a de la place, il y a personne, c'est bon, j'ai une voix.
Il est banni, officiellement.
Il est exilé. Il a été exilé par le roi qui lui a dit, tu repars chez ta femme et je veux plus te voir parce que t'as essayé de soulever ma fille. Donc, le gars est pas invité au mariage. Il n'a pas eu d'invite officiel, il est pas censé être là. Et du coup, la question, c'est comment ils vont faire en sorte que Daemon se retrouve au mariage parce que c'est fun. Et la réponse, c'est juste, il est venu. Il est pas invité, il est venu, il s'en bat la race.
Il s'en bat la race.
Et il arrive.
Il arrive, il est vraiment genre.
Mais ouais, il arrive, il est là. Il est sup, on m'attendait ou pas? Vraiment, il est en Michael mort, tu vois. Party don't start till I walk in et tout Kesha, hop là, what?
Il est vraiment genre.
Et vraiment, Viserys se miskine, il le regarde et il est là. Prends une chaise, frère, t'inquiète, prends une chaise, j'en ai prévu un peu plus au cas où tu venais, quoi. Je suis là, waouh, ok, bah tu m'étonnes que tu vas jamais te faire respecter, frère.
Ouais, c'est sûr.
Tellement cringe cette entrée d'Icalixa. Ouais. Alors j'avoue que le côté swagger de Daemon commence à être border Jack Sparrow.
Moi, je le trouve pas cringe du tout, je le trouve.
Mais en fait, c'est
chaotique. Chaotique. Je trouve Heath Ledger dans Batman, quoi. Genre, je le trouve vraiment genre. Je suis là. Et alors, vous allez faire quoi maintenant?
Je vais faire n'importe quoi.
Mais
ce qui est vrai,
ça va partir en couille. Et moi, je suis genre, il manquait que lui, putain, il manquait que lui, il est là, putain, trop bien.
Mais en fait, c'est ça qui est cool. Pour moi, c'est, sa classe, entre guillemets, son swagger et tout. Je suis d'accord que c'est, moi, je trouve ça un peu cringe. Et qu'il y a un peu un côté, il surjoue. Mais par contre, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est quand il arrive, tout le monde le regarde et tout le monde se dit, il va faire une dingue. Qu'est-ce qu'il va
faire?
Mais
bien sûr.
Et dans une imprévisibilité incroyable, donc vraiment on le voit arriver au mariage. En plus c'est un mariage à Westeros, on est là, oula. Et en plus il voulait la soulever la gamine, il l'a demandé en mariage quoi.
Non
donc
mais heureusement
genre...
qu'il y a des moments comme ça dans House of the Dragon, parce que sinon ça se prendrait un petit peu trop au sérieux.
Bah oui, mais c'est tu comme j'ai dit pour l'instant, un des seuls reliefs un peu comiques, c'est Daemon.
C'est
quoi.
Daemon quoi.
C'est quand Daemon il arrive, on est là, on va rigoler.
Heureusement que Daemon est un méchant de Batman perdu au milieu de House of the Dragon quoi.
Et on l'adore pour ça.
Et on l'adore pour
et
ça.
Et c'est
quoi.
Pour le coup, c'est sa personnalité.
Et c'est un vrai méchant, quoi.
C'est le
et
gars.
Et tu sais vraiment
vrai méchant,
pas.
Il y a pas de vrai gentil et de méchant, on a dit.
Ouais, mais si tu veux, genre.
Mais
tu...
c'est un chaotique.
C'est le
contre.
Seul où tu sais pas s'il va foutre le feu à la baraque ou s'il va baiser quelqu'un ou s'il va se faire des potes ou s'il va. Ou... tu vois ce que je veux dire? Ou s'il va. Il dit rien en plus. Il dit jamais rien.
Il dit rien.
Il dit le minimum et il en dit beaucoup plus que. N'importe quel membre du casting de Ring of Power. Tu vois ce que je veux dire?
Ce podcast et ce Twitch est en vrai. Le cheval de Troie, c'est éclaté Rings of Power. J'ai toujours pas regardé, I don't know. Mais oui, Daemon, je trouve que c'est très malin d'en avoir fait un mec qui dit quasiment rien. Parce que dans le bouquin, on ne connaît pas sa pensée intérieure, mais on connaît pas la pensée intérieure des personnages parce que c'est pas eux qui racontent. Mais Daemon, c'est beaucoup plus intéressant de pas savoir ce qu'il pense et de pas
bien
savoir
sûr.
Ce qu'il veut. Et c'est aussi pour ça que la série, quand il fait des trucs impardonnables, ne le montre pas directement. Parce qu'il y a ce côté ambigu avec Daemon, quoi. On a un peu envie de traîner avec, quoi. Il est quand même hyper intéressant.
Je l'aime trop. J'aime le détester.
Mais
c'est une horreur, mais je l'aime trop.
Est-ce qu'on le déteste? Est-ce qu'on se déteste déjà? Peut-être pas. Il a quand même tué sa meuf, j'avoue. Donc Daemon arrive. Il a une petite altercation avec Ser Geralt qui lui dit, t'as quand même buté ma cousine. Et le mec est là, quoi? Hein? Quelqu'un a buté ta cousine? C'est très grave. Est-ce que c'est toi? Ce qui est incroyable comme réplique. Vraiment, le mec arrive en disant ma cousine a été assassinée et Daemon il dit mon dieu t'es en train de te confesser et je suis quel connard. C'est hilarant,
non,
c'est vraiment. Et après il dit
c'est
non
le
mais
meilleur.
Du coup l'héritage tu vois genre je prends l'héritage y a pas de problème et Viserys il est là Viserys il a arrêté
il lui dit au fait il va falloir que je vienne collecter ta maison donc on se verra
et
sûrement
même,
là-bas.
Attends.
Ciao.
T'as vu Viserys, le mec, il est en train de calomnier que j'aurais tué ma femme. Tu devrais faire quelque chose. T'es le roi, il me calomnie. Et Viserys, il est là. Tu sais quoi file un shot, je sais pas. Viserys, il a pas envie de s'emmerder avec ça. Viserys, il est là et oh.
Il essaie de bouffer son homard là.
Ouais,
putain.
Je suis en train d'essayer de bouffer du homard avec trois doigts. Déjà, c'est humiliant. Je l'ai fait juste parce que c'est Corlys le daron et qu'il adore les fruits de mer. Je suis en train de marier ma fille à un gars dont j'aurais dû épouser la fille il y a 5 ans. Bref, vous vous rappelez, c'était gênant. Je suis en train de faire vla des bails diplomatiques. Je suis fatiguée. J'ai perdu les 3/4 de mes extrémités. Viserys, il est fatigax. Il a jamais été très combatif envers Daemon, mais quand même dans l'épisode précédent. Il lui a mis des bons coups de pied dans les reins, il l'a éclaté par terre, et là, il a arrêté d'être combatif. Viserys, il est là, je suis fatigué. Et Daemon, il est là, moi, je suis pas fatigué. Et Viserys, il fait, ok, bah.
Vous êtes fatigué.
On n'est pas fatigué. Bah, ok, fais ton truc, quoi. Donc, on a une arrivée.
C'est un peu la danse qu'ils font, hein. Quand ils font, hey, vous êtes fatigué. Hey, on n'est pas fatigué. Hey, on va se foutre sur la gueule. Ouais.
Oui, bah. Comme disent les Dothraki, un mariage sans au moins 3 cadavres est considéré une affaire très ennuyeuse. On n'a pas 3 cadavres, mais on n'est pas passé loin, c'est pas faux d'avoir essayé. Puisque, du coup, deuxième arrivée triomphale de ce mariage, Viserys est en mid-discours. Il commence son discours et au moment où il dit...
Et ils mettent la musique, putain, la musique de machin, là.
Wow. Incroyable. Moi, j'étais là.
Ils mettent la musique.
Et vraiment,
putain,
j'étais en mode.
Moi, j'ai failli un peu chialer, hein.
Mais tu comprends. L'émotion. Ouais. Ben, les mariages à Westeros.
Quand elle arrive, qu'elle est en vert, et qu'ils font une grosse scène d'exposition, mais bien vénère, qui est presque une punchline de rappeur, tu vois.
Ah ouais.
Genre, est-ce que tu sais pourquoi?
Ah non, mais là, c'est Booba.
Est-ce que tu sais quelle est la couleur que les Hightower mettent sur leur drapeau quand ils partent en guerre? Le vert, mec. Ouais.
C'est incroyable. Moi, j'étais vraiment en mode Booba, en mode bordel, quand on rentre sur la piste, tu vois, let's go. Alicent, elle est venue casser les culs. Il y a Tête Sempou qui dit, moi, j'ai trouvé que c'était full Naruto. Alors, encore une fois, on n'est pas sur l'épisode le plus subtil de l'histoire de House of the Dragon, mais on est sur un épisode qui installe des
ça dépend
forces,
où on souhaite voir la...
Très, très important.
Ça dépend où on souhaite voir la subtilité.
Bah disons que cet nous, épisode... on sait qu'il y a des choses qui ont été subtilement plantées dans cet épisode qui vont porter leurs fruits plus tard.
Et aussi,
vous avez les fruits.
Et aussi,
les fruits, ils sont un peu obvious. Quoi.
Aussi, c'est la fructescence obvious de choses qui ont été plantées subtilement avant. Donc ça, pour moi, sublime les 4 épisodes précédents, en fait. La subtilité de cet épisode-là, c'est de sublimer les épisodes précédents, en final.
Je suis d'accord.
Tu vois. Et c'est ça qui me fait, moi, c'est ça qui me, que, pour moi, personnellement, c'est mon épisode préféré, de loin. Et j'aime tous les épisodes.
Tu m'as dit, il est ma boule, c'est mon
préféré.
Mais
quand j'ai vu cet épisode, j'étais genre.
Il t'a fait tourner un petit peu Team Alicent en robe verte.
Un tout petit peu. En tout cas, il a redistribué les cartes un peu.
Oui. Parce que du coup, ce qui se passe, pourquoi c'est si important que Alicent arrive en robe verte? Là, on va faire un petit point lore dans les bouquins. Donc, on se dirige tranquillement, et je pense pas que c'est un spoiler de vous le dire parce que
lore
c'est l'épisode
de Nescafé.
Merci.
Non. Nescafé d'ailleurs, du tout.
Lore. Carte d'or?
Lore.
Non. Parce que Nescafé, moi j'ai dit j'adore. L'or de Lint. Non.
L'or de.
L'or. Bref, vous l'avez, dites-le. Cet épisode n'est pas sponsorisé. L'or de Maison du Café, ça se tient. Voilà, on a dit 4 marques différentes de café. Ce qui est en train d'être dessiné dans cet épisode de façon assez claire, c'est une forme d'opposition entre Rhaenyra et Alicent pour l'héritage longue durée du trône, c'est-à-dire une fois que Viserys décède, est-ce que c'est Rhaenyra ou le fils d'Alicent, la descendance d'Alicent, la reine, la femme légitime du roi, qui vont régner. Et Alicent jusqu'ici, c'est très important son choix vestimentaire, et les costumiers et les costumières ont beaucoup travaillé sur les vêtements des gens, et notamment les vêtements d'Alicent, pour que quand elle arrive en vert, ça ait une signification, et que au-delà du fait que l'épisode, comme quelqu'un a dit sur le chat, tout l'épisode est construit, il y a une montée en puissance de cette séquence. Quand Alicent arrive, on se rend compte qu'il se passe un truc parce qu'elle est en vert. On a cette phrase des Strong qui dit, voilà, quand les gens d'Old Town partent en guerre, ils montent une flamme verte en haut de leur ville vieille, de leur tour. Donc quand les Hightower partent en guerre, ils portent du vert. Mais au-delà de ça, Ce qui se passe, c'est que tout le long, Alicent a porté à peu près les couleurs Targaryen. Depuis qu'elle est dans la team Targaryen, elle porte les couleurs Targaryen, à savoir le noir et le rouge. Et elle a porté aussi une vieille robe de sa mère. On se souvient, malheureusement, feu sa mère, elle a porté ses vieilles robes pour aller séduire Viserys. Là, c'est la première fois qu'elle porte les couleurs de sa maison, les Hightower, et qu'elle se rapproche du coup de sa famille natale et non pas de sa famille adoptive. Famille natale qui est présente, qu'on voit arriver au pré-mariage et qui est formée non pas de Otto Hightower, puisque Otto Hightower n'est plus là. Enfin, il est vivant, mais il n'est pas là. Mais dont son grand frère. Alors on m'a demandé dans les questions sur Instagram, il y avait pourquoi Otto c'est pas le chef des Hightower, pourquoi il y a son cousin qu'on voit
parce
peu.
Parce que il pourrait pas être à la fois la main et tu vois quand c'est Tywin la main, il laisse Casterly Rock avec je sais plus qui.
Oui, il me semble, mais au-delà, il y a un intendant, je pense, ouais, à Casterly Rock. Mais au-delà de ça, en fait, c'est pas le grand frère Otto. Il a un grand frère et la personne à qui il parle, le vieux Aubert Hightower, qui est la personne à qui Alicent parle dans cet épisode quand elle est en robe verte, c'est pas son cousin, c'est son grand frère. Du coup, c'est le fils aîné. Du coup, c'est lui le Lord Hightower.
Ils lui disent clairement à Alicent, tu as notre soutien.
Oui. Tu as le soutien de la famille Hightower, tu as le soutien de Old Town. Donc, ils sont en mode, on est dans ta team. Donc, ils sont en mode, il y a des teams. Et on voit ce que t'es en train de faire. T'es en train de faire un statement politique avec ta robe, avec le fait qu'elle soit verte, avec le fait que t'arrives en retard, avec le fait que tu n'es pas un mot gentil, que tu, clairement, t'es en train d'afficher que tu ne soutiens pas ce mariage. Et rappelons que Alicent est extrêmement formée et compétente à la diplomatie, à toutes les obligations qui reviennent à une reine et à une femme de sa stature et de son statut. Et du coup, elle sait très bien ce qu'elle fait quand elle arrive en retard, elle sait très bien ce qu'elle fait quand elle porte du vert, et elle sait très bien les signaux subtils qu'elle est en train d'envoyer, tout comme, enfin, tout est codifié, quoi, tout est très régenté. Bah, actuellement, c'est les funérailles de la reine d'Angleterre. Il y a vraiment un milliard de trucs, tous les éléments ont une signification. Les boutons que portent les gars sur leur uniforme ont une signification, les braguettes, les lances, les machins, tout a un sens, tout est codifié, et du coup, quand Alicent, elle arrive en retard, qu'elle interrompt Viserys, le roi, son mari, qu'elle arrive en vert, qui est la couleur de sa maison à elle, et pas la couleur de la famille Targaryen, qui est la famille royale qu'elle a épousée et dont on est en train de célébrer une des membres, elle est en train d'envoyer un message très fort. Et dans les bouquins, du coup, ce qui se passe, c'est que les partisans d'Alicent et surtout, du coup, de Aegon, qui veulent, du coup, bah, qu'un garçon devienne roi et pas une femme devienne reine, vont s'appeler les Verts. On va les appeler les Verts, et ça va être la faction des Verts, qui seront en gros la team Alicent, parce que, à ce dîner spécifique, elle a porté du vert et que c'était très lourd de sens. Je trouve qu'ils s'en sont bien sortis dans la série pour que tu comprennes que c'est important ce qui se passe, que sa robe est importante,
ils ont fait ce
et
petit,
qu'elle
ce
arrive petit... en complète changement par rapport à son personnage d'avant, quoi.
C'est les Strong, hein, qui...
Oui, c'est les deux Strong, c'est Arwen Strong et Larry Strong qui nous font ce petit dialogue d'exposition afin de nous expliquer
que
le vert, ça veut dire qu'ils partent en guerre et qu'ils sont là. Ouais, I know. Ça, et c'est intéressant parce que l'actrice a dit qu'elle a... En fait, donc il y a un... C'est pas un spoiler de vous le dire.
L'actrice a dit qu'elle aimait pas du tout le vert, donc elle était dégoûtée de s'habiller avec cette robe.
Donc, encore une fois, c'est pas un spoiler de vous le dire, on vous dit depuis le début.
Qu'elle ressemblait à la fille de Shrek.
Attends, je suis focus. Il y a un time jump qui arrive dans la série. Ok, on va sauter de 10 ans en avant et on va changer d'actrice. Donc pour Rhaenyra, pour Alicent, pour Lenor et pour Lena notamment, on va avoir des nouveaux acteurs et des nouvelles actrices qui arrivent. Et en fait, quand l'actrice qui joue Alicent jeune a lu cette scène dans le scénario, donc cette scène où elle arrive en robe verte et où elle s'affirme comme « Je suis Alicent Hightower, je suis la reine, je suis la femme du roi et j'ai une légitimité et à défendre, on va dire », elle pensait que c'était l'actrice plus âgée qui allait la jouer. Et quand elle a compris que c'était elle qui allait la jouer, elle était là « En fait, je comprends pas comment je peux jouer la Alicent de 14 ans de l'épisode 1 ». Ouais. Et la Alicent qui se révèle à ce moment-là et qui pour moi devient vraiment une femme, c'est hyper intimidant. Elle était là, j'étais sûre que j'allais trébucher. Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise à l'idée parce que pour moi c'est un move de femme adulte, de reine qu'elle fait. Et moi je joue la Alicent jeune en fait. Mais c'est un move de reine que Alicent elle fait à cet âge-là.
Side note, coup, très rapide.
Bien. Vas-y.
Et on en reparlera plus la semaine prochaine. Il y a quand même des inconsistances. Dans le fait de faire jouer le même personnage par deux acteurs différents dans cette série.
Oui, et les Velaryon moi je trouve que c'est compliqué que Lenor et Lena soient joués par des actrices et des acteurs plus âgés. Ils ont l'air vraiment beaucoup plus âgés que Rhaenyra et Alicent, alors que Lena à la base elle avait 12 ans quand Rhaenyra en avait 15, donc plutôt elle est censée être plus petite mais elle a pas l'air beaucoup plus jeune. Après c'est aussi l'actrice qui fait Rhaenyra et l'actrice qui fait Alicent, elles font jeunes.
En fait on va s'en rendre compte plus tard, je pense que des inconsistances. Puis Matt Smith, ça reste Matt Smith. Enfin, Damon, oui, il est toujours joué par le même gars.
Matt Smith, ça reste Matt Smith, quoi, alors que, bah, il y a des années, des décennies qui se passent. Enfin, c'est, on va voir comment ils s'en sortent. En vrai, c'est un gros pari, hein, qu'ils ont pris. On va voir comment ils s'en sortent. Le fait que les jeunes actrices soient aussi douées n'aide pas à la transition, mais soyons confiants et confiantes.
Je suis dégoûté que Millie Alcock, elle parte. Je suis hyper attaché à Millie Alcock.
C'est Rhaenyra, du coup. Elle est
super.
Déchire.
Elle est hyper attaché à elle. Je suis un peu dégoûté et j'espère que l'autre, elle va assurer.
C'est ça le problème, c'est que l'autre, elle se retrouve dans la position de devoir assurer après la petite jeune, alors qu'à la base, ils ont cassé d'abord l'adulte et après la jeune, et c'est plutôt l'adulte qui a joué, et la jeune qui s'est dit, ok, je vais essayer de jouer toi jeune. Mais comme, nous, on le voit dans l'ordre chronologique, bah, on a connu Millie Alcock en Rhaenyra, et elle est vraiment super douée.
Elle est trop forte.
Du coup, c'est dur de se dire, on va passer à quelqu'un d'autre.
Mais, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine qu'elle reçoit son coup de fil de Marvel, hein, Millie Alcock.
Bah, alors, si elle peut faire autre chose que Marvel et faire plutôt des films intéressants, ça peut être bien aussi. Excusez ma hot take. Mais désolé, j'ai vu Eternal, s'il y avait la moitié du cast de Game of Thrones dedans.
C'était la merde.
Eternal,
c'était spécialement de la merde.
C'était pas ouf, quoi. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe d'intéressant à ce mariage avant d'arriver aux choses vraiment intéressantes? Alicent est arrivée en robe verte. Il y a Daemon et Lena Velaryon qui ont un petit eye contact, qui ont un petit moment de danse.
Drague,
Lena, elle a un peu les yeux qui crient dragon. Voilà, c'est intéressant à savoir que, écoute, Daemon est maintenant célibataire et disponible. Lena n'est toujours pas mariée puisque Viserys ne s'est pas marié avec elle et que depuis elle n'a pas épousaillé. Voilà, c'est intéressant de savoir que ça se regarde.
Épousaillez-moi ça.
Et rappelons que Lena, c'est celle qui était très curieuse de où est Vhagar, le dragon sauvage, et bah Daemon a peut-être le dragon le plus sauvage des dragons disponibles, donc peut-être qu'elle aime bien Daemon aussi parce que le gars il aime bien les dragons et qu'il a un dragon fun, quoi. Et la go, enfin en gros elle aime
juste
bien les motos.
Juste un enfant qui kiffe les dinosaures, quoi.
Mais c'est ça, elle kiffe les dinosaures et le mec a un T-Rex, elle est là, peut-être on traîne ensemble, tu vois, y a pas de souci. Et comme dit Tatumpu, Lena a tombé par terre. Elle est vraiment très très belle. Mais je trouve que Lenor est très beau aussi.
Ouais.
Enfin, tout, en vrai, tous les Velaryons et même Rhaenys et tout, des gènes, un casting au poil.
Mais c'est ça, faites-nous un prequel avec un bon Corlys Velaryon là,
oui,
qui part là, qui part
va
en
naviguer,
bateau
là.
Imaginez
une série dans l'univers de Westeros où il y a zéro personne blanche. Il y a que des personnes racisées parce qu'il y a Corlys qui part et qui va voir des îles et des endroits qu'on connaît pas avec plein de gens qui sont pas blancs. Ce sera incroyable ou pas? Moi, j'y crois. J'y crois.
Il y aura, sans spoiler, mais il va y avoir aussi des gens beaucoup trop blancs.
Ouais.
Blanc comme transparent, quoi.
Oui, oui. Et aussi des gens tout blancs parce qu'ils vivent au fond de l'eau. Rappelez-vous, bien sûr, le dieu noyé. Ok, donc on a ce petit moment entre Daemon et Lena Velaryon qui est intéressant à noter. Voilà, comme ça vous êtes sûr de l'avoir vu. Et on a ensuite Daemon qui se dit Rhaenyra, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Est-ce qu'on irait pas danser? Pas du tout, il attend qu'elle soit en train de danser avec Arwen Strong, fils de Lionel Strong, l'autre fils, le frère de Lionel Clubfoot, de Larys Clubfoot, pardon, on l'adore. Et
c'est
il
pas censé être le mec le plus fort de Westeros?
Alors, son surnom, c'est Arwen Breakbones, Arwen Briseur d'os, et effectivement, il est très très costaud. Alors, c'est pas la montagne, c'est pas ce niveau où le
Lui va être méga important, là. Il s'apprête à être méga important.
Il va rester après le time jump. Donc, rappelez-vous que Arwen Strong, Marvray, les enfants Strong, enfin, la famille Strong, c'est bien de garder un œil dessus, puisqu'on a le daron qui est main du roi, le fils qui est chuchoteur professionnel, et l'autre fils qui est gros bras de la couronne qui sont en première ligne et qui est d'ailleurs la personne qui va sauver Rhaenyra de la foule quand ça va partir en couille là très bientôt. Donc Arwen Strong.
Potentiellement un peu The Hound.
Oui, voilà, il y a un côté The Hound, la montagne, mais sans être aussi démesurément fort et sans être aussi trauma. Aussi, The Hound et la montagne, ouais, ils sont ultra trauma. Eux, ça a l'air d'être une... Franchement, ça a l'air, pour l'instant, c'est la famille la plus saine qu'on ait vue.
Ouais.
Le daron, il est sympa avec ses fils, il comprend dans quoi ils sont forts, il essaye pas de les forcer à faire autre chose que ce qu'ils veulent. Quand Viserys, il lui dit, tu veux marier ma fille à tes fils.
Je parle de The Hound dans un rôle un peu protecteur, tu vois.
Oui, voilà. The Hound avec Sansa, ça peut marcher. On est sur Arwen Strong. Bisous, Calyxa. On a bientôt fini. À bientôt pour la fin de la rediff. Du coup, on a Daemon qui se dit, allons voir Rhaenyra pendant qu'elle s'apprête à danser avec Arwen Strong. Et il va voir Arwen Strong, il lui dit, tu me la files. Et Arwen dit, yes, my prince. Parce que Daemon est quand même le supérieur hiérarchique de tous ces gens. On a tendance à l'oublier parce qu'il est pas beaucoup à la cour, mais en vrai, les gens ne l'oublient pas, quoi. C'est genre, c'est le frère du roi, c'est le prince, tout ce qu'il veut, c'est oui. Et du coup, Daemon se dit, mais allons danser avec Rhaenyra et lui dire, frère, t'as vraiment, il fait ce move de ton ex quand t'as un nouveau gars et qui vient de dire, tu sais, c'est pas ce qu'il te faut, hein. C'est pas le mec qu'il te faut. Je pense qu'il te faut plutôt un mec comme moi. Et t'es là en mode, ok, bah, du coup, sors avec moi, on se remet ensemble. Et il est là, non, je pense pas. Et t'es là, ok, donc c'est quoi le plot? C'est que je me mets avec personne, mais je suis pas avec toi. Et il est là, oui.
Est-ce que pour plutôt... toi, là, Rhaenyra, elle lui dit, enlève-moi et amène-moi au bout du monde, comme une sorte de question rhétorique, dans le sens où elle sait très bien qu'il va dire non. Ou est-ce qu'elle est vraiment sérieuse?
Je pense qu'il y a une partie d'elle qui espère qu'il va le faire. Parce que autant Kristen Cole qui lui dit vas-y, on se barre, ça veut dire on n'aura pas de thunes, on sera personne, et on va juste vivre une vie de, tu vois, de galérien.
Ouais.
Damon qui lui dit on se barre, elle lui dit fais de moi ta reine, tu vois. Elle ouais. lui dit mais brûle-les tous si tu veux. Si ouais. tu veux de moi, tu me prends, tu les brûles tous, on va tous les cramer, et tu m'emmènes à Dragonstone et tu fais de moi ta reine. Et tu vois, c'est pas pareil que Kristen Cole qui dit ouais, on pourrait aller à Essos, ouais. faire des petits jobs d'été.
Ok,
tu vois.
Très bien. Donc moi, quand je vois cette scène-là, je me dis ah ouais, en fait, elle est un peu sick and twisted.
Mais Rhaenyra, elle est fracasselante, elle est fucked. Rhaenyra, elle a envie
non,
qu'il
non,
le
mais
fasse.
Je sais qu'elle est fracasse.
Elle
est
a envie
up,
qu'il
mais...
le fasse. Elle a les yeux qui puent la bite à ce moment-là. Je suis désolée, Twitch. Mais vraiment, elle le regarde. Elle est là en mode vas-y, prends-moi. Et j'étais là, excusez-moi, enfin, peut-être je vous dérange, tu vois. Peut-être qu'il devrait pas y avoir une caméra dans cette scène. Enfin.
Moi, je.
Elle est grave chaude, hein.
Moi, je trouve que c'est. Qu'elle le soit aussi frontalement. Tu vois, j'ai toujours,
moi,
on a toujours capté les tripotages de collier, les tripotages de machin, les je te regarde dans un coin, nanana, bah, qu'elle fasse ça au milieu de tout le monde.
Leur dernière interaction, ça a été lui qui la chauffe dans un bordel,
ouais,
qui la plaque contre un mur,
si.
Qui la laisse solo et qui se fait exiler. Genre, ils
pas
sont pas revus depuis.
Ouais, pas de souci.
Gênant
ouais.
ou pas de revoir ton ouais. ex? Et en plus, tu le revois, le gars, bon, ton ex, c'est aussi ton tonton, donc c'est malaise. Tu le revois, le gars, il vient à ton mariage, à ton ouais. pré-mariage, il est pas invité. Ouais. Il est exilé et tout, il arrive, il dit pas bonjour ni rien, il se pose, il est désagréable avec le cousin de sa femme qui l'a tué, bon, ça, encore, pourquoi pas. Et il attend. Le premier truc qu'il vient de dire quand il vient de parler, c'est de la merde ton mariage, tu devrais pas faire ça. Et t'es là en mode, ok, bah vas-y, propose-moi mieux, let's fucking go, tu vois, si tu veux jouer au con. Et lui, il est là, non, je vais pas vraiment le faire. Bah,
qu'est-ce
désolé,
qu'est-ce que
Damon.
C'est sa réaction?
Sa
est-ce que c'est vraiment non, je vais pas vraiment le faire?
Bah, il le fait pas en tout cas, tu vois.
Ouais,
il lui dit,
mais
bah,
attends,
vas-y, emmène-moi.
Parce qu'il y a une ellipse bizarre à un moment.
Bah, c'est le moment. Alors, ok, on arrive au moment.
En fait,
de
la caméra, elle coupe. On sait pas ce qu'il lui dit.
On sait pas ce qu'il lui dit. On sait qu'il la.
Parce
il,
que...
il la prend un peu pour l'embrasser.
Il y a aussi.
Enfin, vraiment, il lui chope la mâchoire, j'étais là déjà.
Ouais.
Bonjour. Et aussi, genre, vous êtes.
Mâchoire
vraiment
prognate.
Au milieu de. Mâchoire prognate.
My prognate queen, Millie Alcock. Prognat, problématique, prognat, bay queen, Millie Alcock.
À dire 10 fois de suite très vite chez vous, problématique, prognat, bay queen. Il lui chope la gueule vraiment, genre il va lui rouler une pelle. Et là, on switch sur c'est Viserys qui regarde. Et Viserys, ouais. il regarde, et il voit pas ce qui se passe. Et là, d'un coup, c'est le bordel. Et c'est la bagarre. Et effectivement,
donc, effectivement
on
ne sait
pas,
pas aurait... qui a commencé la bagarre.
Alors, on arrive au point bagarre. On ne sait pas qui a commencé
déjà,
la bagarre.
Déjà, il y a eu le moment, avant
du
la
tout.
Point de bagarre, il y a eu le moment où le rouquin
ouais.
va voir Kristen et lui
bien
dit, hé, on est dans la même team, mec.
Sinon, il n'y a pas de bagarre.
J'ai capté. Déjà, il le dit à Lenor. Ensuite,
ouais.
il dit, comme ça, toi aussi, t'as ton arme. Elle connaît ton secret, tu connais le sien. Et ensuite,
il a la bonne idée de se dire, je vais aller le dire au gars. Au gars
mais
en question.
Quelle mauvaise idée.
C'est une très mauvaise idée. Alors, c'est intéressant. Ok, faisons un petit point. Quand Geoffrey va, donc Geoffrey, l'amant de Lenor, va parler à Kristen Cole en lui disant, bah écoute, on est chacun l'amant d'eux, on est chacun le plus sain, on est chacun la personne de l'ombre. Peut-être que c'est bien de le savoir. Il y a des gens qui l'ont pris comme une menace. Qui l'ont pris comme il est en train de menacer Kristen en lui disant, je connais ton secret, et du coup, c'est limite du chantage, tu vois, c'est du,
ouais.
tu vois, du sympa
je
mafia
connais
de,
je connais ton secret.
On va bien
ouais,
travailler
ouais.
ensemble,
ouais,
mais t'es là,
ouais.
j'ai l'impression que si je veux pas travailler avec toi, y a pas de plan
ouais.
B. Moi, je l'ai pas lu comme ça, je l'ai lu comme, on peut être allié dans cette, mais après, je suis optimiste, hein, mais peut-être on peut être allié dans cette galère. Alors après, il y a un moment où
en
Geoffrey,
fait, c'est
il
impliqué
petite,
que c'est de la menace.
Au paquet à Kristen.
C'est impliqué que c'est de la menace parce qu'il lui dit, moi je connais ton secret, donc je peux te foutre dans la merde à n'importe quel moment. Tu
oui, mais d'un autre côté, bah, Kristen connaît le sien maintenant, tu vois. Il
ouais.
lui dit son secret, il est pas
ouais.
obligé de lui dire, Geoffrey. Il
ouais.
pourrait lui dire, je sais ce qui se passe entre toi et Rhaenyra,
ouais.
et pas
ouais.
lui dire, moi
ouais.
je suis le gars de Lenor.
Ouais.
Donc moi j'ai lu ça comme un petit peu, vas-y, peut-être on s'entraide, et en même temps, ce qu'il peut pas savoir, ce petit Geoffrey qui littéralement vient d'arriver, peut-être qu'il aurait dû attendre un peu plus longtemps avant de dire à Kristen Cole, je sais qui tu es, alors qu'il a juste vu deux regards, mais après on en parlera, c'est pas exactement comme ça dans le bouquin. Enfin, c'est pas du tout comme ça dans le bouquin.
Ce qu'il peut pas savoir, c'est que l'autre
c'est
vient de se faire plaquer.
Il sort de.
Enfin, il vient de se faire.
Rhaenyra lui a dit, ouais. Bah, ciao, tu vas être mon toy boy et pas plus. Et qu'il a confessé à la reine ce qu'il a fait. Donc, en fait, il est potentiellement déjà en danger de mort. Donc, quand le gars vient lui dire, moi, je connais ton secret, il est là. C'est, en fait, c'est quoi? C'est qui? C'est quand tout le monde connaît les bails et il est hyper menacé. Il est en crise existentielle, encore une fois. Il a sacrifié la seule chose qui a du sens dans sa vie et l'intégralité de l'honneur de sa famille sur des générations pour niquer une petite go qui lui a dit « Ah non, mais gars, je serai jamais ta légitime, je suis quand même la reine, tu vois, genre c'est mignon tes rêves de « on va se marier, mais calmons-nous ». Il est pas bien, Criston, à ce moment-là de ce mariage. Il ne passe pas un bon mariage, je pense qu'on peut le dire. Un jour, j'ai été à un mariage avec mon mec de l'époque et je me suis rendu compte pendant le mariage qu'il me trompait avec la sœur de la mariée. Avec qui il était venu.
Quoi?
Eh ben, j'ai pas passé un bon mariage. Vous l'avez chez vous, vous avez l'intégralité des infos, vous avez très bien entendu cette phrase. Il était là, la mariée était là, la sœur de la mariée était là, j'étais là, et j'ai compris au bout d'une heure qu'il était clairement en train de niquer la sœur de la mariée depuis un moment, qu'il était pas très, enfin, depuis, ça faisait pas mal de temps qu'il se fréquentait, qu'il était pas très discret, et que l'intégralité des invités l'avait compris, et avait une forme de pitié envers moi. J'avais une forme de, tu sais, ils venaient me parler, on se connaissait à peu, vraiment, je connaissais, genre, ouais. La mariée, c'était une pote de mon mec, moi, je connaissais personne, et les gens, ils venaient me parler en mode, ça va? C'est toi, hein, la compagne de... Ah oui. Et ça va, du coup? Et j'étais là, oula! Les gens sont extrêmement tendres avec une personne qu'ils ne connaissent pas, car mon mec est clairement en train de... Pas prendre une autre meuf en leuleu sur la petite table du prêtre, mais c'est pas hyper loin, donc ça commence à se voir, quoi. Bref.
Je suis kécho.
Je vous raconterai ma vie... Abonnez-vous à mon Patreon, je vous raconterai ma vie dessus. Merci de faire point d'exclamation Patreon dans le chat parce que j'ai pas la main sur le chat, c'est loin. Comme ça, vous aurez l'intégralité de mes aventures de vie de bolos extrêmement complexes. Mais du coup, voilà, Criston, pendant ce mariage, c'est moi quand j'ai compris que mon mec de l'époque me trompait avec la sœur de la mariée. Merci beaucoup, le rôdeur. Parce qu'il est là en mode, j'ai pas envie d'être là. Je passe par mon mariage, j'ai pas envie de célébrer l'amour, j'ai pas envie d'être là, mais ok, je suis là, je fais mon taf. Je suis en service, et c'est ok, et après c'est la fin, et pourquoi ce rouquin vient me faire chier à me raconter ma vie, à me potentiellement menacer, à raconter des secrets qui menacent mon, en fait, ma longévité immédiate devant une pièce pleine de nobles, et il y a Geoffrey qui lui claque une petite main au cul. C'est aussi une réalité, il lui claque une petite main au paquet, en partant, il lui fait un petit move, ouais. Il lui fait un petit move, pas en full harcèlement sexuel,
mais
il lui fait un petit move, après bon. Ça peut être un move de.
On le voit, ça?
Oui, oui, je l'ai vu en faisant mes screens, parce que la première fois, je l'avais pas vu. Mais en revoyant les épisodes pour faire mes screens,
ah,
pour le récap rigolo, disponible sur Patreon, il y a un petit move, mais pas un move de. Vas-y, on fait direct un plan à 4, même si je pense qu'il y avait peut-être une storyline où ils étaient là. Il est pas mal, le mec de Rhaenyra, en vrai, il y a peut-être moyen, tu vois. Mais enfin, quitte à faire, essayer de faire des enfants avec Rhaenyra, si on peut, ouais, plus on est de fou, plus on rit. Mais il y a un petit move de petite main au paquet qui est pas 100% legit dans la team consentement, quoi. Ouais, c'est dans le dos, peut-être, je sais pas. Pour moi, c'était un peu dans le cul, quoi. Enfin, c'est un peu une petite claque sur le cul, quoi. Mais ok, entendons, c'est pas sûr. De toute façon, Criston, à ce moment-là, il va déjà très mal, donc c'est pas ça, je pense, qui a joué. Plus que ça, c'est. Geoffrey lui a dit. On sait ce qui se passe entre Rhaenyra et toi, et Criston était là. Tu sais quoi, je passais déjà une mauvaise journée, je pense que ça va être pour ta gueule. Je pense que let's go. Et du coup...
Donc toi, tu penses que c'est juste de la contrariété?
Non, alors, okay. On arrive à... Pourquoi est-ce que Criston a pété un câble? J'ai plusieurs pistes d'explications, mais je veux bien avoir les tiennes en premier, parce que moi après, j'ai les paroles de l'acteur et tout, donc ça va être assez fouillé,
un peu confus.
Tu vois. Tout le monde est un peu. Moi, j'étais confus aussi. Tout le monde était confus, quoi.
Moi, je suis un peu confus et je me demande si.
La majorité
y a pas
des questions
truc
que j'ai eues sur Insta, c'est qu'est-ce qui s'est passé chez Criston, hein, pourquoi il a fait.
Moi, je suis un peu confus. Donc, moi, ce serait. En gros, tu viens me dire que t'as des. Que t'as un. Que tu viens me dire que t'as un secret. Que t'as un secret que tu peux retourner contre moi. Mmh. Bah, si je te bute, ce secret, il meurt avec toi. Mmh. Mais le problème, c'est que comme ensuite il va essayer de commettre un suicide la scène d'après, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que son secret soit. Ah, peut-être parce qu'il est honorable guy.
Bah oui, c'est
donc
ça.
Il veut mourir, il
en
veut
fait,
se donner.
En fait, s'il tue pas le gars, il a pas besoin de se suicider.
Il veut se donner la mort. Il veut se donner la mort en tuant le gars, tu vois. Non, il veut tuer le gars.
Bah, il tue le gars.
Il tue
et
le gars.
Qu'il a tué, il se rend compte qu'il va pas s'en sortir.
En fait, voilà. Là, ça me revient un petit peu plus clair. En gros, il tue le gars pour pas que son honneur soit souillé, et ensuite il se tue lui-même pour mourir,
pour
vraiment tuer littéralement les deux personnes qui connaissent son secret, enfin par la reine.
Oui. Et Rhaenyra, quand même. qui était là.
Erinira.
Ça commence à faire du monde qui est au courant.
Ouais,
et le maître.
En gros, ouais. Ouais.
Enfin, non, le maître sait qu'elle a peut-être Ken.
Ouais, elle a peut-être Ken, mais il sait pas avec qui. Ouais. Et donc, en gros.
Ouais,
en gros, il élimine quelqu'un qui pourrait le trahir pour ensuite se donner la mort. Mais bon, ouais, c'est un petit rappel. Je sais pas, il y a un problème là. Là, il y a un truc qui est pas clair.
Ouais, c'est pas hyper clair. Il y a le rôdeur qui dit qu'il voulait peut-être faire ce qu'on appelle un suicide by cops. C'est-à-dire, faire une scène de violente dans le but que les forces de l'ordre t'abattent. Peut-être qu'il se disait, je vais l'éclater.
Qu'il le laisse partir, genre.
Garde,
ok, bye. Ouais. Il le laisse partir. Que... Genre, comment il vient de tuer un gars au milieu du truc? Mettre en danger, je sais pas combien d'héritiers au roi. Mettre en danger toute la cour. Et les gardes royales, ils croisent un peu les bras en regardant le truc se faire. Et après, tout le monde le laisse partir dans le jardin pour se suicider.
Moi, c'est ça qui m'a plus confusé, j'avoue. C'est même pas tant le fait qu'il pète un câble et qu'il bute le gars parce que, men gonna be men et, les hommes ne vont pas en thérapie. Les hommes voudraient littéralement plutôt éclater un gars à main nue plutôt que d'aller en thérapie, surtout dans Game of Thrones. Et que, on l'a vu, en termes d'état émotionnel, Kristen, là, il est au bout de sa vie. Littéralement. En fait, si cette série s'appelait House of the Cole et était centrée sur la famille Cole, c'est une tragédie d'un homme qui arrive enfin à sortir sa maison et le nom de sa famille de la gadoue, qui doit, dans un consentement plus ou moins flou, renier ses vœux pour une bourgeoise noble qui s'en bat la race de sa vie et qui prend pas en compte le fait qu'il est beaucoup moins privilégié qu'elle, et qui finit par péter un câble et snap et faire un massacre à un mariage parce que il est pas capable d'encaisser tout ça.
Cette lecture est limpide pour moi.
Pour moi, c'est l'état émotionnel dans lequel on est.
Mais les espèces de détails sont pas clairs.
Et alors, mais c'est hyper important. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce qu'en disent l'acteur et le showrunner parce que c'est des détails que j'avais pas du tout. Donc à chaque épisode, il y a à la fois un behind the episode sur HBO aux US et puis plein d'interviews évidemment dans les médias. Et notamment l'acteur qui joue Kristen Cole a dit que pour lui, toutes les sessions presse qu'il a fait où il y avait beaucoup de questions des journalistes sur son personnage. Pour lui, c'était quasiment une thérapie où il m'a dit, en fait, chaque question, j'étais là, ah ouais, c'est une bonne question. Et du coup, je réfléchissais et ça m'a aidé à mieux comprendre et moi-même à mieux comprendre des choix que j'ai fait, quoi. Donc, ce qu'il explique, Fabian Frankel, qu'on adore, c'est que déjà, alors, de base, pour info, dans le bouquin, qu'est-ce qui se passe? Dans le bouquin, Kristen Cole ne tue pas Geoffrey à main nue en plein milieu du mariage, enfin, du pré-mariage. Il y a le pré-mariage. Ensuite, il y a cette fameuse 7 jours de tournoi et de festin. Et au bout des 7 jours, il y a le mariage. Et pendant ces 7 jours, il y a un tournoi où Kristen Cole, qu'on a déjà vu être très fort en tournoi, puisqu'il bat Daemon quand même dans l'épisode 1, ce qui est pas facile, blesse assez mortellement finalement Geoffrey, qui finit par mourir quelques jours après. Donc c'est pas du tout une mort directe, c'est pas du tout une mort ciblée, il y a pas du tout cette histoire de Geoffrey le menace parce qu'il sait qu'il couche avec Rhaenyra et tout. Geoffrey, désolé pour la représentation.
Enfin, encore une fois, dans les bouquins, rien ne te dit que tu dis qu'il n'y a pas du tout cette menace, mais peut-être qu'elle a eu lieu en coulisses.
Oui, pas qu'on sache, quoi, en tout cas. En tout cas, si c'est arrivé, ça n'a pas été chroniqué, ça n'a pas survécu aux deux personnes.
Il y aurait aucune raison que ça le soit, puisque c'est
une, consignées,
puisque c'est une discussion entre deux personnes, il n'y a aucune raison que ça le soit.
Il n'y a pas de raison. Mais
donc maintenant, on peut supputer que ça a eu lieu.
Voilà. On pourrait supputer que. Mais en tout cas, voilà. Kristen, en fait, blesse Geoffrey, le tue. Enfin, blesse Geoffrey qui finit par mourir. Et en Kristen, donc on sait pas s'il a couché pour de vrai avec Rhaenyra, on sait qu'ils étaient très proches et qu'il y a un moment où il s'est retourné contre elle. En tout cas, où il a quitté le camp de Rhaenyra, bah, comme il est en train de le faire, parce que clairement il est pas trop dans sa team. Mais on sait pas vraiment pourquoi. Et là, la série nous dit, bah, voilà pourquoi. Parce qu'il a couché avec elle, parce qu'elle a pas voulu partir avec lui, parce qu'il a potentiellement éclaté la gueule du meilleur ami et amant de son futur mari au moment de son mariage. C'est une bonne raison aussi. Donc, ce qu'en dit Fabian Frankel, il dit que déjà, en termes de build-up, de où comment il en est, son personnage dans sa tête, il dit, je ne pense pas qu'il est dans cet état parce que Rhaenyra a dit qu'elle ne voulait pas partir avec lui. Il est dans cet état, à cause de la façon dont elle lui a dit qu'elle ne partirait pas avec lui. Cette scène aurait pu être écrite comme, lui qui lui demande de s'enfuir avec lui, elle qui comprend pourquoi, enfin, ce qu'il ressent. Elle ne peut pas quitter son rôle de reine, comme c'est ce qui se passe, mais elle pourrait éventuellement lui dire « Ok, par contre, si tu veux plus être dans la garde royale, si c'est trop compliqué pour toi de me côtoyer, je peux t'offrir une alternative, parce que la garde royale, on signe un serment à vie, mais c'est déjà arrivé qu'on soit libéré de ces charges de la garde royale, alors notamment quand on est trop vieux, trop handicapé, trop malade pour être un Kingsguard émérite. »
Mais c'est pas le cas de...
C'est pas le cas de Kristen, mais en vrai, si tu veux trouver...
C'est pas le cas de Sir Barristan Levy?
Voilà, c'est Barristan Selmy, tout à fait, dans Game of Thrones, le vieux avec les cheveux... avec les cheveux courts, c'est un
Barrington
peu blancs.
Barrington Levy, un chanteur de reggae.
Qui se faisait qui se faisait sortir des Kingsguard contre sa volonté par Joffrey, je crois, et qui finissait par rejoindre Jaime à Dorne. Enfin bref, toute une zumba.
Il se fait exiler.
Voilà.
Ouais.
Ce gars-là, c'est un des rares exemples de Kingsguard.
Il se fait pas mettre
pas
à mort,
quoi. En exercice, qui ont pu être congédiés par le roi, et du coup, Rhaenyra pourrait trouver une excuse pour sortir Criston Cole de la Kingsguard sans atteindre à son honneur et sans lui enlever l'honneur que sa famille a choisi. Ça pourrait être, je sais pas, ta famille, ils ont pas beaucoup de fils, winter is coming, il faut des hommes forts pour travailler dans ton fief, là, je sais pas quoi, bon bah vas-y, on te file une rente et puis t'y vas et puis t'es plus Kingsguard. Genre, en vrai, elle est future reine, son père il est roi, c'est possible de trouver des loopholes. Mais du coup, ce qu'il dit l'acteur, c'est que voilà, elle aurait pu faire ça, mais ce n'est pas ce qui se passe. Et pour moi, c'est très intéressant puisqu'elle choisit de le garder auprès d'elle. Elle fait en sorte qu'ils doivent subir ce mariage, elle aurait pu lui dire, je vais m'arranger pour que tu sois pas obligé d'être à ce mariage.
Elle pratique l'orbiting.
Oui, l'orbiting, c'est le fait de garder quelqu'un dans son orbite, parce que peut-être on va le pécho, mais peut-être pas. Mais tu sais quoi, tant qu'on n'est pas sûr, on va le garder pas loin. Et c'est bien s'il aille pécho nulle part ailleurs non plus, tu vois. Moi, j'appelle ça garder quelqu'un au frigo. C'est vraiment, c'est ton demi-sandwich où tu le mets au frigo, t'es là, je sais pas si je vais le manger, mais si quelqu'un le mange, j'aurais le seum, même si peut-être j'allais pas le manger. Du coup, c'est ton plan cul ou ton ex que tu gardes au frigo en mode, je peux le réactiver, mais c'est pas hyper cool. Et du coup, ce que Frankel, l'acteur du coup qui joue Criston Cole, ça c'est son avis sur pourquoi il est dans cet état, c'est parce que Rhaenyra avait plein de façons de lui faciliter la vie, en fait, de pas l'obliger à traverser ce mariage en étant son Kingsguard et en étant très clairement désespéré. Et c'est il y a pas longtemps, enfin vraiment, ils sont revenus de Driftmark il y a pas très longtemps. Il a pas eu hyper le temps de se remettre. Elle aurait pu faire en sorte qu'il ait pas à subir ça et elle l'a pas fait, parce qu'en fait Rhaenyra, désolée, mais elle pense un peu qu'à elle, hein. Elle pense pas vraiment à qui que ce soit d'autre. Et du coup, ça lui a fait comprendre que non seulement je me suis fait toy la gueule, mais en plus, c'est pas une très belle personne, quoi. J'ai vraiment brisé le vœu le plus important de ma vie pour une meuf qui est pas une super humaine. Et du coup, ce qu'il dit ensuite, c'est qu'il dit, donc là je cite l'article, la nature plutôt sanguine du personnage est devenue claire pour l'acteur dès le début. Puisque, donc désolé, je traduis en même temps, hein, c'est pour ça que c'est pas très français. Il rappelle le tournoi dans l'épisode 1, quand Criston, qui a beau ne pas être noble et ne pas avoir été entraîné par des maîtres d'armes, etc., a attiré l'œil de la couronne en battant le prince Daemon Targaryen en joute et en combat. Et apparemment, il savait pas, donc quand il finit cette joute, Matt Smith, dans le rôle de Daemon, il refuse la main tendue que Criston lui tend, parce qu'il veut pas être aidé. Et ça, c'était pas au scénario. C'est vraiment Matt Smith qui a décidé, genre Daemon, il prendrait pas cette main, tu vois.
D'accord.
Matt Smith. Et du coup, ça a ajouté aussi pour l'acteur qui joue Criston à la compréhension du personnage et de ses dynamiques. Et il dit, il faut pas oublier que Criston, c'est un bagarreur, il est très très fort en bagarre, et l'acteur a décidé que c'est ça qui fait, c'est ce moment-là où Daemon lui rejette sa main tendue, qui dit, ok, bah tu sais quoi, je vais aller voir Rhaenyra, je vais aller voir ta nièce, et je vais lui demander sa faveur, et je vais te foutre un peu le seum, parce que je vais bien te rappeler que toute ta famille t'a vu t'humilier devant moi. Donc Criston, il a un côté un peu mascu, en vrai, tu vois, il a un côté un peu, il se la raconte, tu vois, il est content. Et il dit que l'acteur dit que sa daronne a reconnu dès l'épisode 1, elle était là, mais qu'est-ce que tu fais, tu joues vraiment pas un mec sympa, tu vois, elle est là, tu joues un mec un peu un connard, et que plein de gens l'avaient été là, ah trop bien, tu joues un peu le Jon Snow, le mec sympa, et sa daronne était là, moi je te connais, et là tu joues vraiment pas le mec sympa. Et donc ce qu'il dit, c'est que dans l'épisode 2, 3 et 4, en gros, il fait... Criston, il performe le fait d'être noble, d'être raisonnable, d'être stoïque, parce que c'est son travail, en fait. Il est garde du corps et les Kingsguard. Ça veut pas dire que c'est sa personnalité d'être une personne noble et stoïque. Ça veut dire que c'est littéralement son job. Et tout comme tu peux avoir un mec qui est garde du corps dans la vie. Et
donc là, le vrai Criston sort.
C'est ça. C'est le vrai Criston sort, parce qu'en fait, il en a un peu plus rien à foutre. Il a un peu plus rien à perdre, parce qu'en plus, il est persuadé. Le truc aussi, c'est que il a dit à Alicent, ne me casserai pas, tuez-moi. Et Alicent a dit, ok, vu, see you later. Il sait pas s'il va pas se faire tuer le lendemain, tu vois. Il est, le mec là, il vit sur chaque seconde pourrait être la dernière. et Miguel Sapochnik, donc le showrunner de House of the Dragon, il dit que il a dit à l'acteur qui joue Kristen qu'il a toujours vu le personnage de Kristen comme un thug, donc un voyou, et il dit en gros c'est un voyou à la base, c'est un bagarreur, c'est un loubard, tous les mots que vous voulez dire, c'est une racaille un peu. Et plus la série avance, plus il perd ce côté-là parce que il remet du coup le manteau noble de je traîne avec des nobles et tout, mais fondamentalement c'est un mec qui casse des gueules, qui défend son ego avec ses poings. Il y a peut-être un petit côté mascu qui est pas 100% anodin dans le fait que quand Rhaenyra lui dit on peut continuer ce qu'on a, il lui dit je vais être ta pute, et à la fin le mec qui tue c'est un mec gay, c'est pas 100% anodin, tout comme voilà, c'est pas 100% anodin, certains timings, certains dialogues. Je dis pas que c'est un gros masque homophobe et qui tue Geoffrey parce qu'il est gay, mais je pense qu'en termes de discours des showrunners et du choix qu'ils ont fait de mettre Kristen dans cette position-là, qui encore une fois n'est pas du tout la position dans laquelle il est dans le bouquin, bah c'est intéressant de voir ce truc de un peu masque toxique. En vrai, Kristen, c'est un peu... Il est un peu dans la masque toxique de « je suis un mec de basse naissance ». Qui a cru avoir un gros potentiel avec une meuf de haute naissance, ok, qui a peut-être été abusée par cette meuf, c'est possible, mais qui, quand je suis face à des situations d'adversité, des situations où je suis bloquée, des situations où je suis en danger, ma réaction, ça va être de me battre et de me battre avec mes poings et d'annihiler le problème si je peux pas le régler. Et du coup, le problème Geoffrey, qui connaît son secret avec Rhaenyra, il peut pas le régler, pas en tout cas avec la diplomatie. Ça lui fait peur, il est déjà au bout de sa vie, il est déjà à peu près sûr que de toute façon c'est ciao, et je pense que c'est ça qui se passe. Et que, alors j'ai fait des vannes dans mon récap rigolo sur Fight Club, mais je pense qu'il est un peu comme Edward Norton dans Fight Club quand il éclate Jared Leto et il dit j'avais juste envie de détruire quelque chose de beau, quoi. Je pense qu'à ce moment là Kristen il est pas en train de réfléchir à ça va être quoi mon destin, il est là de toute façon mon destin c'est que je vais me faire buter parce que j'ai niqué Rhaenyra, et même si je me fais pas buter de toute façon ma vie n'a plus de sens puisque j'ai ruiné le seul truc qui avait du sens dans ma vie.
On veut même pas m'accorder une condamnation à mort. Et on veut
oui,
même pas m'accorder
ça,
une condamnation à mort.
Il a genre envoyé à la garde de nuit ou quoi. Il est là juste, achevez-moi, littéralement, achevez-moi.
On veut même pas lui donner ça.
Et la go lui dit, je vais pas t'achever, tu vas plutôt aller au mariage de la meuf dont t'es amoureux. Et tu vas la regarder se marier avec un autre gars et faire une petite danse. Et aussi son oncle va essayer de la pécho un moment au milieu, mais c'est
ouais,
normal.
Mais
Kristen, il est fatigué. Hein.
Moi, je vois aussi un côté, Kristen, il se prend, il a un peu trop lu de... Moi, c'est un truc que je vois moi, hein, mais apparemment c'est pas comme ça que Sapochnik le voit. Mais je vois aussi comme un truc de, il croit beaucoup aux contes de fées. Il a pensé que il serait le
oui, le chevalier gueux,
le chevalier qui allait
la princesse s'en va avec lui, quoi.
S'en va avec le, c'est un truc qui se fait beaucoup dans les contes de fées. Eh ben non. Et
dans la vraie vie, la princesse, elle est là. Non, mais moi, j'ai vraiment
pourtant,
prévu d'être reine.
Il y a une reine qui va le sauver à la fin.
Et oui. Du coup, qu'est-ce que... Alors, ok, c'est... Alors, bon. Du coup, ce qui se passe, une fois que Kristen Cole a éclaté Geoffrey, alors, on ne sait pas les conséquences immédiates dans le sens de pourquoi personne lui court après, pourquoi personne l'attrape, sachant que dans la bagarre, il a mis... Du coup, j'ai regardé la bagarre en quasiment...
Il met un coup de poing à Lénor aussi.
Voilà, il met une droite à Lénor, qui est le futur roi. Donc c'est, enfin le futur en tout cas, époux roi consort, époux de la reine, donc c'est un peu pas hyper clair. Après c'est un Kingsguard, tu vois, c'est un peu genre, je pense aussi que les autres Kingsguard, ils interviennent pas parce qu'ils se disent, bah il doit avoir une raison de faire ce qu'il fait, tu vois, c'est tes gardes du corps, tu vois, un autre garde du corps qui se met à tabasser un gars, tu te dis probablement, bah il doit avoir raison, il a dû identifier une menace, tu te dis pas, le mec il pète un câble. Après si le gars qui tabasse c'est le meilleur pote du mari de ton employeuse, tu vas peut-être te dire, on va peut-être le reculer quand même. Donc j'avoue que là-dessus je suis assez circonspecte sur le fait qu'on peut tuer un gars à main nue qui est alors certes pas un lord mais quand même un chevalier, qui est le meilleur ami plus du futur mari de la reine. J'avoue que j'y crois pas trop, mais malheureusement, je suis pas sûre qu'on aura une explication très claire sur qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi l'aftermath immédiat pour Kristen et comment il s'est sorti en tout cas de tout ça. Je pense que c'est, on va en parler avec Teki quand il revient, mais c'est très suggéré par la présence d'Alicent à la fin, et en même temps, c'est l'épisode, je pense que c'est pas anodin si dans cet épisode, on a vu Daemon, a priori, littéralement tuer sa meuf et s'en sortir, parce qu'en fait, c'est un noble, et que c'est le prince, et que c'est le frère du roi, et que quand quelqu'un vient l'accuser, il est là, bah ça se fait pas, en fait. Et peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, où, comme Kristen, maintenant, à la faveur d'Alicent, peut-être que ça suffit d'avoir la faveur de la reine, de la femme du roi, pour pouvoir assez impunément commettre un meurtre. Peut-être que c'est une des choses que cet épisode essaye de nous dire et de faire des parallèles entre le meurtre de Rhea Royce et le meurtre de Geoffrey. Je vous vois dans le chat dire que c'est peut-être l'acteur qui est un peu à côté de la plaque, l'acteur qui joue Kristen, qui peut-être joue pas assez cette haine et cette colère. Je suis d'accord qu'elle se voit pas de ouf. J'aurais peut-être plus aimé, j'aurais aimé en voir un peu plus dans ce truc qui bouillonne en lui. Après, honnêtement, il n'a pas eu beaucoup de scènes. Je pense qu'il a aussi fait de son mieux avec ce qu'il avait. Mais peut-être qu'on aurait pu, du coup, lui accorder un petit peu plus de scènes pour à la fois creuser un peu le personnage et creuser éventuellement sa relation avec Rhaenyra. Après, du coup, Kristen n'est pas mort. Il a essayé, mais il n'est pas mort. Et il pleure quand même. Dans la conversation avec Rhaenyra sur le bateau, il est hyper ému. Donc franchement, moi, je trouve que l'acteur, il a taffé. Mais j'entends qu'on n'a pas vu ce côté haineux et violent qu'il pouvait avoir en lui. On l'a pas vu poindre, on l'a pas vu. Moi, je me suis pas dit. Il y a pas un moment où je me suis dit, oula, c'est un mec dangereux, quoi. Alors que je savais très bien ce qui allait se passer. Enfin, pas exactement dans les détails du coup de la série, mais je savais qu'il allait tuer un gars et tout. Mais même dans le tournoi au début, on est un peu content de le voir tenir tête à Daemon. Il est sympa, il est un peu réglo et tout. Alors par contre, dans le tournoi du début, quand il y a un moment où Daemon se relève parce qu'il pense que la bagarre est finie avec Kristen, et Kristen, il l'attaque dans le dos. Genre, il lui met un coup de traître dans le dos.
Ah ouais.
Et l'acteur a dit ça, c'est important. Ça, c'est une de mes façons de montrer que Kristen, c'est un mec c'est un mec de la rue, en vrai, quoi. C'est vraiment un mec de la rue, et quand tu lui montes trop sur le cul, il va vraiment en avoir marre et il va péter un câble. Et c'est un peu ça, ce qui se passe. Du coup, on a un mariage extrêmement accéléré entre Lenor, qui passe un très mauvais mardi parce que l'amour de sa vie est mort, et Rhaenyra, qui passe un très mauvais mardi en général parce que ses mardis sont chiants. Viserys, il en a marre, il s'effondre. Tout le monde va mal. Tout le monde va très mal, mais le mariage est
là.
Du
sang.
Ouais, Viserys, il y a du sang. Il y a du sang par terre parce que c'est là où Geoffrey a été tué. Apparemment, on peut pas éponger avant de marier les gens. Il y a un rat dans le sang parce qu'il y a une iconographie du rat depuis au moins 2 épisodes où il y a des rats qui se baladent.
C'est pas une règle qu'on ne puisse pas éponger avant le...
Non, c'est juste visiblement, là, ils se sont dit, l'important, c'est de les marier maintenant. On sait pas s'il y a pas quelqu'un qui va sortir une arbalète dans un coin. D'accord. Vas-y, on les marie, au moins c'est fait. Et, enfin, en tout cas, c'est comme
c'est
ça.
C'est important, ça, quand même.
Mais non, mais moi, c'est
le
comme ça que
je l'interprète. Le fait qu'il y ait encore le sang, ça veut dire que c'est tout frais, quoi.
Oui, c'est
C'est-à-dire
extrêmement précipité.
C'est quelques heures après, quoi.
Ils sont habillés pareil.
Ouais.
Lenor est encore en train de pleurer.
Ouais.
Enfin, vraiment, il y a plus la semaine de tournoi.
C'est une décision, quoi.
Là, c'est, on va les marier maintenant. Et moi, je l'interprète comme, en fait, c'est hyper dangereux. Il y a vraiment des gars qui viennent se faire buter. On va les marier maintenant parce qu'on sait pas littéralement ce qui peut se passer dans 10 minutes.
J'ai pas saisi ça.
Genre ça se passait bien. Moi c'est comme ça que je l'ai lu. Mais encore une fois dans le bouquin il y a les 7 jours de tournoi, il y a tout ça, donc c'est pas un mariage précipité. Et on finira sur Kristen Cole qui est en mode let's go faire seppuku dans le bois sacré devant l'arbre cœur, ce qui m'étonne un peu parce qu'il vient un peu de Dorne et il vénère pas spécialement l'arbre cœur. Donc je trouve ça m'étonne un peu qu'il ait.
Il faut aussi comprendre que c'est juste la cour du jardin, quoi. Juste
le
jardin.
Oui, non, c'est la cour du château, mais tu vois.
Je veux dire, bon, il se trouve qu'il y a un arbre cœur là.
Ouais.
Le côté symbolique, c'est qu'il est vu, c'est qu'il est potentiellement vu par Bran.
Oui. Non mais attends, il y a une théorie où Larys c'est un Grimseer, Larys club foot.
Ah ouais.
Et du coup dans mes podcasts et tout, les meufs elles sont là. Non mais à chaque fois qu'on le voit, il y a un arbre cœur pas loin. C'est pas anodin non plus parce que du coup les Grimseer, donc c'est des médiums un peu de Game of Thrones qui voient à travers le temps, l'espace, tout ça. Bran Stark en est un et ils peuvent notamment voir à travers les yeux des arbres cœur.
En général, c'est des éclopés.
Du coup ouais, ce serait Larys qui a juste un genre de caméra de surveillance dans le jardin du château où il habite et qui surveille. Bref. Du coup, il est devant l'arbre cœur, Kristen Cole, et il est en mode « Hello darkness, my old friend, time to go. » Trop long mardi, il en a marre. Il est là « C'est non, je n'ai plus rien à sauver, je viens de tuer un gars devant tout le monde. »
Et là, la lumière arrive.
Oh, une lumière verte,
ouais.
Finalement. Une forme de lumière verte, un peu, vous voyez, dans la...
Moi, j'en étais sûr qu'elle allait arriver.
Bah,
je
oui.
Le savais, je le sentais, sans le savoir. Mais j'en étais sûr qu'elle allait arriver. Du genre, bah, oui. Ça peut pas être...
C'est la
ça
seule
peut pas
qui
être
sait.
Si simple que ça.
C'est la seule qui sait pourquoi il va mal. En vrai, la seule personne à part Rhaenyra qui peut comprendre ce qui s'est passé, c'est Alicent, parce que c'est la seule qui sait qu'ils ont couché ensemble.
Et là, Alicent, là où Rhaenyra ne se fait que des ennemis à chaque instant dans cette série, Alicent réunit des troupes.
Ah, mais Alicent, elle est là. Elle a les Hightower, donc elle a sa famille, puisqu'elle a parlé à sa famille à la cérémonie en arrivant dans sa robe verte et tout, et ils lui ont dit texto, tu as les Hightower avec toi, tu as Oldtown avec toi. Elle a maintenant Kristen Cole, qui certes ne vient pas d'une famille puissante, mais qui est là, dans le château, qui a des accès. Elle a Larys Piebo, qui lui parle. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, quel est son intérêt pour l'instant. Mais il se passe des choses. Alicent, elle noue des liens et Rhaenyra, elle brûle des ponts. C'est vraiment ça la différence aussi entre les deux. C'est que Alicent, elle joue le jeu des trônes, elle joue la diplomatie. Et Rhaenyra, elle est là. En fait, je m'en bats la race et je vais plutôt principalement faire ce que je veux. Et elle est un peu hautaine et un peu désagréable. Et encore une fois, elle pense vraiment qu'à elle. Donc, c'est pas un hasard si, ces deux femmes, ces deux visions d'être reine ou régente, vont s'affronter petit à petit. Et c'est la fin de cet épisode de House of the Dragon. Incroyable épisode. On est à mi-saison. On a fait la moitié du chemin. On a encore 5 épisodes qui arrivent. On a ce fameux time jump qui va arriver à l'épisode prochain. Alors après, je sais pas si on va revoir peut-être genre au début les actrices jeunes et après il y aura un shift. Moi je pars du principe que probablement pas. Je pense qu'on va commencer direct sur les adultes.
Ils expliquent
mais là
rien.
J'ai pas, pas d'infos.
Est-ce que ça les ferait tant chier que ça de marquer les endroits où on est?
Oui.
Les noms des châteaux.
Mais là, au tout début, quand il y avait du coup Rhea Royce et ce château dans le Vale qu'on n'a jamais vu et son cousin, j'étais
c'est même
bonne.
Pas le
et
château de...
C'est des Baratheon, c'est quoi? C'est Arya? C'est... Ouais. Lyanna Mormont, là? C'est... Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et c'est que quand Daemon arrive que j'ai fait... Ah. Ok, c'est elle. Alors j'aurais pu peut-être lire les insignes sur ses épaulettes pour comprendre que c'est une Royce,
ah
mais même
ouais,
moi
vraiment.
Je suis pas une nerd à ce point-là. Et
putain,
même toi t'es pas un nerd à ce point-là.
C'est des enfoirés. Mais non, mais moi non ouais. plus.
Non,
mais
ils aident pas. Ils
non,
expliquent
mais
pas.
C'est des enfoirés quoi. Je pense que ils s'appuient trop sur des choses comme ce podcast. Tu vois. Et
oui. Mais en vrai, on est en train de faire un vrai service après-vente.
Ouais,
et tous les podcasts
ouais,
que j'écoute,
ouais.
c'est du service après-vente. De gens qui comprennent pas exactement ce qui s'est passé et de gens qui sont là, bah, on se fait chier à lire 6000 pages de George R. R. Martin dans notre vie, donc on va vous expliquer. Genre vraiment, normalement, votre série, elle se suffit à elle-même. Mais après,
ouais,
j'adore
ouais.
faire ça, donc je vais pas me plaindre. Mais, en fait, il y a
ouf,
une différence entre théoriser et expliquer. Et là, on est pas mal en train d'expliquer ce qui se passe.
Ouais.
C'était pas de théoriser. On est en train de vous dire, bah, pourquoi Kristen y fait ça? L'acteur, il a dit que c'est pour ça. Nous, on l'a interprété comme ça.
On devrait théoriser plus.
Ouais, mais après, on sait, tu vois. Mais on va
ouais.
bah après t'as tout ton poids en poisson, c'est littéral. Je suis
ouais.
désolée de te le dire, c'est vraiment de la théorie. Hein. Ça ne va pas arriver. Je
non.
regarde rapidement.
Ça
est-ce qu'il y a des questions intéressantes qu'on a ratées? Alors il y a une bonne question qui est où est passé Daemon dans la bagarre? Parce qu'il est en train d'emballer Rhaenyra, il y a la
non.
bagarre et on le voit plus.
Moi je crois que c'est Daemon qui a foutu la merde dès le départ.
Mais de ouf.
Peut-être lui qui a.
De ouf.
On sait pas ça.
Ah du coup ok. Est-ce que t'as une hypothèse sur? Je pense pas qu'ils vont le dire dans la série parce que je pense vraiment que le time jump va faire que c'est un problème d'il y a longtemps. Ouais. Comment il s'en sort, Kristen Cole? Moi, ma théorie, c'est que comme Alicent est dans sa team, il va
Alicent
prétendre...
dit aux gens...
Ouais, il va, pour moi, il va prétendre que Joffrey a menacé Rhaenyra ou a sorti une arme, parce qu'en plus, Joffrey, il avait une arme sur lui, et que du coup, il a juste fait son travail de garde du corps, de protéger Rhaenyra, et qu'il l'a buté, et tout le monde dira, bah ouais, mais c'est ta parole contre... Enfin, c'est juste littéralement que toi. Et Alicent, elle dira, bah non, moi aussi, je l'ai vu.
Mmh.
Et du coup, tout le monde dira, bon, bah, si la reine dit que oui, la reine dit que oui. Et peut-être même que Rhaenyra dira, c'est vrai, parce qu'elle s'en veut un peu, tu vois, elle est full sum, je sais pas. Bon, non, a priori, elle est plutôt égoïste, mais... Mais en fait, voilà, il manque un déclencheur, et en fait, on sait pas ce qui a déclenché. On
mais
sait même
ça,
pas si c'est
quand même volontaire, parce que la mise en
bien
scène
sûr,
veut laisser un flou. Du genre, on les voit, ils font tous leur danse, là, ta-ta-la-ta-ta, hey, ta-ta-la-ta-ta, hey, ta-ta-la-ta-ta, hey, ta-ta-la-ta-ta.
Et c'est par
hey.
Le point de vue de Viserys. Qui rappelle
ouais.
est l'homme qui sait le moins ce qui se passe dans son royaume et dans sa cour.
Il est là, il
regarde
de loin, il
regarde
de loin, c'est un peu flou, le truc est out of focus.
Et d'un coup, ça part en couille.
Et moi, je dis, il y a un truc à élucider là.
Ouais.
Il y a un truc à élucider là.
De ouf. Ah, il y a des gens qui me disent qu'ils pensent que Alicent est jalouse de Rhaenyra parce que Alicent aurait des sentiments pour Daemon et du désir pour Daemon, qui est quand même un des hommes épousables, d'âge raisonnable et un
non,
peu moins...
Non, c'est pareil que les gens qui shippent... C'est pareil que les gens qui shippent Alicent et Rhaenyra. La série nous le dit jamais.
Oui, là, c'est, je trouve, la série nous dit clairement qu'il n'y a pas d'amour entre Alicent et Daemon, mais j'ai trouvé l'hypothèse fun.
La série nous dit, à un moment, elle le regarde, elle fait « Oh, beau gosse !» Au tout début de ces gens.
Est-ce que Alicent a du désir pour Kristen Cole? Comme le suggère Monsieur Mélic sur le chat.
Encore une fois, la série nous le dira quand elle aura envie de nous le dire, en fait.
En vrai, j'aime bien cette théorie, parce que je me dis, je suis Alicent, je me tape le vieux Viserys, là, depuis 3-4 ans, je lui ai fait deux gamins, je vois Kristen Cole qui me dit « J'ai niqué ta pote », je serais là en mode « Frère, je suis dispo aussi, hein. Y a pas, viens, y a pas
c'est marrant, chose, j'aime bien théoriser sur les hommes poissons, sur les trucs, les vieilles civilisations oubliées qui seraient une métaphore, qui seraient en
mais
fait
sur
l'inspiration pour des religions un peu plus tard, etc. Mais sur le shipping, je m'en bats la race, quoi.
Ouais,
genre, si la série me le dit pas, c'est que ça existe pas, quoi.
Ok. Heureusement que la série t'a dit que Rhaenyra et Alicent étaient un peu plus qu'amis, au moins dans l'épisode 1. Alright. C'est la fin de ce podcast. On est là depuis trop longtemps. Il est minuit 35. Je donne des cours demain. Je me lève très tôt. J'ai donné des cours aujourd'hui. Je me suis levée très tôt. Incroyable. Merci d'avoir été parmi nous pour ce débrief de House of the Dragon épisode 5. J'espère qu'on vous a aidé à
N'hésitez pas à shipper les hommes poissons entre eux.
Les hommes poissons avec le dieu noyé, mais aussi les rois des cieux, que sont les Targaryens. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Tequila Tex de venir
merci,
chaque mardi.
Merci, toujours un plaisir. Aujourd'hui, lasagne incroyable.
Oui, merci à Nodus qui non seulement a rendu ce live possible, mais qui a aussi fait d'excellentes lasagnes que je vais m'empresser de déboîter car il est minuit et demi. It's time to dîner. Ah, alors oui, on se dit à demain en podcast si vous voulez rattraper ce live en podcast parce que vous aurez été le début, vous voulez tout réécouter, c'est tous les mercredis en podcast. Il suffit de chercher House of the Dragon, Mimi Tequila Tex, par exemple, sur votre appli de podcast et vous tomberez dessus. Normalement, nous, on se retrouve sur cette chaîne vendredi vers midi, midi et demi, comme d'hab, pour un live papote et peut-être du Witcher, ou peut-être ce dimanche, parce que j'ai commencé The Witcher 3. Vous pouvez soutenir mon travail en sub à cette chaîne ou en me suivant sur Patreon, en vous abonnant à mon Patreon sur lequel vous avez plusieurs forfaits, dont un qui vous permet d'avoir des récaps rigolos de House of the Dragon saison 1 tous les lundis dans votre boîte mail.
Et moi, je dirais que si vous voulez m'envoyer des mèmes sur les hommes poissons, c'est @tequilatex sur Instagram, sur Twitter, etc.
Surtout partout. Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com/mymyhgl. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF, et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma, le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.